Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Salut, c'est Régis, merci d'avoir lancé cet épisode. Cet épisode, je l'ai enregistré en juillet avec Reda Sawi. J'adore cet épisode, je trouve que Reda était super généreux dans ses réponses, on a vraiment pris le temps de discuter. J'adore cet épisode, donc j'espère qu'il va te plaire aussi. Voilà, c'est un épisode que j'ai enregistré quand j'étais encore à Montréal. Maintenant, je suis rentré en Belgique. Ça fait un mois maintenant que je suis rentré, que j'ai repris les scènes en Belgique. Tu peux retrouver toutes mes dates si tu veux me voir en spectacle sur mon Instagram. Je les publie assez régulièrement. J'espère qu'il y en aura plein pour le mois d'octobre et les mois qui vont suivre. Le mois de septembre a été bien rempli. Je suis très content d'avoir retrouvé la scène belge. Il y a plein de plateaux qui s'organisent, plein de shows, c'est super chouette. Des comédie clubs qui s'ouvrent, comme le Petit Kings à Saint-Gilles, qui a ouvert il y a peu de temps. Donc voilà, c'est trop chouette. Et j'en profite pour donner deux très bonnes nouvelles. Alors la première bonne nouvelle, c'est que à partir de demain, donc le mardi 26 septembre, je vais animer une soirée tous les mardis au Réservoir Bar, qui est un bar dans les Marolles à Bruxelles. C'est une soirée test, donc c'est une soirée où les artistes vont pouvoir venir tester de nouvelles choses. Ça va être super chouette, donc tous les mardis au Réservoir Bar, à chaque fois un line-up différent, avec des artistes plus expérimentés, des artistes un peu moins expérimentés, qui vont venir tester de nouvelles choses dans un univers qui va être bienveillant et sympa, qui va permettre la création, donc ça va être super chouette. Venez nombreux, c'est tous les mardis, c'est entrée libre au chapeau, c'est trop cool. Je suis trop content d'avoir eu cette opportunité d'animer ça tous les mardis. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le 10 décembre à 4h, je vais animer un podcast en live au Petit Kings d'ailleurs. Donc voilà, si tu veux assister à cet épisode en live, garde la date du 10 décembre. Je ne sais pas encore qui sera l'invité, mais ça va être bien, ça va être très bien. Voilà, on se voit bientôt sur scène ou dans le prochain épisode. Passe une bonne journée et bonne écoute. Bon épisode, bisous.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois un improvisateur, un auteur, un comédien, un humoriste que j'adore. Il a fait une pause dans son spectacle au bordel parce que je riais trop fort. Je reçois Reda Sawi. Comment ça va ?
Ça va très bien. Merci de m'inviter.
Merci à toi d'être venu. Merci à Maxime et Hélène qui nous accueillent chez eux.
Qui nous a accueillis chez eux et Maxime qui est dans sa chambre. On est dans son appartement puis il est cloisonné dans sa chambre.
Avec son chat.
Avec son chat. Donc, parce que t'as peur des chats.
Un petit peu. Voilà. Ça, je pensais pas que ça allait être dit.
Je l'ai dit, fallait que je le dise.
Voilà. Le monde le sait. Alors, je n'ai pas peur des chats, je suis mal à l'aise avec les chats. Bon, ok, j'ai peur des chats. Ça. Ok. Et donc, il garde le chat à l'intérieur pour éviter le bruit. C'est pour le bruit. C'est absolument pas pour une peur irrationnelle que j'ai.
Mais tu sais que j'ai déjà entendu quelque part comme quoi que si les chats étaient plus gros que nous, ils nous boufferaient.
Ah, mais ça, j'en suis persuadé.
Ouais. Donc je peux comprendre ta peur, mais ils sont plus petits que nous, donc ça va.
C'est ça, tu viens de me créer un cauchemar, je pense. Je crois que ce soir, je vais rêver de chat qui me mange. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast.
Merci à toi.
C'est super chouette. Toi, t'as participé à quelques podcasts. T'as eu même ton propre balado, puisqu'on dit balado ici au Québec.
Ouais.
Un balado jeunesse qui s'appelle Astrobien.
Oh mon dieu. Ouais. Est-ce C'était pas mon propre balado. C'est une commande. Ben vas-y, je te laisse.
Du planétarium.
Du planétarium, exactement. Ouais. Exactement.
Mais est-ce que toi-même, t'es consommateur de podcasts que t'en écoutes?
J'adore. J'aime beaucoup les podcasts, ouais. J'aime beaucoup les podcasts. J'écoute pas beaucoup de podcasts humoristiques. J'écoute, par exemple, Sous-écoute, ça c'est depuis le début, je le suis. Le Gang Show, tu vois, des podcasts concept, j'adore ça. Podcast sur la philosophie, je suis okay. à fond là-dessus. Ouais, là en ce moment, je suis sur les habitudes. Il y a toujours un épisode, un nouvel épisode, et en ce moment, je suis sur...
Les habitudes. Ok, mais tu les écoutes en mode, ça, c'est quelque chose qui t'intéresse ou c'est quelque chose qui t'inspire peut-être pour des numéros ou...
Qui m'inspire, mais ça m'intéresse vraiment.
Ça t'intéresse au départ.
Oh, ouais, ça m'ouvre vraiment l'esprit à la réflexion sur plein de choses.
Je suis pas choqué par cette information.
Non, ok.
que tu écoutes de la philosophie, je me dis Reda, philosophie, oui. Ça ne choque personne. C'est comme quand t'as dit la peur des chats, les gens ont fait « oui, bon, ça marche avec le personnage. »
Exactement, ça choque personne, effectivement.
Mais donc, toi, t'es de retour à Montréal, ouais. Après avoir passé 2 ans en France. Comment ouais. c'est de revenir à la maison?
C'est trop cool. Ah ouais, là, je suis vraiment en mode, je vois la famille, je vois mes amis, et je ne fais rien. En ce moment, j'ai été 2 semaines à la maison à ne rien faire, vraiment comme un légume. Je fais souvent ça. À chaque fois que je reviens, j'étais venu l'été dernier et ce que je fais, c'est je fais rien. Okay. Je te jure, je erre dans l'appartement. J'essaie de me forcer à ne rien faire et aussi chiller avec ma famille et tout. Là ça commence à me tâter de réécrire. Je commence tout doucement à réécrire des nouvelles blagues, ouais.
Mais tu dois te forcer à ne rien faire pour justement pouvoir écrire ensuite?
Ouais. Okay, ouais, mais parce que surtout en France, j'ai beaucoup joué. J'ai énormément joué. J'ai fait le tour de la France. Je suis pas juste resté à Paris. Et je jouais vraiment beaucoup. Donc j'étais souvent sous pression, mais pas une mauvaise pression, mais sous pression de, OK, ce soir je joue, j'écris. Tu sais, faut que j'écrive des nouvelles blagues. Qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Qu'est-ce qui peut pas fonctionner? Donc j'étais vraiment dans un processus de je dois jouer ce soir. Alors que depuis que je suis ici, à part le bordel, lorsque tu étais venu, c'était le
22 juillet.
Le 22 juin.
Juin.
Que à partir de ce moment-là, dès que j'ai fait mon show, je me suis dit ben j'arrête.
T'as fait des petits shows quand même?
Petits shows, ouais.
On s'est croisé sur des petits passages.
Ouais.
Dans des petits plateaux.
Exactement.
Des plus sympas, des plus durs.
Exactement.
On a vécu ça ensemble. On a
Exactement.
Vécu un bistrot de Paris plutôt compliqué,
oh,
on
ouais.
va le dire. On a eu des scènes super chouettes. Il y a le JT, il y a le Maudit Français qui était vraiment chouette. Est-ce que toi, quand t'es parti en France, t'avais cette peur que quand tu reviennes, on t'ait un peu oublié?
Oui. J'avais cette peur parce que, en fait, je suis parti dans une... Moi, j'ai commencé ici, déjà, et la valeur d'un humoriste, c'est plus que tu joues, plus que la valeur augmente, ta valeur augmente, tu vois. Donc moi, je jouais énormément ici. Après ça, t'as eu la pandémie, tu vois. Donc déjà, j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? J'ai paniqué pendant un mois. Après, ouais, c'est ça. Quand je suis parti en France, j'avais peur. J'avais peur que le public m'oublie ou juste que les bookers me programment plus.
Le milieu de l'humour québécois.
Exactement. Et après ça, j'en ai parlé avec quelques amis. Ils m'ont dit, mais non, mais t'es con. T'es con juste si tu travailles. Et si t'es drôle encore, on va te réinviter. Et puis j'ai fait comme, ben oui, c'est vrai. C'est vrai, en fait. Faut juste être drôle.
C'est un peu la base dans le métier.
C'est vraiment ça. Si je travaillais pas, c'est là que ça aurait pu être un peu plus difficile, peut-être, tu vois. Mais ouais, c'est ça. J'ai continué à travailler en France, ouais.
Mais on t'a vu sur des petits shows ici, comme on disait, par exemple, le Bistrot de Paris, qui était un show un peu plus compliqué.
Ouais.
Est-ce que c'est important pour toi de te mettre encore en difficulté avec des petits shows comme ça?
Oui.
On attend moins des humoristes plus expérimentés.
Oui, moi, ça me dérange vraiment pas. Ça fait mal sur le coup, mais après... pas grave, en fait. Mais non, moi, je préfère ça et apprendre, encore apprendre de mes erreurs. Puis je suis toujours en train d'apprendre, en fait. Je me considère pas comme un humoriste qui a atteint ses objectifs, tu vois. Je suis toujours en apprentissage et d'aller dans des shows comme ça, pour moi, ça me fait plus que plaisir même. Okay. Parce que je me dis, ok, là j'ai fait telle erreur, j'aurais pu être arrivé un peu plus préparé, j'avais de nouvelles idées, j'aurais pu plus arriver avec une hargne. Tu vois, ce genre d'idées, je me le dis, je me le répète toujours, tu vois. Puis c'est normal, quand tu commences et t'écris des nouvelles idées, forcément, après ça dépend pour chacun, pour chaque humoriste, mais forcément, tu vas te planter. Il y a des humoristes, tu vois, ils arrivent avec une 21 et tu te dis, ah ouais, c'est fort. Mais ils sont quand même préparés, tu vois. Certains humoristes, ils arrivent quand même préparés, ils l'ont préparé dans leur tête, ils l'ont sûrement répété ou peut-être pas. Mais moi, j'en ai vu des humoristes avec des V1 puis tout pété, là, tu sais. Ouais. Mais dans un contexte bistrot de Paris, je sais pas. Où les gens avaient les bras croisés.
Après, je veux pas cracher sur le bistrot de Paris parce que j'ai fait l'animation là toutes les semaines, mais ça varie tellement de semaine en semaine.
Ouais.
Il y a des semaines super cool et des semaines où on commence et on fait, ça va être compliqué aujourd'hui.
Ouais, mais après, c'est ça qui est cool. Ça te crée, je pense, des petits shows comme ça, ça te crée des petits traumatismes. Et ces petits traumatismes, ils sont importants parce que à cause de ces petits traumatismes, tu te dis, ben, au prochain, je vais pas passer par là, je vais pas passer par ce chemin-là, tu sais.
Tu seras un peu plus alerte exactement. Aux erreurs que
tu
avais faites.
Tu seras beaucoup plus alerte. Donc, je pense que c'est important, ces shows-là. Pour l'écriture, pour te remettre en question, je pense que c'est super important.
Depuis que t'es revenu, t'as joué ton heure au bordel, mm-hmm. le 22 juin, donc on l'a dit. Tu vas faire une supplémentaire le 16 août
ouais.
au bordel.
Ouais.
Moi, j'ai eu la chance de voir le spectacle.
Oui.
J'ai adoré, parce que comme je l'ai dit en intro, tu as dû t'arrêter ton spectacle à un moment donné pour dire « on va le laisser terminer ». Parce que je riais trop fort, ce qui est bon signe et je pense très agréable ouais. sur scène. Mais de quoi parle ce show pour ceux qui voudraient aller le voir? Bien sûr, pour le 16 août, je pense que l'épisode sera pas encore sorti.
Ouais.
Mais pour l'année prochaine, parce que je pense que tu vas encore tourner avec ce spectacle.
Ouais, bah en fait, c'est une parenthèse de vie. C'est une parenthèse de vie que j'ai vécue en France avec des réflexions sur moi, sur ma vie, sur la mort, sur la maladie, sur le racisme ordinaire, le racisme systémique, sur sur la violence. Très léger, c'est quand même très léger.
C'est vrai que quand tu donnes les thématiques, c'est plus dur que ça en a l'air. Mais non, c'est léger. C'est très drôle.
C'est
très
ça.
Drôle.
Merci. Et puis aussi sur ma vie de châtelain.
Oui.
En France. Et puis voilà. C'est vraiment c'est une parenthèse de vie. Je pense pas que je vais le tourner longtemps ce spectacle-là parce okay. que ça a été vraiment une parenthèse de vie. Pour moi, ça a été une introduction pour moi okay. par rapport à la France. Je pense que je vais le jouer et le roder et le capter et le mettre sur les réseaux sociaux.
Okay.
Et là, je commence à retravailler des nouveaux textes.
Ok.
Ouais.
Et d'ici le 16 août, tu vas le retravailler encore un petit peu?
Ouais.
T'avais capté le 22?
Non, j'ai pas capté.
Pas filmé ou...
Non, je l'ai enregistré pour moi. Je l'ai pas capté, puis je suis toujours en train de le travailler.
Ok.
Ouais. Mais... pour le resserrer, puis pouvoir le capter. Et j'hésite encore, soit je fais un bon 30 minutes... bien resserré, bien travaillé et une bonne ligne directrice. Ou sinon, je fais mon 60 minutes et je le mets sur les réseaux sociaux.
Moi, je serais partisan du 60 minutes, mais parce que je l'ai beaucoup aimé. Donc, j'aurais pas envie que tu retires des choses, en fait.
Oh, ouais.
Ça, c'est parce que je l'ai bien aimé.
T'es trop gentil.
Non, si tu serais pas là. Je serais allé te voir à la fin du spectacle, genre, allez, bonne soirée.
Ça fait plaisir.
Mais tu parles de thèmes qui sont parfois... assez dur.
Ouais.
Est-ce que ces thèmes-là, ils sont toujours bien pris? Quand tu parles de racisme ordinaire, quand tu parles de la mort, quand tu parles de ce genre de choses, est-ce que des fois, tu as un public qui est là, ouf, j'ai pas envie qu'on parle de ça?
Pas le racisme ordinaire. J'ai eu quelques trucs, quelques petits haters sur les réseaux sociaux,
okay.
Sans plus. Et je parle beaucoup de ce que j'ai vécu. En fait, là où il y a eu quelques petits problèmes avec le racisme ordinaire et le racisme systémique, c'est lorsque je suis parti jouer au Maroc, c'était pour... je sais pas si je devrais en parler, mais c'est pour l'Académie française
okay.
au Maroc, qui est installée au Maroc. Ils ont voulu faire un spectacle d'humour mmh. et ils m'ont contacté. Ils m'ont dit « Reda, on aime vraiment ce que tu fais, mais on veut juste que t'évites que tu dises que les Français, c'est des racistes. » Et j'étais comme « Ben, je parle de moi, je dis pas que les Français, c'est des racistes. » Et je l'ai fait quand même.
Okay.
Je l'ai fait quand même.
Bien vu.
Et c'est un Belge, c'est lui, c'est un ambassadeur belge, c'est lui qui s'occupait de toute cette organisation. Il est venu me voir, il m'a dit « J'ai entendu parler comme quoi qu'il fallait pas que tu fasses ça. Écoute, tu le fais. » tu sais, il a vraiment été vraiment très très cool. Il m'a dit écoute les pas, fais tes trucs et okay. Donc vraiment j'ai pas eu de problème avec ça. Il y a c'est sûr et certain que ça peut choquer. Je pense pas que c'est quelque chose qui choque.
Non, moi après moi d'office je vais pas dire que ça m'a choqué. Moi je trouve ça bien qu'on parle de racisme ordinaire. Il y a du racisme.
Ouais ouais
puis,
ouais.
C'est ton expérience de vie. Donc si quelqu'un fait, t'as pas le droit de parler de ça, tu fais bah c'est ma vie. En fait.
Ouais ouais c'est
donc,
ça.
Moi ça m'a choqué, ça m'a.
C'est
je,
ça.
Je vais en parler. En plus t'en fais quelque chose de très léger.
C'est ça.
T'es pas en train de me pointer du doigt.
Exactement. Je donne pas d'opinion en tant que telle. Je fais juste peindre ce que j'ai vécu et à travers ça on comprend ce qui se passe. Mm-hmm. Mais sinon ouais c'est ça je c'est pas politique en tant que tel mais c'est juste mon vécu et mais la mort lorsque je parle du décès de mon père ça a été très 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 difficile pour moi et pour le public parce que forcément c'est un spectacle qui se veut drôle et dès que j'arrivais là et que je parlais de mon père là c'était tu sentais une tension c'était vraiment ouais, c'était compliqué. Donc des fois, le spectacle, il était... Surtout en France, c'était vraiment compliqué. Je jouais à la Petite Loge. Je sais pas si tu connais ce...
Oui, je vois bien le plus petit théâtre de Paris.
Exactement. Pendant 6 mois. 6 mois, j'ai commencé 3 mois 2 fois par semaine. Et après ça, on est tombé à 1 fois par semaine les 3 autres mois. Et c'était tellement dur. Tellement dur. J'ai détesté et aimé mon expérience à la Petite Loge. Parce que c'était... Les premiers mois, ça a été tellement dur. C'est... Pour les auditeurs, en fait, la Petite Loge, c'est un petit théâtre.
C'est 20 places?
30. 25 maximum. Mais maximum, mais ils sont serrés, là.
C'est on ouvre la porte, on est dans le théâtre.
Exactement.
Il y a la scène et les toilettes qui sont derrière.
Exactement. Ça. Genre, la loge des artistes, c'est soit derrière le rideau sur la scène ou les toilettes. Puis même le public, s'il veut aller aux toilettes, ben, pendant que tu fais ton spectacle, ben, tu leur ouvres le rideau et puis...
Donc, clairement,
ils passent sur la scène.
Clairement, on voit que tu fais l'humour pour l'argent. C'est ça.
C'est ça. Moi, j'ai vraiment un gros business. Mais non, mais c'était vraiment... La Petite Loge, c'est vraiment cool parce que c'est vraiment un lieu pour tester. Tester au niveau de l'écriture. Mais c'est tellement dur parce que ben, les gens, ils savent pas qu'est-ce qu'ils viennent voir. Ils sont en mode découverte. Et puis, toi, tu rodes, donc, et ils voient tout. Ils voient tout, ils voient tes transpirations, ils voient quand tu bégayes. Alors que quand t'es dans une grosse scène, si tu bégayes, c'est pas grave, tu sais, tu peux continuer, les gens vont rien voir. Mais alors que dans la Petite Loge, c'est x 1000, tu sais. Okay. Ils voient même ton stress, ils voient tout.
Ils voient ta jambe qui tremble un petit peu.
Ils voient tout, tu trembles, ouais. Ils voient tout, tu renifles. Et moi, en plus, j'étais dans la période de la COVID, tu sais, où il y avait des gens encore masqués qui venaient au spectacle. Donc, moi, si je reniflais juste un petit peu, ben, tu sentais la tension.
La tension,
oui. x 1000. Ça a été ça pendant 6 mois et ça a été dur. Et lorsque je parlais de mon père, c'était encore pire. C'était encore pire et ça venait de se passer. Donc, ouais, il y a eu des shows où je sortais de là et je me mettais à pleurer. Je me mettais à pleurer parce que, pas pour mon père parce que j'ai déjà pleuré, mais plus, oh mon Dieu, qu'est-ce, où je m'en vais avec ce spectacle-là? Je sais pas ce qui se passe. J'en ai aucune idée. Mais à force de jouer petit à petit, ben justement, ça te crée des petits traumatismes. Et ben, tu testes, puis à un moment donné, ça devient bon, tu sais.
Le thème de la mort, moi, je suis venu t'en parler après le spectacle.
Ouais.
C'était le seul truc que je pense qu'il y avait moyen d'améliorer de mon côté.
Je suis à 100% d'accord.
Quand t'en as parlé, moi, j'aurais eu besoin d'un petit warning de « attention, on va parler de ça ».
Ouais.
Et il y a peut-être un truc à faire pour juste l'amener. C'est ça que je t'avais dit, c'est que moi, quand t'as commencé à parler de ça, j'étais là « ok, on va parler de la mort ».
Ouais.
Moi, j'ai ma maman qui est décédée du cancer, donc j'ai cette année.
Ouais.
Donc j'ai même chose.
Mes excuses,
et donc,
ouais.
Non, t'inquiète pas.
Ouais, ouais.
T'inquiète pas, tu peux rien faire. Mais j'ai été pris par surprise. Et donc, j'ai eu un flot d'émotions qui arrivait. Mais je trouve ça génial qu'on en parle.
Oh,
parce que c'est la première
ouais.
chose que je t'ai dit, c'est j'adore que tu en parles. Et à partir du moment où la surprise est passée, qu'on va parler de ce sujet-là, que je ne m'y attendais pas.
Ouais.
Après, je trouve ça très drôle. Et j'adore qu'on parle de ça. Mais moi, je suis pour qu'on parle de les plus durs pour en faire quelque chose de beau aussi, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais c'est ça. C'est, je comprends que c'est un thème qui peut... être plus dur à aborder, quoi.
Ouais, c'était super dur. Et surtout, en fait, j'ai joué 2 fois mon 50 minutes au Barbès Comedy Club. Mm-hmm. En fait, c'était les premiers jets. Premier show, mon père, il était en Algérie, donc il était encore vivant. J'ai joué en, si je me souviens bien, septembre. non, en octobre au Barbès, et ensuite c'était en novembre, en décembre. Oh mon Dieu, je me rappelle plus.
Je peux te dire, j'ai les dates.
Ah, hein. Oh, t'as les dates.
J'ai les dates, j'ai tout. Attends,
incroyable, tu me fais peur, je te jure, tu me fais peur.
Attends, la petite loge, c'était le 23 novembre 2021.
Exactement.
Au Barbès Comedy Club.
Exactement.
Avec en première partie Léo Hart, je crois.
Léo Hart.
Hart.
Hart. Hart. Hart. Ouais. Léo Hart. Et ouais, c'était le 23 novembre. Et mon père est décédé le 21 octobre 2021. Donc, juste avant le Barbès. Donc, moi, ça a été très intense avant mon spectacle au Barbès. Donc là, j'étais vraiment... en plus, j'étais revenu ici pour régler quelques trucs, quelques paperasses. Après ça, je suis retourné en France, rodé encore mon spectacle en ayant ça en tête. Et quand j'ai fait mon deuxième show au Barbès, ça s'est super bien passé parce qu'il y avait comme l'énergie du désespoir, tu vois. Mm-hmm. Ça s'est super bien passé avec une légèreté. Et à la fin, je devais pas mentir au public. Donc, j'ai commencé des bribes d'idées de... En fait, le numéro que j'ai fait dans le spectacle. Et j'en ai parlé. Et Léo Hart, qui est mon co-auteur, avec qui je travaille, c'est lui qui a fait ma première partie, lui, il m'a dit, ben ça, tu dois le garder, tu sais. Et j'étais comme, ouais, je sais pas. Il dit, c'est très intéressant. La manière dont tu l'as amené, c'était très drôle et c'est touchant. Et moi, j'étais vraiment entre le deuil et il faut que mon spectacle fasse 60 minutes. J'avais 50 minutes.
Là, j'ai un 10 minutes qui vient arriver. Je comprends.
Et après ça, il y a eu la petite loge en janvier. Et là, on était vraiment en mode écriture. Puis Léo Hart, il me suivait partout, vraiment, vraiment partout. Puis il m'aidait à retravailler mon spectacle. Et c'était extrêmement pénible. Et à chaque fois, j'étais comme, est-ce que je l'enlève? Est-ce que je le garde? Ah non, je veux plus le faire. Mais il me manquait quand même. Et là, je tentais d'écrire plein d'autres trucs, mais c'était tellement présent qu'à un moment donné, j'ai fait le deuil. J'ai fait un double deuil. Je me suis dit, tu sais quoi, il faut que j'en parle. Je vais en parler et je vais essayer que ça soit le plus léger possible et je vais faire le vrai travail de... Tu sais, je me dis, si je continue à en parler, c'est un travail pour moi, mais aussi, ça va être cool à un moment donné. Ça va être très, très cool. Et puis, voilà.
Mais encore une fois, moi, je pense que pour moi, tu dois en parler parce que je trouve que la partie est super. C'est juste, comme je te dis, j'étais pris par...
Ouais, les émotions.
Je pense que tu vas tomber sur d'autres gens qui ont vécu la même chose et qui vont être pris par les mêmes émotions et qui vont être là, ouf.
Mais ce que toi, t'as vu au bordel, dans les débuts, c'était beaucoup plus intense.
Ouais, je me doute que ça a dû être plus amené moins finement, peut-être.
Oh, c'était horrible. C'était horrible. Je faisais j'en parlais comme si c'était un événement. J'étais comme, le 21 octobre 2021, mon père décède. Et là, le spectacle tombe. Je te jure, c'était horrible. Et même moi, quand j'en parlais, c'était extrêmement dur, tu sais. J'étais dans un pays que je connaissais pas. Et en plus, je vivais ça de l'intérieur. Donc, c'était vraiment très, très difficile.
Ouais. Mais je comprends parce qu'il faut la ligne, que ça soit pas, que ça soit léger, mais en même temps, faut pas que t'aies l'air détaché, parce que sinon, c'est bizarre.
Ouais.
On parle sans émotion, ça, tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé
de véhiculer
de
une émotion.
De dire la vérité de
ton
émotion. Mais donc, oui. Bon courage. Ouais, moi, j'ai essayé d'écrire des petites choses aussi. C'est difficile. Parce que moi, ça me fait du bien de faire des blagues.
Ouais.
Parce que je pense que c'est en moi de vouloir faire des blagues. Mais les quelques fois où j'en ai fait sur scène, j'ai quand même une réaction du public qui fait « Ok, je sais pas si on peut rire. » Moi, je suis là, bah si, je viens de faire la blague, allez-y.
Ouais.
Mais c'est plus tordu.
Ouais, c'est dur, mais je pense qu'il faut faire le travail de soi-même à l'intérieur pour prendre... En fait, l'humour, c'est tu prends du recul sur une situation qui t'a fait mal et t'en rigoles, tu sais.
Ouais.
Et je pense que moi... À cette période-là, j'avais pas assez de recul. Maintenant, j'ai énormément de recul. Et je suis content d'en avoir parlé. Et j'ai vraiment fait la paix avec moi-même pour en parler. Pour moi, c'était super, super important d'en parler. Et puis, moi, ce qui me faisait chier, c'est le spectacle. Les gens rigolaient. Et quand j'arrivais à ça, ben, je chantais un « Oh ». Et ça m'énervait. Tu sais, les gens... Ils venaient me voir pour me faire des câlins. J'étais comme, mais non, c'est pas ça.
Je voulais vous faire rire, moi.
C'est pas l'effet recherché. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut en prendre conscience et faire la paix avec ça. Et je me dis que de toute façon, c'est pas un spectacle que je vais jouer pour l'éternité. C'est un spectacle qui va me durer, je pense, trois. Ben, en fait, là, ça va être ma troisième année et ça va être, voilà, okay. Ça va être trois ans. Okay. Ce spectacle-là est fini. Bye.
Ben en tout cas, je suis très content que tu aies dit que tu allais le capter.
Ouais.
Parce que pour les auditeurs du podcast, ils ont l'habitude, je suis un fan de captation. Je veux qu'il y ait plus de captation.
Ah.
Il y a trop de gens qui ont fait des spectacles, que, ben, ils ont fait un spectacle et ben, je ne sais pas le voir.
Ouais.
Par exemple, je pense que tes deux premiers spectacles, je ne peux pas les voir.
Non, c'est vrai. Effectivement.
Et moi, j'ai une petite tristesse de me dire, ah ben, toute cette œuvre-là, j'y ai pas accès.
Ouais, ouais, ouais.
Et comme l'humour, c'est mes œuvres préférées. Je suis là, ah, ben, j'ai manqué un truc, tu vois, que
ouais.
Un film, tu l'as manqué, ben, tu regardes-le.
Wow.
Et je suis pour les captations et voilà, donc je suis content. Quand
en même
dit,
temps.
Je fais une captation, je dis, yes, j'aurai un souvenir de ce spectacle-là. Parce que moi, quand un spectacle, je l'aime bien, je le regarde plusieurs fois.
Ouais.
Donc, je le reverrai avec grand plaisir.
Ouais, ouais, mais en même temps, l'humour, ça vieillit mal aussi, tu vois.
Ça dépend, j'ai pas l'impression que ce que tu dis va mal vieillir.
Non, 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 ça
sauf
c'est...
si on devient une société ultra, oh. ultra bien plus haut qu'un raciste, les gens vont être là, mais enfin, que pensaient les gens à l'époque? Youssef, le gars d'internet.
C'est pas drôle, c'est très drôle. Mais ouais, ouais, c'est ça, c'est. D'ailleurs, j'avais écouté ton podcast avec. J'ai écouté celui de Jason Brockes et d'Adib.
Merci.
Et celui d'Adib est fort intéressant. Et vraiment.
Comme ça, on dirait que celui avec Jason est chiant.
Non, même celui de Jason est très, très, très bon, tu vois. Mais après, Adib.
Adib, c'est un, je sais pas, c'est un philosophe.
Je sais pas ce qui se passe, mais à chaque fois qu'il va dans un podcast, t'as l'impression que il t'ouvre tes chakras. Tu te dis, mais yo,
On a eu une discussion sur Adib l'autre jour et on était tous les deux en mode, bah, c'est Adib, quoi.
Mais ouais.
Je comprends pas, nous.
Il t'ouvre tes chakras, et puis tu te dis, mais ça, j'y ai pensé, ça, je l'ai. Et c'est ça la force d'Adib, c'est que tout ce que t'as chuchoté au fond de toi, lui, il le sort à voix haute. Et t'es comme, putain, Adib, arrête! Laisse un peu.
Et il le dit bien.
Il le dit, ouais, c'est ça, il le verbalise tellement bien. Et il parlait justement par rapport à lorsque tu fais un spectacle, ben c'est ça, dans l'objectif de faire une œuvre, tu vois. Puis moi, je pense aussi dans ce sens-là, où si je veux le capter, je veux que ça soit comme une œuvre, tu sais. Je veux que ça soit, voilà, c'est beau, c'est magnifique, c'est drôle. C'est une œuvre que je mets sur Internet. Donc, ouais, c'est plus dans ce sens-là. C'est pour ça que mes deux anciens spectacles, ça vieillit très, très mal. Mon premier spectacle, je pense que j'avais des accents. J'en ai totalement honte. Ben, des accents, pas, c'était plus par rapport à moi et ma famille, tu vois. J'avais beaucoup d'accents. Et puis le deuxième spectacle, il n'était pas nécessairement prêt, mais je parlais beaucoup d'actualité de l'époque. Donc sur Internet, ça vieillirait très très mal. Après ça, ben, t'as eu celui-là, que je trouve qu'il est un peu plus universel que les deux autres spectacles que j'ai fait.
Parce que celui-ci est pas dans une temporalité, il y a pas beaucoup de références culturelles, c'est
ouais.
C'est un vécu qui pour moi va pas vieillir
ouais.
spécialement. Donc moi j'ai hâte de voir la captation.
En tout cas, j'ai très hâte aussi. J'ai très hâte de vous le présenter.
Est-ce que tu as d'autres projets en dehors du spectacle dont j'aurais pas connaissance, sur lesquels tu travailles ou pas du tout
Pour l'instant, non. J'avais écrit une série avant de partir en France qui s'appelle « J'ai tort mais j'ai raison ». C'est mm-hmm. J'ai écrit plusieurs épisodes et que plusieurs personnes voulaient le produire. Après ça, t'as eu la pandémie et après ça, ben, je l'ai tellement laissé de côté. Donc, j'ai rien fait avec. Mais c'était vraiment... Je trouve que la série est vraiment cool, mais c'est... La fiction, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile, mais j'adore écrire des scénarios. C'est ce qui fait en sorte que mon cerveau est tellement léger. Je sais pas comment expliquer, mais quand j'arrive plus à écrire du stand-up, je commence à écrire des scénarios et okay. ça amuse mon cerveau. J'adore ça.
Okay.
J'adore
t'as
ça.
T'as genre plusieurs scénarios ou alors c'est vraiment la série que tu reviens dessus ou...
J'ai plusieurs scénarios, mais ça fait longtemps que j'ai pas touché. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas touché. Mais en ce moment, non, j'ai pas de projet. J'ai un projet en ce moment de faire une tournée et de capter ce spectacle-là.
Ça, c'est déjà un bon projet.
C'est ça.
Ça prend du temps.
Ça prend du temps et c'est mon projet en ce moment. Et aussi d'écrire... là, en ce moment, je veux écrire un nouveau 30 minutes. Nouveau 30-40 minutes, c'est mon objectif. Là, je vais rester ici à Montréal pendant quelques temps pour écrire et jouer et tester des nouveaux trucs.
OK.
Ouais. c'est vraiment mon projet, mon objectif en ce moment.
Et est-ce que tu as mis un moment pour atteindre cet objectif? Genre, je veux avoir un 30 minutes pour le...
Ouais. Ouais. Ouais, j'ai jusqu'en octobre-novembre pour arriver à un nouveau 30 minutes. Et j'ai commencé avant hier.
mais c'est
à écrire, à rentrer dans la routine d'écriture.
Mais je trouve ça trop bien. Parce que moi, je suis dans le processus de vouloir écrire un premier spectacle. Et je trouve ça super dur. Parce que moi, j'ai ce stress depuis un moment de ne pas écrire de nouvelles choses.
Ouais.
Et j'ai ce stress de... Peut-être j'ai écrit toutes les blagues que j'avais. C'est pour le moment le stress que j'ai de...
Ouais.
Ça tombe, bah, j'ai réussi à écrire des blagues que j'aime bien. Je suis fier de ce que j'ai fait.
Ouais.
Mais peut-être que j'en ai plus d'autres. C'est mon stress pour le moment.
Ouais. Mais ouais, ça c'est un stress qui est normal.
Merci.
Mais ouais, ça, je pense que le temps fait beaucoup les choses. Moi, ce que j'ai appris dans mon petit parcours, mon humble parcours, c'est ouais, le temps fait vraiment les choses. Des fois, tu t'écris et tu trouves rien, tu forces une blague et c'est pas drôle parce que tu l'as forcé. Et à un moment donné, ça vient tout seul. Parce que tu parles avec un ami, parce que t'es dans le plaisir, parce que tu chilles avec ta famille. Puis après ça, tu trouves un lien, tu te dis « My God,
comment
c'est tellement simple. » Et alors que moi, j'étais vraiment en train de forcer à écrire. Donc ça vient, je pense qu'il faut le laisser mûrir. Mais c'est un process, c'est ça. Je pense que la routine, elle est importante aussi, là. Mm-hmm. Je crois. Hein. Donc ce que tu vis, c'est tout à fait normal. Voilà.
Ça marche. Mais moi, c'est pour ça que je fais le podcast. Hein. C'est juste pour te passer mes angoisses et que tu fasses « Mais ça va ?» Ça va bien se passer, c'est normal. Ah ben c'est cool. Ah ben
mais
c'est...
moi, j'ai l'impression que, dis-moi si je me trompe, que tu fais ce podcast pour nourrir ton processus d'écriture. J'ai vraiment l'impression que...
Il y a de ça. Oui, vraiment, il y a de ça.
Ça se sent et...
Ça me rassure de parler avec des gens et de moins les idéaliser. Parce
ouais.
que si je les idéalise trop... C'est un mot que j'ai du mal à dire, d'ailleurs.
Idéaliser. Ouais, moi aussi, je le dis mal.
Ben, je me dis, c'est eux qui sont capables de le faire et pas moi.
Ouais.
Que quand je leur parle et que je vois leur parcours, je me dis, ils sont passés par les difficultés par lesquelles je passe aussi.
Ouais.
Je pense que ça nourrit ça. Et puis, je vois des réflexions des gens, de comment leur manière de travailler.
Ouais.
Je regarde les spectacles et j'en profite pour voir ce qu'ils font. Et ouais, ça me nourrit vraiment de le faire. C'est pour ça que je continue de le faire. Il y a aussi le fait que je suis trop fan des humoristes.
Ouais.
Ça me donne une occasion de leur parler. Que je leur aurais peut-être pas parlé dans une autre situation.
Tout à fait.
Puis aussi, je suis assez timide et réservé. Donc, leur demander de participer à un podcast, c'est plus facile que d'aller les voir en fin de spectacle.
Je comprends.
J'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait.
Surtout, dites de cette manière, ça fait
voilà,
peur.
Ça.
J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé.
Beaucoup ce que vous faites.
Et tu t'en vas.
Avec mon imperméable.
Mais ouais, je comprends, ouais. Mais tu le fais très très bien, ça se voit, ça se sent. Même quand je t'ai vu sur scène, on sent que t'apprends beaucoup de choses en parlant avec les humoristes, et je pense que c'est une très très bonne manière de faire, tu vois. C'est un chemin qui est cool à faire et ça se voit.
Okay. Donc merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, déjà que tu aies écouté mon podcast me fait super plaisir.
Oui, j'écoutais tes podcasts.
Ça me fait trop plaisir parce que quand on s'est vu à la fin du spectacle, tu me dis mais je te connais de quelque part. Et après, je fais, je sais pas, j'ai un podcast, c'est ça.
Ouais.
J'ai tous mes potes. oui. Comme quoi, on apprécie sûrement les mêmes choses.
Ouais.
Dans les invités, Jason Brokers a dit, Balkalidé, que tu as écouté les épisodes.
Ouais.
C'est dans les humoristes que je préfère. Donc, je pense
qu'on a
peut-être une sensibilité en commun.
Exactement.
Par rapport aux humoristes.
Ouais.
Mais oui. C'est ça que je. Enfin, moi, je trouve que tous les humoristes que j'ai dans le podcast, je les aime tous. C'est ça que j'aime dans le podcast, c'est de pouvoir recommander tous les invités.
Ouais.
Donc voilà, je suis content que tu fasses partie des humoristes.
Mais moi aussi.
Parce que maintenant, on va attaquer ton parcours.
Oh là là.
Parce que, on va revenir au tout début.
Oh shit.
Donc, t'es né le 14 février 1986.
Exactement.
À Saint-Eustache.
Exactement.
Sur la rive nord de Montréal.
Exact.
Où tu fréquenteras notamment l'école primaire Claire Matin.
My
God. Yes.
Oh, tu fais peur. Où t'es allé chercher cette information?
Claire Matin, tu le dis dans le documentaire que t'as fait sur les microagressions.
Ah ouais. My God.
Tu
oui,
le dis
oui,
à
oui.
ce moment-là et j'ai fait Claire Matin, je note.
Ouais, effectivement, ouais. Claire Matin.
C'est ça. Après, tu grandis à Laval. Mais il me semble que tu passes également plusieurs années en Algérie, dont ton père est originaire.
Exactement.
Mais ce que j'aimerais savoir, moi, c'est quand tu étais enfant, donc au tout début, quand tu es à l'école primaire, à Clermatin, est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle ?
Oui et non. Moi, je suis vraiment l'enfant, j'étais vraiment l'enfant timide au premier égard dans la vie. Okay. Tu sais, genre, tu sais, ce genre d'enfant, tu vas chez quelqu'un, puis t'as l'enfant un peu réservé, il se cache un peu partout, tu restes 30 minutes et cet enfant timide devient vraiment le diable. Shaitan. Ben, ça, c'est moi. Tu vois, donc j'avais ce côté-là, mais Clermatin, vu qu'il y avait plein d'enfants, j'avais vraiment du mal à me faire des amis. Moi, j'étais un ancien gros, donc beaucoup de grossophobie, beaucoup okay. de racisme, parce que j'étais
à
Saint-Eustache, le seul maghrébin à Saint-Eustache à l'époque. On était deux familles.
Ok.
Ouais, voilà. Deux familles algériennes, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, donc, il y avait beaucoup de racisme. Donc, moi, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'avais quelques amis. Mais en plus, leur racisme, il était pourri. Là. C'était, je te le jure, je sais pas si je devrais le dire le mot, mais c'était, on me traitait de Shintok. J'étais comme, yo.
C'est même pas le bon.
c'est vraiment mauvais. Tu t'es trompé.
Tu t'es trompé de racisme.
Ouais, des trucs, palettes de chocolat, des petits... Mais c'était nouveau pour eux.
C'était nouveau dans le racisme.
C'est ça. Mais surtout, j'étais un petit gros, donc c'était plus ça. Plus que le racisme, c'était vraiment... J'étais un petit gros et tout ça. Mais je me débrouillais quand même. J'étais drôle chez moi, mais pas nécessairement à l'école parce que j'avais du mal à me faire des amis. Okay. J'avais quelques amis, pas plus. Puis voilà.
Mais est-ce que ton entourage, ton père, tes deux frères, ta mère Farida...
Ouais.
Sont des gens drôles.
Tu connais le nom de ma mère et ça mec.
Tu l'as dit dans le podcast de Paul Taylor.
Tu me fais peur. Vraiment, je te jure, je vais. Pourquoi je suis venu? Oh mon dieu. Toi, dans ta chambre, t'as les photos de tous les humoristes et de mon enfance. Et...
des dossiers. C'est Yacine Bellous qui disait ça avec des dos. C'est que, heureusement que je fais ça pour un podcast, que je fais ça pour le bien, parce que si je faisais ça pour suivre les gens et faire le mal, je serais super bon aussi.
Ah ouais!
Il disait, t'as, tu sais, comme dans les films de serial killer avec des flèches rouges.
Ah ouais! Si je faisais un film de serial killer, je te jure, je te mettais parce que t'as vraiment un casting.
Ça, je sais pas comment le prendre.
Non, je rigole, je taquine. Je taquine. Ouais, ma famille, ils sont tous très, très drôles. Tous très, très drôles. Mon père, à sa manière, c'était quelqu'un de travaillant, réservé, mais qui était drôle à sa manière. Mais dans ma famille, on est tous vraiment très, très drôles. Ma mère est très drôle, humour noir à fond.
Ah oui?
Ouais. Des fois, même, elle a un humour très décalé. Tu te dis, mais je te jure, tu les écoutes parler des fois avec ma mère et mes tantes, c'est n'importe quoi là. Ça peut être très absurde. T'sais, des fois, leurs blagues sont tellement pas drôles qu'ils en rigolent. Okay. Et c'est là que ça devient drôle. Je sais pas comment expliquer.
Il y a plusieurs niveaux. Ouais. Ok.
Puis c'est juste dans leur tête une standing ovation là. T'sais, c'est vraiment. mon frère, mon grand frère, très très drôle. Je pense même qu'il est plus drôle que moi. Il est vraiment plus drôle que moi, mais lui, il veut pas faire de l'humour. Et vraiment, quand on a des repas familiaux, on déconne à 100%. C'est très très drôle. Mais ouais, dans toute ma famille, surtout chez les femmes dans ma famille, elles sont toutes drôles.
Mais j'entendais dans une interview que tu disais que c'est en Algérie, en allant dans les marchés, les cafés, que c'est là-bas que tu avais acheté ton humour.
Ouais.
C'est le terme que tu utilises.
Je sais pas pourquoi j'ai dit acheter. Je pense que, en fait, quand j'étais jeune, c'était la presse. Je me rappelle de okay, cette année-là, ouais. C'est la presse. Et je pense que je voulais avoir des mots soutenus.
Okay.
Mais j'ai choisi des mauvais mots. Je suis pas très bon en français. J'ai dit acheter.
J'ai acheté mon humour.
Mais je sais pas pourquoi j'ai dit acheter. Mais c'est là où vraiment j'ai appris à... Parce que dans le Maghreb, en général, les gens sont fucking drôles.
Okay.
Ils sont extrêmement drôles. C'est dans la rue, c'est que des blagues. Et moi, je me rappelle, j'allais avec mon père dans des cafés où c'était vraiment des cafés où des gens, même encore, ça existe encore, tu sais, ils fument la cigarette dans les cafés. Genre, le café est emboucané de cigarettes, de nicotine, tu vois. ils boivent du café parce qu'ils boivent pas d'alcool, donc ils sont là jusqu'à 3h du matin. Et moi, je me rappelle d'être avec mon père et ses amis à 3h du matin dans un café, et c'était blague par-dessus blague, blague par-dessus blague. Même dans les marchés, c'est incroyable. Tu sais, tu te promènes dans un marché, il se passe tout et n'importe quoi. Et moi, un gars qui est né à Saint-Eustache, oui, certes d'origine algérienne, mais qui a grandi à Saint-Eustache et qui voit ça avec plein de des gens qui veulent se battre, des gens qui essaient de négocier, un gars qui se promène avec un mouton sur le bras. Pour moi, il y a tellement des trucs où tu te dis, mais c'est des blagues à air ouverte. Donc pour moi, c'est... Et même dans la rue, mes cousins, c'est des blagueurs. Mais tu sais, des blagues du futur, tu t'en rends même pas compte. C'est impressionnant, impressionnant.
Mais tu penses que c'est dû à quoi qui fait que les Algériens sont si drôles?
Je sais pas, je pense que c'est le chômage, la société.
Ouais, ouais. Un besoin de rire.
Un besoin de rire, parce que c'est très, c'est des pays où c'est très très dur socialement. Mm-hmm. Au niveau de la société, c'est très très dur. Par exemple, en Algérie, on appelle ça la jeunesse perdue. Donc, une certaine époque, quand il y a eu la guerre civile, ça a été très très dur. Donc, les gens, pour décompresser, ben, ils faisaient des blagues. Et aussi, ce qu'on appelle la jeunesse perdue, c'est que c'est beaucoup de jeunes qui ont eu, qui sont diplômés, qui sont allés aux études, mais qui sont au chômage parce qu'ils trouvent pas de travail, parce que ça fonctionne par piston. Le pistonnage, pour les Québécois, c'est, je sais pas, c'est quoi la, ça existe pas, piston ici au Québec.
T'aides quelqu'un au détriment de quelqu'un d'autre.
Exactement, t'aides quelqu'un au détriment de quelqu'un d'autre, très bien dit. Donc il y avait beaucoup de gens, énormément de jeunes qui se retrouvaient dans la rue à rien faire, à passer leur journée à être à côté sur le mur. Et ce qui les tenait, c'était des blagues. Des blagues. Moi, j'ai un cousin qui s'appelle Sofiane et son père qui est orthopédiste. Il travaille de clinique en clinique. T'sais, c'est comme un coiffeur qui loue son siège.
Okay. Déjà, c'est marrant.
Mais il gagne sa vie comme ça et c'est dur même. Parfois, ça peut être dur économiquement, mais même lui, il souffre des fois dans la journée. Il peut souffrir, tu vois. Et dès qu'il rentre chez lui, man, c'est un moulin à blagues. Il décompresse en faisant rire sa famille, tu vois. Et moi, je me rappelle avoir ri pendant 6 heures avec lui. Et j'en ai mal à la mâchoire. Je sais pas comment t'expliquer, c'est... Ouais, je sais pas d'où ça vient, je sais pas.
Ça a dû jouer, en tout cas.
Ça a dû jouer, ouais. Puis on aime la blague aussi, tu sais. Et aussi, j'étais entouré de cousins qui te lançaient des pics, tu sais. Et t'as pas le choix de répondre, t'as pas le choix d'avoir de la répartie pour pouvoir te défendre.
Ok, ouais. Ça construit aussi ta répartie.
Ça construit ta répartie, mais d'une force.
Mais en parlant d'humoriste, d'humour en Algérie, il y a un humoriste algérien qui a eu une grosse influence sur toi, parce qu'à 6 ans, ton père te montre une cassette de Fellaig.
Ouais.
Et je pense que c'est le premier humoriste que tu vois à la télévision. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois pour la première fois un humoriste sur scène qui fait des blagues?
C'est inexplicable, c'est vraiment des frissons. Des frissons, parce que c'était vraiment... Il y avait un micro à la main, hein, il n'y avait pas le micro-casque. Mm-hmm. Vraiment micro à la main, et il y avait des gens assis par terre, en tout cas de ce que je me rappelle, et c'était vraiment en mode 180, un peu comme le stand-up aujourd'hui.
C'est ça.
Et il parlait avec un rythme, et je voyais les gens rigoler, tu vois, rigoler, mais avec une force. Et c'était magnifique. Après ça, tu vois, Fellaig, quand il est parti en France, c'est devenu un peu plus théâtral, mais il était toujours drôle, tu vois. Mais moi, ce que j'avais vu, c'était vraiment du stand-up. Il y avait cette force de réunir autant de monde et de faire rire avec des sujets de société. Moi, ce que je me rappelle, je pense que j'en ai parlé au podcast de d'Angry Room, il parlait de la gifle sociale en Algérie, tu vois, où tout ce que tu fais dans la vie, tu te feras toujours gifler, tu sais, t'es à la maison, tu te fais gifler, tu sors dehors, tu te fais gifler, la société te gifle, tout le temps, tout le monde te gifle, tu vois. Et il y avait un rythme, mais incroyable, et les gens étaient morts de rire. Et ça m'a... C'est venu me chercher, ça a installé un truc en moi. Ça, c'est sûr et certain.
Mais
c'est
de façon consciente ou plutôt inconsciente?
Inconsciente.
Inconsciente.
Mais savais que j'étais focusé sur ça même. J'entendais mes parents parler. C'est incroyable, Reda, il observait la télévision alors qu'il est déchaîné.
Ouais, ça t'a canalisé sur un truc. Quoi.
Ça m'a canalisé sur un truc, ouais. Wow.
À la maison, il y a ton père qui regarde aussi beaucoup d'humoristes.
Ouais.
Humoristes français, il y a les Inconnus, les Nuls, Smaïn aussi,
ouais.
Daffelag, dont on ouais. parlait. Est-ce que tu penses que ça t'a influencé, ces humoristes-là, les humoristes français, ce style d'humour? Parce que t'étais au Québec, t'aurais pu être plus influencé par des humoristes québécois, parce que l'humour au Québec était déjà plus développé.
Oui, effectivement, mais en fait, la première porte en humour, ça a été l'humour algérien, certes, mais l'humour français... Parce que mon père écoutait vraiment beaucoup TV5. Mmh. C'était vraiment TV5 Monde. Il suivait les informations. Parce que je pense que c'était les seules informations qui pouvaient montrer qu'est-ce qui pourrait se passer en Algérie, tu vois. Okay. Ou dans le Maghreb en général, tu vois. Il n'y avait pas beaucoup d'infos. Il y en avait, mais c'était pas aussi présent que TV5 Monde. Donc pour moi, mon père, c'était important de... C'était vraiment un rendez-vous assidu pour lui de... Ça se dit un rendez-vous assidu?
Moi, ça me va.
Ok.
Vous direz dans les commentaires, mais moi, j'ai compris ce que tu voulais dire. C'était... Pour moi, c'est clair, mais...
Ok.
Après, est-ce qu'un Belge et un Québécois peut débattre de la langue française? Je sais pas. Je laisse les Français qui écoutent nous dire.
Mais il était très assidu.
Il était très assidu.
Bah, voilà.
Dans son écoute.
Dans son écoute. Très assidu dans son écoute du téléjournal français sur TV5. Et c'est vraiment là où il y avait, où on pouvait voir les Inconnus, les Nuls, Alain Chabat. C'est grâce à lui, grâce à mon père que je connais Alain Chabat. Et mon père même, il enregistrait des émissions, qui passaient à la télé sur TV5, sur vidéocassette. Donc ouais, c'est sûr et certain que ça a été la première, ouais, le premier entrée, ça a été l'humour français.
Ok.
Ouais.
Je pense qu'après, il y a aussi le spectacle de Jamel,
ouais.
100% de Bouze.
Exactement.
Qui est le spectacle que moi, j'ai regardé aussi en boucle.
En boucle.
Ce spectacle est exceptionnel.
Ouais, ce spectacle-là, je vibrais. Je ne sais pas comment t'expliquer. Et c'est vraiment grâce à Jamel que je me suis dit, je veux faire ça.
Mais là, de façon consciente.
Très consciente. Okay. C'est vraiment la consécration de la conscience. Reda et son français. Je suis parti 2 ans en France, hein. Mais ouais, c'est là où vraiment tout a commencé, où je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. Et je regardais ça en boucle. Je connaissais par cœur.
On a regardé en boucle le même spectacle.
C'était impressionnant. C'était le jeu. C'était
l'aisance, le show.
C'était ouais.
Ce spectacle, moi, je l'ai rayé à force de regarder le DVD.
Ouais.
Donc il y a des passages, je ne sais plus écouter.
Ouais.
Donc je fais moi la partie qui manque. Je fais mal Jamel, mais je le fais.
Mais c'est pas possible. Il se tapait les cuisses.
Le public aussi. Mais ouais. Mais après, il y a. Je pense que tu parlais aussi Gad Elmaleh,
ouais.
Anthony Cavana, tout. C'est un peu cette génération-là.
Ouais.
Et tu disais dans le podcast de Pépé Rivard qu'ils étaient contents. Ça y est, on parle de nous.
Ouais.
Est-ce que c'est important de voir des gens comme ça pour que tu dises c'est possible pour moi?
Je pense que ça l'a joué beaucoup.
Okay.
Ouais, je pense que ça a beaucoup joué, même si les Inconnus ou les Nuls, c'était là. Mm-hmm. Je pense que je le savais au fond de moi, mais sans mettre les mots dessus. Mais oui, ça l'a joué parce qu'il parlait de nous et tout ce qu'il vivait, je le vivais. Donc je relate ce qu'il me dit et je trouvais ça incroyable. Et j'étais comme, mais c'est ça que je veux faire. Mais je sais pas pourquoi, mais oui, parce que j'étais au Québec, j'ai grandi au Québec, je suis né au Québec, dans une culture arabo-musulmane, et à l'extérieur c'était très québécois, donc il y avait personne qui me ressemblait à la télé, tu vois, à part Norman Brathwaite. C'était ça, quand il y avait La Petite Vie, puis qu'il y avait Norman Brathwaite qui passait, je suis comme, ah, il est comme nous. C'était vraiment, ou sinon, quand je croisais un latino, tu sais, il y avait beaucoup de latinos, il y avait une communauté latino très fort présent, fort développée au Québec. Et quand j'en croisais, juste parce qu'il était brun, j'étais comme, hey, on est cousins. On est cousins. Puis même lui, il était comme, oui, on est cousins, ok. Alors que c'était pas... Mais il y avait toujours cette recherche de qui me ressemble, tu vois. Et surtout, un gars qui a grandi à Saint-Eustache où il y avait un petit peu de racisme à l'époque. Donc forcément, quand on croisait, on comprenait, tu sais, on se comprenait. Et quand il y a eu Jamel à la télé... Tu te dis, ah ouais, ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
C'est quelque chose que j'ai déjà entendu dans plusieurs épisodes de podcast, que Jamel, ça a ouvert la possibilité à plein de gens de la communauté maghrébine de se dire « mais c'est possible pour nous ».
Ben ouais.
Et après, le Jamel Comedy Club, encore plus, c'était ouais. ouvert à plus des communautés et plein d'humoristes différents. Moi, j'ai découvert Yacine Bellous avec le Jamel Comedy Club.
Exact. Il m'a tellement marqué, ben ouais.
Moi, Yacine, j'ai eu l'occasion de lui dire, c'est vraiment, je voyais quelqu'un, là, je m'identifiais dans le côté, ça a l'air d'être... Parce que Jamel, je m'identifiais pas beaucoup, parce que c'est vraiment un showman.
Ouais.
Et là, je me disais, ça, je peux pas faire, c'est pas possible. Et après, je voyais Yacine, je me dis, mais ça, c'est une personne normale, qui a l'air timide, qui a l'air réservée. Je veux être lui. Il fait le meilleur métier du monde et en plus, il est resté lui-même.
Intègre.
T'es pas obligé d'être un showman.
T'as pas besoin, ouais. Moi aussi, Yacine Bellous, il m'a beaucoup marqué. Il y avait Thomas Njijol qui m'avait beaucoup marqué. Il y avait beaucoup Fabrice Eboué, Mel Chabi. Ouais, la première saison m'a vraiment beaucoup marqué. Mais Yacine Bellous, c'est vrai qu'il arrivait avec un truc complètement différent, décalé et qui collait bien à sa personnalité. Et c'est ça qui me fascinait. Tu vois, il a ouvert, je pense, même Yacine Bellous, sans se rendre compte, je crois, il a marqué, en tout cas, tous les humoristes en ce moment qui sont dans les comedy clubs et qui sont fucking bons. Ben, c'est tous ceux qui étaient fans de Yacine Bellous lors de la première saison.
Ah, j'espère qu'il entendra ça, ça lui fera plaisir.
Mais c'est vrai parce que... Et même quand tu le vois, Yacine Bellous en ce moment, c'est incroyable. Il est dans l'exploration au plus total. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est incroyable, tu vois.
Moi, j'ai souvent dit à ma copine, quand on parlait de qu'est-ce que tu veux faire avec l'humour et tout ça, moi je dis je veux être Yacine Bellous. C'est ça, je veux atteindre ça. C'est mon niveau de réussite, de je suis fucking bon dans ce que je fais, mais super chouette avec le public, super chouette avec les humoristes.
Ouais.
On n'entend que du bien de lui. Je sais pas. Ouais, chaque interaction de Yacine Bellous, je suis là. C'est ça, c'est comme ça qu'il fallait faire.
Ouais.
J'adore le voir après le spectacle, comment il va parler au public.
Ouais.
C'est en recherche de comment s'améliorer, de comment ça a été pris par le public. C'est beau à voir.
Pendant le talk show d'Alain Chabat lors de la Coupe du Monde, Yacine Bellous... son numéro, même s'il y avait d'autres numéros incroyables, parce qu'il présentait des humoristes une fois par semaine. Et puis, Yacine Bellous, c'était de loin le meilleur. Alors que les autres humoristes, ils étaient vraiment très, très bons. Et aussi, c'était un contexte compliqué parce qu'il y avait beaucoup... Je sais pas si tu l'as vu.
Si.
Et c'était incroyable. Genre, les gens riaient spontanément. Alors que les autres riaient aussi, ça fonctionnait super bien. Sauf que c'était un peu plus dur, tu sentais que c'était un peu plus dur et c'était vraiment plateau de télé. Et je pense que j'aurais pas fait mieux, j'aurais fait même pire. Mais Yacine Bellous, il est arrivé tellement préparé, c'était tellement magnifique, c'était trop beau. J'ai eu la chance de lui écrire et lui dire, j'ai pris un screenshot et je lui ai envoyé et j'ai trouvé ça magnifique.
Ça me fait rire parce que quand je repartage l'épisode du podcast avec lui, il le repartage à chaque fois et moi je lui envoie un message de « tu n'es pas obligé hein. ». Parce que je le tag dans beaucoup de posts et ça doit être un peu embêtant à force. Mais à chaque fois, il partage avec grand plaisir, il fait des retours et...
Il n'y a pas de snobisme chez lui, il est très accessible. C'est ça qui est cool.
J'avais eu l'occasion de faire sa masterclass à Paris. Et s'il y a des humoristes qui écoutent et qu'il le refait, je ne sais pas s'il a l'intention d'en refaire, faites-le.
Ouais.
C'est très bien, c'est très très bien.
Tout à fait.
Mais on va revenir sur ton parcours.
Ouais.
Tu as commencé l'impro très jeune aussi.
Ouais.
J'ai entendu 7 ans, mais je ne sais pas si c'est...
7 ans, ouais.
Commencer l'impro à 7 ans, c'est génial, je trouve.
Ben, parce que l'improvisation au Québec, c'est très présent. Mm-hmm. C'est extrêmement présent. Et il y avait toujours des profs d'improvisation qui venaient dans les écoles primaires. Comme activité, ils me faisaient faire de l'impro, tu vois. Effectivement, la classe, il y avait un filtre naturel qui se faisait... Et moi, je sais qu'il y avait une prof, elle est venue me voir, et elle me dit « Ah, t'es très drôle, continue. Tu sais, t'es bien, t'es vif. » Et je pense que j'ai pas arrêté depuis ce temps-là. J'ai toujours fait de l'impro.
Ok.
Ouais.
Mais ouais, t'en as fait surtout au lundi d'impro au Théâtre Sainte-Catherine.
Et ouais.
T'as fait ça pendant vraiment longtemps, tu continues à en faire?
Genre, je continue à en faire.
Ok, ouais.
Oh, ouais, pour moi, c'est un relax cerveau. À chaque fois que j'y vais... Je rigole tout seul, je vois les autres improvisateurs monter sur scène, je rigole tout seul, je monte sur scène, je me laisse aller. En stand-up, c'est différent, je rigole de l'intérieur, parce que tu rigoles plus vraiment. On est beaucoup plus dans l'analyse quand on fait du stand-up. Et je trouve ça dommage d'avoir perdu ça. J'aimerais ça le retrouver. Je l'ai retrouvé après la pandémie, quand je retournais jouer dans les soirées de stand-up. Ça me faisait tellement plaisir, donc je retrouvais ça. Mais ça, tu le perds à un moment donné parce que t'es tellement dans ta tête, t'es tellement en train de chercher des blagues qu'il n'y a plus cet effet de spontané. Et je le retrouve en impro.
T'es comment en impro? Est-ce que ça ressemble à ce que tu fais sur scène ou t'es plus physique, plus...
En impro, je suis fou. Je me laisse tellement aller, il n'y a plus de code, il n'y a plus rien en fait. C'est sans filet et ouais, c'est vraiment le lieu où je me laisse aller. Et moi, ça a été très particulier parce que j'ai fait du stand-up. Quand j'ai commencé à faire du stand-up, moi j'ai étudié en architecture. Je faisais des études en architecture et j'ai commencé le stand-up en 2008-2009. Donc, j'écrivais des idées, des blagues. Donc, c'était plus ou moins bon, tu vois. Et des fois, c'était vraiment bon. Ben, vraiment bon. Mon Dieu, j'exagère tellement. C'était bon à cette époque-là. On voyait beaucoup les ficelles. On voyait vraiment la structure. Tu sais, on sentait que j'apprenais par cœur mon texte. Mm-hmm. Et il n'y avait pas tant de folie. Et moi, c'était Wari Nishen, parce que Wari Nishen vivait à Montréal. Il a commencé l'humour à Montréal. On a commencé un peu à peu près en même temps, moi et Wari Nishen, mais on en reviendra plus tard. Et Wari Nishen, lui, avait commencé les lundis d'impro, et c'est lui qui m'a dit « Viens au lundi d'impro ». Et je l'ai suivi, j'y suis allé, et depuis ce temps-là, je n'ai jamais lâché les lundis d'impro. Et ça m'a beaucoup appris, même en stand-up. Ça m'a ouvert les chakras. Ça m'a donné une certaine folie que j'avais pas à l'époque. Vraiment, ça m'a poussé. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, je le pousse jusqu'au bout. C'est grâce aux lundis d'impro. Ça a été mon école de comédie.
Ça, je le demande à tous les humoristes que j'ai vus dans le podcast qui étaient improvisateurs.
Ouais.
C'était quoi ta catégorie préférée? T'as pas fait beaucoup de matchs.
Non, j'ai pas fait beaucoup de matchs. J'en ai fait beaucoup au primaire et au cégep. J'aimais pas beaucoup le match parce qu'il y avait l'effet compétition que j'aimais moins. Les lundis d'impro, c'est beaucoup plus impro théâtral. On est plus dans l'exploration, puis on travaille ensemble, tu sais. Mm-hmm. C'est-à-dire que si on est trois personnes sur scène, c'est vraiment on crée une histoire ensemble. Et lorsqu'on arrive avec une scène incroyable, on est tous contents puis on en parle. J'en ai fait un peu de match, mais je peux pas te dire.
C'est pas ce qui t'a touché.
Non, c'est pas ce qui m'a touché, mais j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font, puis ils sont extrêmement drôles.
Okay, ouais.
Je peux t'en nommer plein qui sont extrêmement drôles en impro.
Moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir les shows de la LNI.
Ah, ils sont...
Oh, le show des étoiles de la LNI, je suis impressionné.
Ouais.
Je suis vraiment très, très impressionné de... C'est un niveau d'impro... Si on me dit que tout est écrit, je le crois.
Ouais.
Tellement que c'est bon, mais c'est le principe, c'est que c'est pas écrit. Ils ont réussi à me faire pleurer sur une impro.
Ouais.
Ils me font rire. Je vois pas comment ils arrivent. Allez, tu fais de l'impro, tu te dis, bon, j'ai ce titre-là, qu'est-ce que moi je ferais? Je partirais là-dessus.
Ouais.
Il a dit ça, allez, on va partir sur ça. Et eux, ils partent sur un truc tellement mieux structuré, mieux amené.
C'est incroyable. Ils sont forts. Mais toi, moi, ce que je préfère, il y a une ligue, ça s'appelle la LIM. C'est au Lion d'Or. Et c'est très théâtral. Et ils sont extrêmement drôles. Ils jouent bien, ils sont punchés. Et voilà, c'est ce que je préfère parce qu'il n'y a pas de compétition et c'est vraiment bon enfant, tu vois. Le Punch Club aussi, j'aime beaucoup. Mais je sais que je serais très mauvais dans ce...
Dans ce contexte-là.
Dans ce contexte-là.
Plus la compétition, c'est pas ton truc.
En compétition contre moi-même, tu sais, je peux te sortir des phrases classiques, mais... Mais non, je pense que je suis pas très très bon dans... Ça me stimule pas et je serais pas bon nécessairement. Et il y a des gens qui sont extrêmement bons et qui le font très très bien. Mais quand je construis avec des gens, là je suis imbattable.
Ok.
Imbattable.
Ça marche. Je vais juste garder ça. Je suis imbattable.
Imbattable.
Et après, tu fais tes études secondaires à l'école Marie Curie à Laval.
Ouais.
Mais dans cette école qui est assez dure.
Ouais.
T'es un peu exclu, et pour éviter les problèmes de harcèlement, de grossophobie dont on parlait tout à l'heure aussi, tu te réfugies avec deux amis dans la cage d'escalier. Un qui avait un gros problème de bouton, et un autre qui te tapait pour jouer. Et t'expliques que c'est là que tu as commencé à être drôle.
Ouais, en gros, ouais, c'est ça, j'étais gros, je suis un ancien gros, et comme je le répète, à cette époque-là, la grossophobie, c'était un mot qui n'existait pas. Même l'intimidation, ça n'existait pas. Et au secondaire, c'est très dur. C'est très, très dur parce que tu cherches ton identité, tout le monde se cherche. Tu essaies de trouver tes amis, tu essaies de trouver ton clan. Et moi, il y avait personne qui était vraiment intéressé à moi parce que ben, je représentais tout ce qu'on pouvait exclure, tu vois. Mm-hmm. Et donc, je me réfugiais dans la cage d'escalier. Donc, j'allais, par exemple, pour la récréation du midi, j'allais chercher ma poutine parce que le vendredi...
C'est poutine.
C'est poutine. J'allais à la cafétéria pour m'acheter ma poutine. Et là, j'allais me réfugier dans la cage d'escalier et j'avais que des gens comme moi qui se réfugiaient dans la cage d'escalier. Et c'est ça, il y en avait un qui avait... Tu sais, on était vraiment comme des... Pas des rats, mais on était des... Tu sais, ceux qui étaient vraiment dans l'obscurité au plus total. Puis... Je sais pas si tu vois un peu l'image.
Je vois bien.
Et t'avais un gars qui faisait de la boxe à ses temps perdus, puis à chaque fois qu'il me voyait, il me tapait. J'étais son punching bag, tu vois. T'es comme, c'est pour te renforcer. Il me tapait. Il y avait un gars qui avait des boutons de la mort, mais vraiment, il y avait des boutons sur des boutons. Mais c'était mes amis. C'était mes amis. J'ai commencé à fumer des joints avec eux. On a commencé à... Mais des blagues de qui sortent de nulle part. Je te jure, c'était des blagues. On pouvait rire de n'importe quoi, du gazon, puis on faisait parler le gazon. je te le jure, c'était... Et ça nous faisait rire que nous, vraiment. Et on explorait, tu vois. Tu sais, puis des fois, il y avait des moments où on parlait pas. On s'assoyait, puis on parlait pas. Puis une personne parlait, puis on se moquait de lui. On se moquait des boutons de l'autre, on se moquait de moi surtout. Moi, c'était vraiment, t'es gros, t'as des seins. Et c'est ça, c'était vraiment des blagues par-dessus blagues et c'était tellement pas rapport, mais ça nous faisait rire parce que c'était pas drôle. C'était tellement pas drôle que ça en devenait drôle. Et on pleurait de rire, tout ça. Et même les gens qui nous regardaient, les populaires, ils passaient à côté de nous, ils étaient comme « What the fuck? Qu'est-ce qui se passe ?» On était vraiment des exclus. Mm-hmm. Et je me rappelle, une année, j'étais parti avec mon père au Maroc pendant deux mois, au Maroc et en Algérie. Et c'était vraiment la période de la puberté, donc j'étais en pleine croissance, je jouais beaucoup au soccer avec mes amis, avec mes cousins, mes amis, tout l'été. Et j'étais revenu un peu musclé, j'avais maigri, j'avais moins de boutons, j'étais un peu plus, disons, beau gosse à cette époque-là, tu vois. Ben, je représentais... il a changé, Reda, il est mignon, Reda, tu sais. Mm-hmm. Donc, j'étais plus attractif au secondaire et les gens... j'étais beaucoup plus intéressant et c'est dommage.
C'est triste, mais...
C'est triste.
C'est clairement comme ça que ça se passe.
C'est tellement triste. Et moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, pour moi, c'était magique. Mm-hmm. Pour moi, il s'est passé quelque chose de miraculeux parce que je suis passé à... exclu, les gens se moquaient de moi et il y a des gens qui me regardent, je deviens intéressant. Et il y avait c'était très bizarre ce phénomène-là. Donc j'étais tellement content, en même temps je trouvais ça bizarre. Je m'en rappelle, j'en ai eu conscience. Et pendant longtemps j'avais peur de retomber, de grossir en fait, parce que j'avais peur de perdre ce moment où les gens me trouvaient intéressant. C'est très bizarre.
Ouais, c'est bizarre. Mais à l'adolescence,
tu veux plaire. Mais par contre, j'avais le même humour de la cage d'escalier qui était resté et les gens trouvaient ça super drôle. Tout d'un coup, c'était super drôle et j'étais devenu le comic. J'étais comic underground. J'étais drôle de manière très underground dans la cage d'escalier. Après ça, je suis devenu populaire. Alors que tout...
Les blagues n'ont pas changé, mais...
Tout part de là, en fait. Tout part de là. Et j'en ai pris conscience, mais vraiment, que ça venait de là. Et que je voulais pas perdre de ça. J'avais peur de perdre, genre, le regard des gens. Mm-hmm. Mais là, maintenant, j'ai vraiment fait le deuil de ça. J'avais 16 ans, j'ai fait le deuil de ça. Mais je sais que je me rappelle, tout jeune, j'avais peur d'être plus...
Regarder.
Mais je me rappelle que la cage d'escalier, c'était là que tout était parti. Genre, du rien.
Encore une fois, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure avec l'Algérie, c'est que c'était dur, probablement d'être exclu et tout ça, donc il fallait rire.
Ouais, il fallait rire.
Le nombre d'humoristes qui ont eu un passage où ils étaient pas bien dans leur corps, problème de poids ou de ce genre de choses, c'est énorme.
Ouais.
Je me reconnais à fond. petit gros, l'école en secondaire, tu perds du poids et tout d'un coup, les gens te font un et
mais
t'as perdu du poids. Et
je sais pas,
c'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais je sais pas si t'as senti comme moi ce sentiment de c'est un miracle.
Ouais,
il
ouais.
s'est passé, une... il y a eu une magie quelque part. Il s'est passé quelque chose. Mais la magie, c'est la puberté, tout simplement. Quand je reprenais du poids, moi, ça me faisait... C'était comme si c'était... Je sais pas comment t'expliquer. C'était tellement dur pour moi. Mm-hmm. C'est comme, oh mon Dieu, c'est fini pour moi. C'est fou quand même, ouais, le regard c'est... de l'autre. Tout part du regard de l'autre. Et... Mais c'était au secondaire. Et en plus, j'étais dans une école. C'était pas une bonne école. Le trois quarts des élèves ont eu un parcours. Soit ils ont fini en prison, soit ils ont lâché l'école. Il y en a qui ont fait un bon parcours, qui ont eu un très très beau parcours. Mais je devais me défendre. Donc, tu sais, moi, j'étais dans un autre clan, à un moment donné, tu vois. Alors que c'était mes amis. Moi, je naviguais entre ceux, mes nouveaux amis et les gars de la cage d'escalier. Donc, je naviguais entre eux, tu vois. Et pour conserver ça, et pas conserver ça, mais tu sais, quand il y avait des gens qui voulaient se battre avec moi, mais moi, je me moquais avec des blagues et je faisais rire la tribune, je faisais rire tout le monde et je gagnais.
Parce que t'étais plus drôle.
Ouais, ouais. Et moi, c'était, j'ai imité. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que j'imitais la manière dont il marchait, j'allais chercher le défaut chez l'autre et je l'accentuais. C'était, et ça faisait rire tout le monde. Et les gens venaient me voir et disaient, t'es un fou! T'es un fou! T'es un fou! Ah, c'est fou! Et moi, j'étais comme, waouh! Je suis un fou! Je m'en rappelle, même quand j'allais dans des parties, je me préparais des blagues.
Ah, waouh!
Je te le jure, je me préparais, même je rentrais chez moi le soir et je me préparais des blagues.
Ok, waouh! Je vais arriver à cette soirée, je vais dire tel truc.
Tel truc, ouais, ouais. Wow. Si je me fais 10 par l'autre personne, je sais exactement quoi lui répondre.
C'est fou, c'est ouais. fou de. Ouais, de venir préparer avec ses blagues pour que les gens se disent « Eh, il est fou !»
Et ce qui est encore plus fou, je sais pas si tu connais le 450 Comedy Club à Laval.
Ah non.
Animé par Mi Benson.
Non, j'ai pas eu l'occasion de...
Qui est à Laval. Ben avant, c'était pas un comedy club, avant, on allait devant ce lieu.
Ok.
C'était une poutine, c'est une poutine, c'était un restaurant de poutine.
Ok.
On allait, il y avait un banc. Et on s'assoyait là et je faisais que des blagues là. Et c'était ça. Avant d'aller là, dans ce lieu-là, je me répétais des blagues avant d'aller voir mes amis. Alors que j'allais pas faire de l'humour, mais c'est juste je me préparais humoristiquement.
À faire un show d'humour.
À faire un show, pas un show d'humour, mais à être prêt à sortir des blagues.
Oh, c'est fou quand même. De que ce soit si conscient, si préparé. Tu préparais vraiment comme si t'allais faire un show, mais t'allais voir des amis.
Ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, avec le recul, tu te dis « Ah ouais, c'est fou ».
T'as créé tes armes comme ça, quoi.
Mais j'en avais pas nécessairement conscience, mais j'en avais conscience que je préparais mes blagues. Et ouais.
Mais après, tu voulais faire de l'improvisation de la scène, mais tu choisis finalement de faire des études en architecture.
Ouais.
Est-ce que c'est uniquement pour rassurer tes parents ou pour te rassurer toi parce que la scène, tout ça, c'est compliqué ou c'est vraiment quelque chose qui t'a attiré, l'architecture? C'est... Pourquoi l'architecture
L'architecture, parce que j'étais bon en maths. J'étais très, très bon en maths. Et j'étais bon en dessin aussi. C'est pas allé plus loin que ça, vraiment.
Okay.
Ça a vraiment pas été plus loin que ça. Et aussi, ben mon parcours scolaire, il était vraiment. J'avais pas des bons amis non plus. Tu sais, ça revient un peu à. Je voulais me faire accepter et je me suis retrouvé avec un groupe d'amis pas très cool non plus. J'ai lâché l'école pendant 2 ans. Ma vie était pas foufou à ce moment-là. Et je me rappelle que j'étais parti. En Algérie, encore, tout le temps en Algérie. Et je voyais comme quoi que il faut que je bosse. Je suis devenu un peu plus pratiquant dans la rue. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à pratiquer l'islam. J'étais plus je pratiquais l'islam. Je faisais la prière. Donc j'étais revenu un peu plus en mode plus sérieux parce que yo ma vie ça va pas et j'étais pas avec des bonnes personnes. J'ai recommencé mon parcours scolaire. Je suis retourné à l'école. J'étais allé aux adultes. Après ça j'ai fini mes études aux adultes et après ça j'ai fait mon cégep. J'étais allé au cégep Saint-Laurent et en architecture, en technologie en architecture. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire de l'humour.
Ok. Mais ça, justement, je ne sais pas comment tu as commencé à faire de l'humour. Je sais que ta première scène, c'est en 2008 au Saint-Cyboire.
Ouais.
Mais je ne sais pas comment tu as fait cette transition de « je vais commencer à faire de l'humour, c'est le moment, c'est l'instant ».
Bah, c'est ça. Ça a été vraiment dans cette période-là. Je sais que je voulais faire ça. Je savais pas que ça existait. Mais je regardais tous les spectacles d'humour. C'était vraiment, j'étais fan. YouTube était arrivé. Je regardais tous les humoristes américains. Il y avait beaucoup de Gad Elmaleh que je regardais, beaucoup de Jamel Debbouze, beaucoup de Dave Chappelle. Là, j'ai commencé à m'informer là-dessus, mais j'étais vraiment dans mon parcours scolaire et j'étais vraiment rendu très sérieux. Moi, c'était, j'allais aux études, je travaillais beaucoup, je rentrais à la maison, je faisais mes prières et je faisais mes devoirs. J'avais plus d'amis. J'avais vraiment fait un tri dans mon amitié et j'étais vraiment rendu focus, mais j'avais vraiment envie de faire de l'humour. Je savais pas comment faire. Quand je suis arrivé au cégep en architecture, j'ai commencé à me laisser aller, je me suis fait des amis. Et puis, c'était un ami à moi qui m'a ouvert un Facebook. C'était nouveau à l'époque, Facebook. Il m'a ouvert un Facebook, je savais pas comment ça fonctionnait. Et il a fait des recherches, genre soirée d'humour. Et là, il y avait une liste de soirées d'humour. Et il est tombé sur le Saint-Ciboire, qui était à l'époque... l'ancien booker de cette époque, à cette époque-là, c'était Junior Girardot. Je sais pas si tu le connais. C'est le booker actuel des Galas Juste pour Rire. C'est lui qui sélectionne. Mais à l'époque, c'était lui qui bookait. Et il s'est fait passer pour moi. Il m'a dit, t'es trop drôle. Tu dois. C'est ça. Bref, en gros.
Il t'a inscrit sans te le dire?
Sans me le dire.
Ok.
Il m'a inscrit sans me le dire.
T'es pas le premier humoriste. C'est marrant que les gens fassent ça.
Ouais.
Je trouve ça fou que les gens ont plus conscience que toi qu'il faut que tu le fasses.
Ouais, mais je pense que je le disais. Que c'était mon rêve aussi faire de l'humour.
Je trouve ça toujours marrant qu'il y a quelqu'un qui se dit, qui croit tellement en ce que tu peux faire, qui va t'inscrire pour toi, pour que tu te bouges toi. J'adore ça.
Et puis il m'a dit, dans 6 mois, tu joues Saint-Ciboire. J'étais comme, quoi? Yo, quoi?
6 mois?
6 mois? c'est vite. Non, je pense qu'il m'avait booké, c'était dans 2 mois, et je lui ai dit, yo, c'est trop tôt. Et là, il a réécrit à Junior Girardot et il m'a... Junior Girardot, c'est ça, il m'a donné une date 6 mois après. Donc, je prépare pendant 6 mois un numéro à fond, j'étais là-dessus. Et je fais mon premier spectacle,
J'ai pas retrouvé la date, ça pour le coup.
Ça, je l'ai ici, je peux même te le retrouver.
Ah.
C'est le 27 mai. Yo, 27 mai 2008, ça fait longtemps. Hein. Yo. Longtemps. Et ma première scène, c'était au Saint-Ciboire. C'était animé par Ben Lefebvre. Et il avait raté mon nom. Je me rappelle que j'avais fait une blague là-dessus.
Est-ce que tu avais déjà changé? Parce que Reda Saoui, tu as raccourci ton...
Non, j'avais pas changé à cette époque-là. J'avais pas de... C'était pas à cette époque-là. Après ça, j'ai joué en 2008, c'est ça. J'ai joué et c'était bon. Je me rappelle que j'étais content. Genre, quand j'ai joué, j'ai eu la piqûre. Mm-hmm. Mais c'était pas bon.
Oui, mais ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé.
Et tu te rappelles de quoi tu parlais?
Pas du tout. Je pense que je parlais de la cabane à sucre. À l'époque, c'était les accommodements raisonnables. Il y avait un gros débat sur les accommodements raisonnables. Il y avait beaucoup de musulmans qui étaient critiqués parce qu'on leur demandait de prier à l'université. Puis à la cabane à sucre, il y avait un groupe de musulmans qui avait demandé de pas manger de porc. Et là, ça a fait une polémique.
Okay.
Et je pense que j'avais écrit là-dessus.
Okay.
Je pense que j'avais écrit là-dessus. C'était un peu politique, sans me rendre compte. Et ça avait ri, il y avait des accents, et je faisais beaucoup du Jamel Debbouze. Je criais beaucoup, je grattais mon oreille, et je me tapais la cuisse, un peu comme Jamel Debbouze. Il y avait beaucoup de mimétisme.
Ce qui est normal.
Ouais, mais je me rappelle que ça avait ri, mais avec un regard d'un gars qui commence, tu sais. Je sais pas.
mais la première scène se passe bien.
En fait, là où ça s'est vraiment passé, c'est que j'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais dans un nuage et j'étais tellement content, j'étais heureux, j'étais satisfait et je savais exactement que c'était ça que je voulais faire. Après ça, je continue mes études en architecture, un an passe, le Couscous Comedy Show commence et c'est chapeauté par Uncle Fofi. Donc c'est un gars qui faisait du couscous et en même temps... de l'humour. Et il m'a invité le premier soir, le 9 mai 2009.
Okay.
Donc, un an plus tard. Tout a commencé le mois de mai pour moi. Le premier show, ça se passe bien, mais c'était mauvais. Je pense que j'ai encore la vidéo, mais c'est tellement mauvais. Je me trouvais drôle. À l'époque, j'étais comme, OK, ça marche. Mais c'était tellement mauvais. Mais le couscous comme du show, le public était incroyable. Il était magique. Ça a été, j'ai joué à toutes les semaines, j'ai fait mes armes là et je me suis construit là. C'était à l'époque, ça s'appelait le bar Les Beaux Bars. C'est sur Marianne et Saint-Laurent. Maintenant, c'est rendu un bar, j'ai oublié c'est quoi le nom du bar, mais c'était là. Et c'était trop cool. Là. Pour moi, c'était un événement à toutes les semaines. Et à toutes les semaines, je me préparais un nouveau numéro. Et je m'en rappelle, à chaque fois que je me mettais dans des conditions, pour moi, c'était magique. Il y avait toujours un nouveau sujet qui sortait, puis je l'écrivais, puis je le testais. Des fois, c'était mauvais. Des fois, c'était nul. Des fois, c'était magique. Il y avait des blagues qui sont sorties de là. Et j'ai commencé à me découvrir là, à comprendre que ma force, c'était le act-out. Moi, j'adore le act-out.
Tu es très bon là-dedans.
C'est ma force et je crois ma force. Je sais pas que c'est ma force, mais
c'est une de tes forces.
C'est une de mes forces et mais c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit ben là je suis naturel là, tu sais, là je m'amuse quand je fais ça et les gens embarquent avec moi quand je fais ça. Pendant longtemps je faisais ça, en même temps j'étudiais en architecture. Mm-hmm. Et ça a été ça pendant longtemps jusqu'en 2013, je faisais des allers-retours, je faisais architecture, humour, architecture, humour. Et je me rappelle que j'ai même lâché l'architecture pendant un an. Mais j'ai lâché l'architecture et pendant un an, j'ai fait croire à ma mère que j'étais toujours en architecture.
Ok, bravo. Beau mensonge. Pour pas la décevoir.
Et je pense que je le disais à mon entourage que j'étudiais encore en architecture alors que j'avais tout arrêté.
Ok.
Et je faisais... Mais j'avais tout lâché okay. Pour faire l'humour.
Mais avant ça, moi, j'avais des petits trucs que tu m'as dit. Et ouais. Ce que j'ai trouvé, c'est que tu avais du mal à avoir du booking au début. À part le Couscous Comedy Show, tu jouais pas beaucoup.
Ouais.
Et que, du coup, tu faisais des scènes, des open mic dans les scènes de slam à l'escalier.
Exactement.
Avec Warren Hichen.
Exactement.
Parce qu'il y avait pas d'autres possibilités. Moi, ça me fait rire que t'aies fait des scènes de slam à l'escalier, sachant que c'est dans la cage d'escalier.
C'est bon, vous.
Moi, j'ai fait un lien dans ma tête. Je dis là, c'est fou. Je vois des signes.
C'est tellement ouais.
Mais
ma vie, je te jure, c'est des. Il y a beaucoup de signes dans ma vie. Les gens pourraient croire que je suis fou, mais je te jure que moi, je m'attache à ça. Ouais, on allait à l'escalier. C'était ma copine de l'époque. Il y a longtemps, une de mes ex. Ma copine de l'époque. Donc disons-le comme ça. M'avait fait découvrir l'escalier. Donc c'était vraiment. Très cool quand même, tu sais, c'était très artistique, très bohémien, il y avait des gens qui faisaient du slam, de la musique, tu sais, c'était un open mic de tout, mais il y avait pas d'humour et moi ça m'intéressait, mais beaucoup de slameurs. Et moi ben c'était la période où j'avais tout lâché et que c'était seule ma copine qui savait que j'avais lâché l'architecture pour faire de l'humour. Elle s'appelle Ishraq. Ishraq, c'est une amie en ce moment. Elle a beaucoup contribué pour que j'avance dans ce milieu-là. Beaucoup de respect pour elle. Donc, je salue Ishraq. Et personne ne me bookait. Et j'étais tellement pauvre. Donc, je demandais de l'argent à mes parents pour vivre. Je demandais... j'avais 24 ans à l'époque. Je dormais chez mes parents. Je venais toujours à Montréal parce que je leur faisais croire que j'étudiais. Et je voulais jouer, personne ne voulait me booker parce que personne ne me connaissait. C'est toujours ingrat le début en humour, tu sais, c'est toujours ingrat. Même je le vois, certains humoristes aujourd'hui, c'est dur pour certains humoristes de... Je me retrouve en eux, c'est comme ah, c'est dur, tu sais, des fois, j'écris à plein de monde, personne ne me répond.
Mais le booking, c'est difficile. Enfin, moi, je l'ai vécu ici quand je suis venu.
Ouais.
Sur les 4 premiers mois, j'ai fait moins de scènes que j'ai fait ce mois-ci.
C'est ça.
Parce qu'il faut vraiment du temps pour que tu ailles voir les shows, pour que les gens entendent parler de toi.
C'est ça.
Après, ça n'a pas été si long parce qu'il y a tellement de shows maintenant aussi, ça s'est développé. Mais le début est très frustrant de tu envoies des messages, on ne te répond pas.
C'est ça.
Puis tu vas voir, tu faut aller parler avec la personne, ils disent oui, je vais te booker, tu ne te fais pas booker.
Exact.
Donc ça prend du temps, il faut que ça marche bien à un endroit et qu'on dise ah, j'ai entendu dire qu'à tel endroit ça a bien marché, ça te dit de jouer.
Ouais.
Ça prend du temps. Mais c'est vrai qu'au début, c'est
super ingrat. Et tu sais, pour avoir fait des soirées d'humour, j'ai animé une soirée d'humour avec Dominique Bottex au Clébar. Je peux comprendre. Pourquoi les bookers ne me bookaient pas? Parce que tu as énormément de demandes. Tu veux aussi que ton show se passe bien. Tu ne connais pas la personne. C'est pas contre elle. Ce n'est pas contre la personne. C'est juste, il faut que ça roule. Et puis, quand une soirée ne fonctionne pas, c'est dur parce qu'il faut refaire la promo. Parce que ceux qui sont venus voir le show et ça a été dur tout le long, ils ne vont pas revenir. Ou ils vont revenir dans 4 mois, tu vois.
Il faut remplir,
puis on est dans un struggle et Donc je peux comprendre, tu sais, avec le recul, je peux comprendre pourquoi ils me bookaient pas. Mais on me bookait pas. On me bookait zéro. Donc avec Warren Nichen, ben, on faisait justement les open mic de slam. On montait sur scène, on faisait des blagues entre ciel, ciel bleu, vert, vert, amour, enfant qui sourit, couleur pourpre, naïveté, fleur.
Donc t'avais vraiment envie de faire humoriste, c'était vraiment important.
Mais c'était beau, pour eux, ça m'apprenait plein de choses. Et je me suis fait, j'ai des amis qui sont encore des amis aujourd'hui, qui font du slam, qui sont slameurs. Et qui continue à faire du slam. Entre autres, mon ami Saïd, qui est maintenant à Toulouse. Mais c'est là que je l'ai rencontré, dans ce contexte-là. C'est un très bon ami encore, tu vois. Mais c'est ça. Donc, ça a été l'escalier et le Couscous Comedy Show. Et je naviguais entre les deux. Le Couscous Comedy Show, c'était un événement. Il y avait plein de monde, tu vois. C'était rendu gros, le Couscous Comedy Show, là. C'était incroyable. Ouais.
Mais à quel moment tu annonces à ta famille que tu fais plus l'architecture ? Que tu vas faire du stand-up, parce que tes parents étaient super fiers que tu fasses architecte. Ton père, il avait même une tasse avec ton premier plan. Le premier plan que tu as dessiné, avec une photo de toi jeune à côté.
Ouais, t'es fou. T'es vraiment un cinglé dans ta tête, je te jure, man. T'es allé chercher des... Non, en même temps, je peux comprendre, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé.
C'est une publication sur ton Facebook.
Ouais, bah, ok, ouais, donc t'es allé fucking loin. Donc t'as vu toutes mes blagues, mes donc il y avait des très mauvaises blagues.
je vais pas commenter. T'as dit que tout était à garder.
Ah non. Ah ouais.
Mais c'est ça que je te disais par exemple tout à l'heure avec le podcast, c'est de fait de regarder loin.
Wow.
Je vois qu'il y a des ratés dans les blagues.
Oui, oui.
Et c'est tout à fait normal, mais
ben ouais.
Quand tu commences le stand-up, tu fais des ratés et tu te dis, ben je suis ça. Je suis pas bon. Et je vois des humoristes que j'adore, je fais, ben eux ils sont bons, ils ont toujours été bons. Mais donc si tu remontes dans le temps, tu vois qu'en fait, bah non, ils ont eu des moments durs, ils ont eu des blagues nulles, ils ont testé des choses, ils ont été joués dans des stand-up de slam pour pouvoir avoir du booking. Donc c'est ça aussi qui est, c'est ça que j'aime dans le podcast. Je fais pas que des recherches pour te...
Je sais. Mais juste revenir pour l'escalier, il y a une notion que j'ai oubliée, c'est que c'était dur, mais je savais que si ça fonctionnait là,
ça fonctionnerait.
Ça fonctionnerait. Partout. Et au Couscous Comedy Show, je le voyais parce que c'était devant une grosse foule et j'arrivais avec des textes prêts. Mm-hmm. Et c'était la folie. Donc, pour moi, c'était important. Tu sais, le dur me permettait d'être heureux sur scène, tu sais, mm-hmm. de pouvoir faire rire une plus grosse audience. Et donc, ouais, c'était super important pour moi.
Mais donc, comment t'as réussi à annoncer ça? Que ça y est, je fais plus d'architecture, moi je vais être humoriste.
Ben ouais, je pense que c'est à un moment donné, c'était trop lourd comme secret là. C'était trop lourd là. Je peux pas toujours, tous les jours, aller à Montréal et faire semblant et aérer dans les rues. Je peux pas faire ça là. C'est...
À un moment donné, oui. Je pense qu'ils ont dû se douter de quelque chose.
Ouais. Ma mère, elle a trouvé ça dur plus. Ouais, ma mère, je me rappelle qu'elle a pleuré. Un peu, de ce que je me rappelle. Mais je pense que ça a été dur pour elle parce que je lui ai menti. Puis elle se dit, mais qu'est-ce qui va se passer dans sa vie, tu vois? C'est plus ça. Je pense pas que c'est par rapport à le fait que je fasse de l'humour. Plus, ah ouais, il va galérer, mon fils. Oh là là, ça se passait bien, là. À un moment donné, il a galéré, il a été focus, il priait. Et là, ben, il retombe dans... Tu sais, c'est plus... Oui. La tête d'une mère, je pense que c'est ça, je crois. Hein. Ça a été dur pour elle, mais... Puis je pense qu'au début, elle y croyait pas vraiment parce que... Tu sais, on est une famille immigrante. Elle, dans sa tête, ben, ça va être dur pour toi. Mm-hmm. Ça va être... tu vas devoir travailler deux fois plus fort que les autres. On entend souvent ça. Mm-hmm. Et j'en ai parlé avec plusieurs humoristes, fils d'immigrants. Ils ont tous entendu ça.
que moi, j'entendais pas ça.
Moi Alors moi j'avais des amis qui allaient à l'école nationale de l'humour, c'est leurs parents qui payaient, hein. C'était
ah oui,
genre
oui.
Tu lâches tes études en médecine, tu vas à l'école nationale. Et mais non, moi ça a été vraiment c'est quand même dommage pour toi, mon fils. J'espère que ça va bien se passer pour toi, plus ça. Et maintenant, c'est la personne la plus fière. Genre, elle m'a demandé des places pour mon spectacle au bordel. Elle partage des vidéos de moi, mais des vieilles vidéos claquées, là, je te le jure. C'est, tu sais, des vieilles vidéos, t'as honte. C'est comme, fais pas ça, maman, fais pas ça.
Une fois que tu la vois, tu fais, ah, je l'avais pas supprimée, celle-là.
Ouais.
Ok, je vais la remettre en non répertorié.
Mais elle le partage.
Parce qu'elle est fière.
Parce qu'elle est fière, elle est contente et ouais. Donc oui, ça a été dur à une certaine époque et je pense que le premier chèque que j'ai eu, parce que il faut que ça soit efficace, tu vois, il faut qu'elle puisse se dire, ben j'espère qu'il va bien en vivre. Et je pense que le jour où j'ai eu mon premier chèque de Juste pour rire, parce que j'ai joué un show au festival Juste pour rire, j'ai reçu, je pense, c'était $400 à l'époque. Pour moi, c'était beaucoup parce que c'était mon premier chèque d'ailleurs. Je pense qu'elle s'est dit, ok, je pense que c'est cool. Ouais, gagne de l'argent.
Puis elle voit Juste pour rire aussi, c'est... Allez, au Québec, c'est tellement gros Juste pour rire, on se dit, waouh, il est dans le truc Juste pour rire.
Ouais, aussi. Ouais, aussi, ouais. Okay. Donc elle s'est dit, ok, mon fils, ça va. Ça se passe bien.
Mais donc après un début difficile au niveau booking, trouver des soirées, se faire connaître, tout ça, tu participes en 2013 à l'émission En route vers mon premier gala.
Tout à fait.
Donc la même année que Mariana Mazza, Virginie Fortin ou encore Phil Roy.
Tout à fait.
Quel souvenir tu gardes de l'émission et de tes passages?
Beaucoup de plaisir. J'étais tellement content quand j'étais accepté et je savais que j'étais prêt pour un numéro. Parce que personne ne bookait et je jouais partout le même numéro, partout, Show de Slam et au Couscous Comedy Show. J'avais un bon 15 minutes de près, disons. Mais il y avait un numéro qui était potable à cette époque-là et je me rappelle que j'étais, pour ce numéro-là, j'étais prêt. Genre, je sentais que j'étais prêt. Et d'ailleurs, c'était un ami qui m'a conseillé de le faire et moi, je voulais pas le faire au début parce que dans ma tête, je me disais, ah, télé-réalité, concours. Mais en même temps, mon ami était comme, oui, mais personne ne te connaît. Pourquoi tu... C'est ça. Mais en même temps, ça a été une super chance pour moi parce que c'est grâce à ça que j'ai commencé à jouer partout. C'est grâce à ça que le milieu de l'humour au Québec a appris à me connaître, tu vois, parce que personne ne me connaissait. Mais avec le recul, c'était très maladroit. Très maladroit parce que de un, le numéro que j'ai fait, oui, c'était le meilleur numéro que j'avais, mais c'était un numéro que je n'assume plus. C'était très maladroit. C'était vraiment la preuve comme quoi que j'étais pas prêt. En fait, c'est un sujet que j'assume pas et je suis totalement contre de cette idée. En fait, mon angle, c'était le féminisme est une dictature au Québec. C'était vraiment ça.
On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, que l'humour vieillit mal.
L'humour vieillit très, très mal. En fait, il n'y avait rien de choquant en tant que tel. C'était rien de choquant. Le propos était maladroit. Le propos, c'était un angle parce que... Ben, il y avait un angle. Mais je savais pas écrire à l'époque.
Oui, tu avais trouvé un angle et tu t'es dit, je m'accroche à ça.
Et... Exactement. Et j'ai passé grâce à ce numéro-là. Et je l'ai partagé, j'en étais fier, je le partageais. Et après, j'ai appris beaucoup de choses là-dessus, j'ai lu là-dessus, j'ai fait. Et je l'ai littéralement effacé de sur YouTube.
Je ne l'ai pas revu.
Il n'existe plus, ce numéro-là.
Si moi, je ne l'ai pas trouvé.
Mais grâce à ce numéro-là, j'ai joué vraiment partout. Et j'ai commencé à écrire des nouvelles blagues. Et c'est vraiment en écrivant des nouvelles blagues que j'ai compris que j'étais vraiment pas dans une bonne zone et que j'étais juste dans l'efficacité pure et il y avait rien d'intéressant dans ce que je disais. C'est pas des propos que j'assume.
Non, mais après, ouais. tu évolues, là, tu apprends de tes erreurs aussi,
ouais.
Tu progresses.
Mais même je m'en rappelle qu'à cette époque-là, c'était mal vu de faire de l'humour sur mes origines. Donc, je faisais de l'humour, mais dans un contexte qui était aussi bizarre. Donc, si je me rappelle que les juges, ils m'ont dit, c'est vraiment fou, Reda, tous tes personnages sont québécois. J'avais peur que tu fasses de l'humour un peu ce qu'on avait déjà entendu, tu fasses des personnages un peu... Non, tous tes personnages étaient québécois, donc c'est vraiment bien. Donc, tout était...
Ce commentaire-là vieillit mal aussi.
Exactement. Donc, c'était vraiment... On était en pleine évolution de l'humour. Et c'était vraiment à la période de Virginie Fortin, Mariana Mazza. C'était pile poil en plein changement. c'était le 2013-2014, l'humour a eu un changement radical.
Mais même Virginie Fortin, son numéro de En route vers mon premier gala, elle se moquait des itinérants. Et dans son spectacle suivant, elle disait que cette blague était nulle.
Ouais.
C'était « Je me moque des itinérants parce qu'ils sont itinérants. »
Effectivement.
Et elle en refait quelque chose. Mais parce que pareil, elle n'assume plus son numéro parce que les choses évoluent. Et moi, c'est très bien, tu vois.
Ouais.
Elle a réussi à en faire quelque chose après.
C'est
marrant de voir même année, même concours. Des numéros. Si c'était à refaire, je le referais plus.
En fait, on était des jeunes qui tentaient de faire de l'humour et on pensait que c'était ça, mais tu sais, on était plein de prétentions, je crois, parce qu'on commençait. Et en plus, t'as la télé, t'as les caméras, t'es. Ah bah, en plus, une chance que c'était niche aussi, c'était à ma TV, tu sais, c'était pas très très vu, tu sais. Mais le milieu de l'humour regardait ça. Et Virginie Fortin, j'avais passé avec ce numéro-là. Et je suis arrivé en demi-finale. Virginie Fortin passait juste après moi. Je faisais mon numéro où je parlais de mes origines un peu. Et Virginie Fortin passait juste après moi. Elle fait la blague. Tu connais la blague? Je suis blanche, québécoise, catholique et je veux faire de vraies blagues.
Donc je vais... Je crois qu'elle dit même « Donc, je vais faire de vraies blagues. »
Ouais. Oui. Et ça, ben, effectivement, ça m'a cassé. Dans un contexte où ça se parlait entre les branches où « Ah non, on veut pas que les gens fassent de l'humour ethnique. » Pour moi, c'était tellement raciste. Mais je n'étais même pas capable de
mettre les mots
de
dessus.
Mettre des mots dessus parce mais que je jouais le game. Ouais.
Je me rappelle de cette blague de Virginie Fortin qui rentre très, très, très fort.
Qui a rentré très, très fort. Très bonne blague. Mais à cette époque-là, je ne pense pas que Virginie Fortin l'assumerait aujourd'hui aussi. Je crois, après ça, j'ai peut-être tort. Mais ce gag-là m'a cassé. Ça m'a disqualifié. Après ça, je suis allé au vote du public, tu vois. Mais ce numéro-là, dans ce contexte-là, c'était une très bonne blague. À cette époque-là, c'était une très bonne blague. Et c'était tellement tabou que ça libérait tellement de monde. Yes, t'as raison! Les Blancs, on peut faire des blagues! je discrédite aucunement. Elle était très, très forte quand même à cette époque-là. Elle a réussi à sortir son épingle du jeu. À ce moment-là, elle est toujours forte, Virginie Fortin.
Moi, je la trouve incroyable.
Mais je pense que ça soit elle ou moi, même moi, j'ai honte d'avoir fait ce numéro-là, qui m'a fait passer en demi-finale. Et je crois qu'elle aussi, elle est gênée d'avoir fait ce numéro. Je crois. Parce que c'était de la vieille blague. Ça vieillit mal, l'humour. Ça vieillit vraiment mal. Et il y a des blagues que j'ai faites, j'en ai tellement honte. Parce que la blague, c'est la cible. C'est vraiment... Genre, tu peux rire de n'importe quoi, je crois vraiment. Mais c'est quoi ta cible? C'est quoi ta cible? Où? De qui tu te moques?
Ouais. Quelle est ton intention?
Quelle est ton intention derrière?
Tu veux faire rire?
C'est ça.
Oui. Ouais, c'est sûr.
Je pense que dans son deuxième spectacle, Du bruit dans le cosmos, elle en parle dans son spectacle.
Ouais. Elle reprend son numéro sur les itinérants, sur les SDF, et elle explique pourquoi cette blague est problématique, pourquoi c'est nul d'avoir fait cette blague-là.
Exactement.
Et elle dit, j'aurais pu faire ça. Et là, ça aurait été intéressant si j'avais fait ça. Mais non, à l'époque. Ouais. J'ai juste fait des blagues sur le fait qu'il lui manquait des dents.
C'est ça.
C'est ça.
C'est ça. Et elle parle vraiment de la cible. Mm-hmm. Et elle a joué avec la cible à ce moment-là, à son deuxième spectacle. Et j'ai trouvé ça trop cool. Mm-hmm. Et là, j'ai compris que même moi, j'étais dans l'erreur. Même moi, la cible était tellement pas bonne parce que j'étais pas expérimenté. Mm-hmm. Et en plus, dans un contexte de concours.
En tout cas, participer à l'émission, ça va quand même t'ouvrir des portes.
Ouais.
C'est bien parce que ça me permet d'évoluer et de faire de meilleures blagues.
Ouais.
Donc tu participes au Grand Rire dans le gala de Michel Bougenat, tu joues au Zoufest, tu fais les premières parties de Dominique et Martin.
Ouais.
Dans des grandes salles.
Ouais.
Est-ce qu'à ce moment-là tu te dis ça y est, j'ai réussi, je vais réussir à faire l'humour?
Ouais, j'ai réussi j'ai commencé à vivre de l'humour. J'ai passé un bon 3-4 ans à souffrir économiquement. Et là, j'ai commencé à gagner ma vie. Et ça, c'est trop cool quand t'es humoriste. Mm-hmm. Quand tu commences à payer un loyer.
J'ai hâte.
À manger. Genre, moi, je me rappelle que j'étais allé au restaurant et j'ai comme, yo, j'ai mangé grâce à des blagues. Je mange grâce à des blagues.
À chaque fois que j'achète quelque chose avec de l'argent que j'ai reçu d'une scène, je me dis, c'est des blagues.
Ouais.
C'est tellement cool comme
ça. Il y a comme un côté de... C'est gratifiant, mais même encore là, j'étais encore en train d'apprendre. Et j'ai beaucoup appris parce que j'ai commencé à écrire mon premier spectacle. Mm-hmm. J'en étais fier. J'en étais fier parce qu'il était bon, le spectacle. Oui, il y a des trucs qui vieillissent mal, mais il y avait aucun truc de problématique. Il y avait rien de problématique dans ce spectacle-là. Mais je me rappelle, le spectacle, ça riait du début jusqu'à la fin. Je me rappelle, je montais sur scène. À chaque fois que je jouais ce spectacle-là, les gens rigolaient du début jusqu'à la... et j'en sortais et j'en étais fier. J'étais comme, oh, tout marche. Tout le monde me regardait comme, yo, ça marche. C'est incroyable, tu vois. Parce que c'est ça, le premier spectacle, c'est l'accumulation de plusieurs années.
Toutes tes meilleures blagues que tu as accumulées pendant des années.
Ouais.
Avec difficulté, tu les ressors tous et les gens se disent waouh, il est super fort, il commence.
Mmh. Ouais.
Ça fait quelques années qu'il travaille là-dessus.
Ouais, ouais, et j'ai beaucoup appris sur l'écriture de Martin, du groupe de Dominique et Martin, m'a beaucoup appris à structurer un texte. Parce que moi, je savais pas comment écrire, j'ai pas fait l'école nationale de l'humour, moi je suis l'école de l'impro. Donc c'était vraiment l'instinct, j'avais des points, je montais sur scène puis je testais. Il m'a vraiment montré l'importance de structurer un texte. C'est important. Structure ton texte. Et après ça, ben, t'auras du recul. Genre, quand t'auras un texte structuré, dans deux semaines, tu vas revoir ton texte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tu vas dire, ben là, il manque un truc là, il manque un truc là. Et c'est magique parce que t'as plein de nouvelles idées qui embarquent et t'as un canevas et ça marche, tu vois. Et j'ai commencé à écrire seul mon spectacle pendant un an. Avec des blagues que j'avais, effectivement, depuis un bon bout de temps. Et j'ai beaucoup appris sur la cible, comment faire attention à qu'est-ce que tu abordes. J'aimais choquer, j'aimais bien choquer, sortir des trucs tabous, mais pas... c'était très bon enfant, tu vois. Donc j'ai beaucoup appris avec le premier spectacle.
Mais le premier spectacle, tu le joues le 14 juillet 2015, dans le cadre du ZooFest.
Exactement.
Cette première, elle s'appelle « J'ai tort, mais j'ai raison ».
Exactement.
Tu as écrit aussi avec un improvisateur qui s'appelle Roberto Sierra.
Ouais.
Qui est une légende en impro.
Ouais.
Moi, je me rappelle quand j'étais petit et qu'on allait voir l'impro, qu'il y avait des Québécois. Je disais, ah, j'ai pas trop envie d'aller. Et ma mère faisait, il y a Roberto Sierra. Et je fais, attends, j'arrive. C'était l'événement.
Ouais, Roberto Sierra, c'est un fou. C'est un crack d'improvisation. Il fait ça depuis qu'il est jeune. Il a une vivacité. Il est très posé. C'est quelqu'un de... Et j'aimais tellement travailler avec lui. Genre, si c'était à refaire, je le ferais n'importe quand, mais il est occupé, il a sa vie et tout. Mais il m'a appris les bases sur, il a fait la mise en scène de mon premier spectacle. Et après ça, j'étais comme, ben ouais, maintenant je peux continuer seul, tu vois.
Et comment se passe la première? La première fois que tu joues tes 60 minutes de ton spectacle, j'ai tort, mais j'ai raison.
La première, c'était tellement stressant, mais je l'avais tellement travaillé que ça s'est bien passé. Et en plus, il y avait un journaliste de la presse qui est venu le premier jour, le 14, c'était la première. J'étais comme, mais yo, pourquoi t'es venu le premier jour? Genre, le premier jour, c'est toujours éclaté, pourquoi tu... Mais ça s'est vraiment bien passé, j'avais la pression, c'est sûr et certain qu'il y a des petits trucs à retravailler. Mais s'il était venu aux trois derniers spectacles, c'était incroyable, je me lâchais, c'était magique. Le deuxième, ça s'est vraiment pas bien passé, c'était vraiment dur. Okay. Mais les trois derniers, j'ai joué 5 fois. Et les trois derniers étaient magiques. La salle, elle était remplie. C'était magnifique. C'était fou. Je m'amusais, mais c'était... Et c'est ça que Roberto Sierra m'a appris, en fait. Il m'a dit, yo, maintenant, t'as tes textes. Parce que moi, j'arrivais avec mes textes. En fait, la manière dont je travaille avec Roberto Sierra, en fait, moi, j'ai commencé à faire des stages d'improvisation avec lui. Mm-hmm. Parce que je faisais beaucoup d'improvisation et j'aimais beaucoup sa manière de voir les choses. Et je suis allé le voir. Je disais, hey, j'aimerais ça travailler avec toi pour faire la mise en scène de mon spectacle. Il m'a dit oui direct. Il a vu un peu ce que j'ai fait. Et quand je travaillais avec lui, j'arrivais avec mon texte et jamais il me disait « c'est pas bon ». il me prenait un point, une idée dans le texte, puis il était comme, OK, où on peut aller avec ça, tu sais. Puis il m'a vraiment montré à comment pousser une idée jusqu'à temps qu'il n'y a plus de jus. Et de le jouer, là. Tu joues le truc, là. Joue-le. C'est lui qui m'a poussé dans la folie. Et c'est ça. OK, par exemple, il me disait, OK, ben cette bague-là, ça, tu le gardes pour improviser. Ça, mettons, il y a quelqu'un qui te sort un truc, tu le sors pour improviser, tu sais. Vraiment des blagues tiroirs.
S'il se passe tel truc, hop. Ouais. Là, tu l'utilises à ce moment-là. Ouais.
Donc, il m'a vraiment appris, il m'a vraiment fait comprendre que si ton texte, il est drôle, textuellement, après ça, ça va être bon. Ça, mettons, t'es pas là, que t'es sur scène en pilotage automatique, mais que le texte est bon, ça va rire. D'accord? C'est ça qui est important. Après, t'as le jus. Après, tu sais, t'as le deuxième texte qui va venir avec. Et c'est ce qui m'a beaucoup montré, ce gars-là. En fait, moi, j'arrivais avec le texte, on travaillait le texte, et avec Roberto Serra, on a travaillé le deuxième texte, qui est le texte du non-dit. Le jeu, les silences, le pacing du spectacle. Puis il y a eu des très très bonnes critiques sur ce spectacle-là. Je suis vraiment content d'avoir fait ce spectacle-là.
Et de quoi tu parlais dans ce premier spectacle?
C'était vraiment... je me moquais, c'était une satire de tous ces gens qui veulent vraiment avoir raison sur tout et n'importe quoi.
Ouais. D'où un très bon titre.
Ouais, j'ai tort mais j'ai raison. Et c'était vraiment... c'est un côté de moi aussi, tu vois, que j'étais comme... C'est un côté de moi que j'avais... que j'ai encore un peu et que je trouve que c'est tellement con. Tu sais, quand j'arrive, tu sais, quand je veux avoir raison sur un truc, on devient tellement con, on devient plus nous-mêmes. Mm-hmm. C'est juste l'ego qui parle, tu sais.
On arrive à trouver des raisons, mais qui sont pas bonnes, mais juste si on le dit avec confiance.
Exactement. Et c'est un personnage qui me faisait rire. Et le prince saoudien, et pour moi, le summum de ce personnage, c'est un prince saoudien. C'est un prince qui est tellement, tellement riche. Tellement riche. Au-dessus des problèmes, tu sais, il connaît rien, il sait pas ce qui se passe, il est dans une autre sphère, et lui, il aura toujours raison, anyways, tu vois.
Oui. Si on n'est pas d'accord avec lui, il paye, on fait.
Ouais. Okay. Alors, il a tort. Mm-hmm. Il a totalement tort. Totalement tort dans ce qu'il fait, c'est tellement stupide, et je trouvais ça super intéressant. Et aussi, mon oncle, dans ma famille, il est comme ça. C'est quelqu'un qui, il croit avoir raison, tu sais, il te parle. Et toi, dans ta tête, tu te dis « Ah, mais il dit tellement de la bullshit, c'est tellement de la merde ce qu'il dit. » Mais il le vend tellement bien, il a tellement de charisme qu'il y a des gens un peu faibles qui vont faire « Ah ben oui, je te crois. » Mon oncle, s'il pouvait, il peut être gourou d'une secte. Hein.
Mais il est pas gourou
d'une secte parce qu'il est musulman. Effectivement, il peut pas ouvrir une autre religion, c'est interdit dans l'islam. Mais je pense que s'il était pas musulman,
il serait gourou.
Ah, il serait gourou. Et vraiment, c'était une satire de ça. Le spectacle, je l'aimais tellement. J'étais tellement fier de ce spectacle-là parce que je l'ai travaillé seul. Roberto Serra m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Mais tu sais, au niveau de l'écriture, c'était ma première expérience d'écriture seul, sans avoir l'aide de personne. J'avais même pas l'aide de Martin. C'était vraiment moi seul, mes propres idées, tout seul.
Et pourquoi ne l'avoir joué que 5 fois, ne pas l'avoir essayé de le garder plus longtemps, de tourner avec et tout ça?
Parce qu'on est à Montréal, j'étais pas connu, j'ai pas fait de tournée avec. Et c'était vraiment dans. Mon but, c'était de le présenter au ZooFest. Tu connais, ici à Montréal, on travaille 1 heure par année, on le présente, on le présente au ZooFest, après ça, on passe à autre chose, tu vois, parce qu'on est toujours dans l'écriture. Et aussi, ben, si ton spectacle, s'il n'y a pas de vrai producteur qui produit ton spectacle, à l'époque, c'était comme ça, qui produit ton spectacle. Bah, c'est fini. T'as fait ton zoufait, c'est fini. Les gens l'ont vu. Dans ta tête, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens l'ont vu.
Mais c'est vraiment la manière québécoise, pour le coup, de préparer 1 heure pour un zoufest et d'en préparer une autre pour l'année d'après.
Ouais.
C'est tellement pas la façon de faire en Belgique. En France, je connais pour le coup.
Même en France aussi, c'est comme ça.
Mais il y a beaucoup de gens qui font un premier spectacle, puis ils le gardent pendant quelques années, puis ils font un deuxième spectacle.
Ouais.
C'est marrant. Mais après, c'est génial. Hein. Moi, je trouve ça incroyable. De faire des spectacles à toutes les années, le ZooFest, c'est pour ça aussi pour ça que c'est génial, les festivals ici, c'est incroyable.
Ouais.
Le nombre de la créativité des humoristes québécois m'impressionne puissance 1000, parce que j'essaie d'en écrire juste un et les gens font oh moi j'en fais un cette année.
Ouais, mais après c'est l'expérience en fait, je me suis forcé à faire ça aussi parce que en fait je voulais travailler le muscle de pouvoir créer rapidement et facilement, tu vois. Et je suis toujours en train d'apprendre à vouloir écrire avec une rapidité, mais c'est des fois c'est comme ça, c'est dur, mais pour moi, c'est, j'avais besoin de... Par exemple, l'autre année, je voulais écrire mon deuxième spectacle. C'était extrêmement dur. Ça m'a pris 2 ans avant de l'écrire. Mon troisième, il y a eu la pandémie. Après ça, ben, je suis parti en France. J'ai écrit un nouveau, j'ai écrit un quatrième. Et ça a été rapide pour moi de l'écrire parce que j'étais nourri de plein de choses. Okay.
Mais d'ailleurs, tu parles de la France, mais un petit peu avant de jouer ton premier spectacle, en novembre 2014,
ouais.
Tu vas jouer à Paris pour la première fois.
Ouais.
Là-bas, tu rencontres Jason Brokers, avec
ouais.
qui vous échangez déjà beaucoup à ce moment-là.
Ouais.
Tu joues au Café Oscar, au Paname, au Café de Paris, à l'Underground. Mais surtout, le 4 novembre, tu joues au Jamel Comedy Club.
Ouais, mais le Deb Jam.
Oui, ah, pardon. Excusez-moi, hein, je me suis dit, oh, il a joué sur la scène du Jamel Comedy Club, ça a dû lui faire quelque chose.
Bah, tu sais que tu peux y aller, hein, tout le monde peut y aller. Le Deb Jam, c'est comme l'open mic. Mais à l'époque, je m'en rappelle.
J'étais trop emballé, moi, je suis là. Waouh, il est sur la scène du Jamel Comedy Club.
Mais à l'époque, je l'ai vraiment dit de cette manière-là, tu sais.
Okay,
mais avec le recul, j'étais comme, ouais, ça va. Tu sais, aujourd'hui, je voyais les gens aller au Deb Jam, c'est, tu fais quoi? Ben, je vais au Deb Jam. Ah, ok. Tu sais, vraiment comme si je fais l'open mic. Mais à l'époque, c'était vraiment en mode, waouh!
Ben ouais, t'es sur la scène du Jamel Comedy Club.
Ouais.
Moi, je veux ma photo avec ça, tu vois. C'est juste que c'est le Jamel Comedy Club, ça a tellement marqué.
Ça a marqué toute une génération, ouais.
C'est ça. Mais comment tu vis cette première expérience à Paris?
Ouais.
Comment t'as vécu cette petite expérience la première fois que tu joues en France?
Incroyable. Ouais. Phénoménal, ça. Ça a ouvert une porte en moi. Parce que de un, ben, c'était. Ben, c'est grâce un peu à la France que je voulais faire de l'humour. Plus l'Algérie en premier. Je veux dire l'Algérie après la France. Voilà. Mais grâce aux humoristes français, et j'étais comme, ah ouais, tu sais, c'est cool. Et puis on me disait souvent ici, toi, va en France, ça va fonctionner pour toi. On me le disait souvent, tu sais. Et j'étais comme, ok, je vais essayer. Et c'était vraiment cool, tu sais. J'ai découvert. Ben déjà, j'ai rencontré Jason Brokers. Et on s'est liés d'amitié très rapidement. Et lui, il n'était pas encore connu. Il commençait à l'époque. Mais il était déjà très bon. Je le voyais, j'étais comme, waouh. Puis même lui, quand il m'avait vu sur scène, il aimait ce que je faisais. Et après ça, on s'est liés d'amitié. Il me disait, hey, viens voir. Viens avec moi, tu vas voir quelque chose d'incroyable. Et là, il m'a amené au point virgule, voir le spectacle de Farid. Mmh. Et là, j'étais comme, waouh, t'es incroyable. Et là, je les voyais, ils se suivaient parce que Jason écrivait pour... il écrit toujours pour Farid. Mmh. Ben, il co-écrit avec Farid. Il écrit pas de la même manière, un peu comme j'ai écouté dans le podcast, mais à l'époque, il le suivait beaucoup. Et moi, je me rappelle, il m'a amené un peu partout, il m'a fait jouer un peu partout, Jason, dans trois soirées, disons. Mais je suis parti 2 semaines, donc c'était pas... Donc, il m'a amené dans 2 soirées, puis il était avec Farid. Puis Farid, il était entre 2 scènes, puis ils étaient en train d'écrire un nouveau beat pour le faire progresser. Puis je voyais ça, j'étais comme, c'était incroyable. Tu sais, on était dans la voiture, puis ils étaient comme, ah ouais, mais tu devrais dire ça à tel moment. Puis je les voyais travailler, j'étais comme, yo, c'est fou.
Ouais,
c'est magnifique. Quand même, je trouvais ça fou. Et je les voyais et je les admirais parce que je rêvais de ça. Je rêvais de pouvoir travailler avec quelqu'un et avoir cette proximité et de pouvoir rebondir avec une autre personne. Mais ça se trouve. À un moment donné, tu le trouves, tu vois.
Tu l'as trouvé, toi, avec Léo Hart?
Léo Hart, ouais.
Okay.
Ouais.
Moi, j'ai pas encore trouvé mon Léo.
Ouais.
C'est une phrase bizarre à dire.
Ouais. Mais j'en rêvais secrètement de faire comme... Quand je voyais le binôme Jason Brokers-Farid, et quand je les voyais travailler, ils travaillaient vraiment, vraiment très, très bien. C'était fou. C'était pas genre, ils écrivaient comme ça, c'est juste, ils se suivaient, puis étaient comme, ils rebondissaient, mais c'était tellement drôle, ils étaient vraiment dans le plaisir et dans la légèreté. En fait, Jason Brokers, c'est ça, c'est ce gars-là, c'est la légèreté. Je me rappelle, j'ai fait son gala, Montreux, puis pendant 2 semaines, en fait, il rodait son spectacle, tu vois, je le suivais, puis il était comme, ah, il dit, puis toi, comment ça avance ton rodage? J'étais comme, ça va, j'ai un numéro, je crois, ça se passe. Puis toi, comment ça se passe? Il me dit, ça se passe pas bien, mais c'est cool, on va le faire.
Ah, le gars trop détendu.
Mais il était d'une détente, puis il était comme, en vrai, ça passe pas, ça passe pas. Mais il travaillait quand même.
Oui, il bosse derrière, mais
il bosse quand même. Et puis, en fait, lui, il bosse. Ouais, non, mais il m'énerve tellement. Mais t'as même pas idée. Il a une vivacité d'esprit.
Mais de toute façon, moi, les humoristes détendus m'énervent. Donc, parce que je suis tellement stressé que quand je vois des humoristes détendus, je suis là. Mais tu devrais être stressé. Mais après, j'admire. Hein, j'adore Jason Brokers, c'est incroyable.
Ouais,
mais ça m'énerve.
Dans le sens où c'est tellement facile pour lui. Parce que, en fait, quand je suis parti en France cette année, ce que j'ai appris chez Jason Brokers, c'est que ce dude, il ne cherche pas, un peu comme il l'a dit dans le podcast, mais c'est exactement ça, il ne cherche pas à forcer la blague. Il faut que ça vienne naturellement. Il faut qu'il soit vraiment dans le plaisir. Et c'est comme ça qu'il va mieux défendre son idée, tu vois. Mm-hmm. Et ça marche tout le temps. Son animation était vraiment très, très cool. Et je me rappelle, parce qu'on s'écrivait, il me montrait des audios de son, de son animation pour le Montreux. Et j'entendais la progression. J'étais comme, ben oui, c'est fou. Ben oui, mais ça va être bon. Ça va. Jason Brokers, pourquoi t'as juste pas pris un numéro de ton spectacle? Pourquoi c'est t'as ça. Pas fait ça?
C'est ça.
Mais il voulait pas. C'est ça. Il voulait pas. Il voulait juste être dans le plaisir et. En fait, c'est ça. Il se donne une exigence, mais dans le plaisir. Et c'est ça sa force. C'est la légèreté. Et quand il voit une personne, il va être léger. Quand ça devient lourd, il s'en va. Et il cherche que la légèreté. Il cherche que. Et pour moi, ça, c'est une force. Mm-hmm. C'est une force incroyable. Il force rien. Et c'est ce qui fait en sorte que, ben, ça devient magistral. Son spectacle, son dernier spectacle, il est incroyable. J'ai eu la chance de faire sa première partie. Je l'ai suivi. J'étais joué en Belgique avec lui. D'ailleurs, public belge, quand j'ai fait sa première partie, c'était magistral. C'était fou. Bref, en tout cas. Son spectacle, il est rodé, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et il change à chaque fois. Quand il y a quelque chose qu'il aime pas, il va le pousser. C'est parfait.
J'adore parler d'humoristes avec des humoristes, c'est trop marrant.
Ben oui,
j'adore
c'est,
ça.
Pour moi, c'est une œuvre. Le spectacle de Jason, c'est vraiment une œuvre.
Il est vraiment parfait ce spectacle. Il est très 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 bon.
Très drôle. J'adore. Il est dans la légèreté. Il est dans le vrai. Et ouais. T'as du plaisir à passer. Pour moi, c'est du bonbon. Tu passes un moment vraiment. Je trouve que c'est. Enfin bref, je l'ai rencontré en 2014. On revient en 2014 et c'est ce que j'ai. C'est exactement ce que j'ai vu chez lui. Et on a gardé contact. On a gardé contact. Quand il venait à Montréal, il est venu 3 mois à Montréal pour tester, d'ailleurs, 21e seconde, mm-hmm. les bribes de ce spectacle, qui est d'ailleurs plus dans son spectacle. Mais il est venu pendant 3 mois. Il s'est découvert ici. Il a rencontré, je pense, Adib. Mm-hmm. Il a rencontré, je pense qu'il s'est lié beaucoup d'amitié avec Adib, tu vois. Mais on a toujours gardé contact. Voilà. C'est à ce moment-là, en 2014. Et je me suis découvert, en fait, beaucoup. Vraiment, j'ai vraiment senti que c'était vraiment agréable. C'était un peu plus dur pour les... Il y a des humoristes que c'était vraiment... Tu te dis, ah ouais, c'est... L'humour vieillit mal, mais ça... C'était...
Là, c'est déjà le cas.
C'était... Ah ouais, ça vieillissait très, très mal. Maintenant, ça va super bien. Les humoristes sont super bons. Mais à un moment donné, c'était chaud. J'ai rencontré plein de monde et ça m'a ouvert la porte. Et c'était Bunaimin. J'avais croisé à Montréal. Après ça, j'arrête. Je sais que je fais beaucoup de digressions. Je suis désolé.
Très bien.
Mais j'avais rencontré Boon en 2000. Ouais, été 2014. Puis il m'a dit si tu veux faire le Jamel Comedy Club, viens. Hein, je te book à ce show-là. Puis j'étais comme trop content. J'ai fait OK. Je me suis booké 2 semaines pour aller jouer. C'est grâce à lui que j'ai fait le Deb Jam du Jamel Comedy Club.
Après ton premier spectacle, les retours dans la presse sont super bons. Tu participes à d'autres shows ou fesses comme les Importés, 60 humoristes en 60 secondes. Tu participes au concours Joke Nation.
Ouais.
Et tu fais aussi tes premières chroniques radio. Sur
CIBL, ouais.
CIBL. Est-ce que faire des chroniques à la radio, c'est quelque chose qui t'a plu ou que t'aurais envie de refaire?
Ah oui, j'aime ça. Ben oui, j'adore ça. Si on me donne une deadline de « tu dois écrire une chronique », pour moi, c'est du bonbon, je fais pas de problème.
Okay.
J'ai tellement plein d'idées emmagasinées que je veux pouvoir le faire. Et ouais, pour moi, c'est trop cool. J'adore, c'est un grand mot. J'aime beaucoup écrire sur commande. Parce que je me dis, ben, j'ai un angle et je vais chercher dans mes souvenirs cet angle-là, cette idée-là ou ce sujet-là, tu vois. Donc, j'aime bien, ouais.
OK. C'est quelque chose que tu serais partant de refaire, quoi.
Ouais, exactement. Okay. J'avais fait, d'ailleurs, Youssef, le gars d'Internet, la première fois que je l'ai sorti, je l'ai écrit pour les 30 Glorieuses de Yacine Bellatar. Je l'ai écrit, ça a été le premier jet, mais je l'ai sorti à ce moment-là.
OK.
Donc ouais, j'avais vraiment aimé ça.
Après, en décembre 2015, tu fais un show que t'appelles Raidage. Donc il y a un rodage Raidage. Ah, moi j'aimais bien, je trouvais ça. Oh, on s'est bien trouvé. Oh,
je ne m'en mets pas.
Monsieur est un homme de lettres.
Pas du tout.
Et le but du show, c'est de tester, discuter, improviser de nouvelles blagues.
Ouais, au théâtre Sainte-Catherine.
qui est vraiment ton endroit
ouais.
où tu as vraiment le bossé le plus.
Ouais.
Dans tout ton parcours, il revient tout le temps, Théâtre Sainte-Catherine, c'est assez marrant. Et est-ce que cette méthode, ça a porté ses fruits de tester devant le public
À 100%. 100% parce que je voulais tester, je voulais essayer des nouvelles idées, explorer. C'était pas tout le temps incroyable, c'était pratiquement jamais incroyable, mais ça me permettait de voir, ok, ça c'est intéressant, ce sujet-là est intéressant, je peux le pousser. Et à chaque fois, je sortais toujours des nouveaux numéros à travers ça, tu vois. Jamais sur le moment. Sur le moment, c'était un peu plus dur. Les gens, en fait, c'est beaucoup plus dur, c'est vraiment dur lorsque les gens se disent, ok, il va tester des trucs. Donc, ils sont dans l'attente. Il y a une autre attente qui est différente et un peu plus dure.
Oui, que tu annonces, les gens sont là, il est en train de tester quelque
chose. C'est ça. Mais.
Il y a une indulgence et en même temps, ça se voit que c'est du test.
Ouais.
Il y a un mélange, oui.
Et puis, j'aimais faire ça. Et ça me permettait de. À chaque fois, je sortais mes meilleurs numéros. Les numéros qui ont sorti fort, c'est grâce à ça.
Et après, en 2016, tu joues ton spectacle, mais tu fais également la première partie de Gad Elmaleh.
Ouais.
À l'Olympia.
Ouais.
Il te dit, tu fais pas plus de 8 minutes. Toi, t'en fais 15.
C'est ça.
Tant qu'à faire. Et tu présentes Gad à ta maman qui est tout impressionnée de le rencontrer.
Mon Dieu.
Quel souvenir tu gardes, toi, de cette soirée? Parce que l'Olympia, Gad Elmaleh, que tu regardais quand t'étais plus jeune, ça a dû vraiment être quelque chose.
Ah oui, ça a été quelque chose pour moi. Mais oui, c'était fou, là.
Parce que moi, Gad Elmaleh, c'est vraiment la personne qui m'a donné envie de faire de l'humour.
Oui, 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 tout à fait.
Avec donc.
Tout à fait. Gad Elmaleh et. Il a marqué toute ma famille, c'était Gad. À chaque fois, on faisait ses phrases, tu sais.
Tu fais tous les sketchs par cœur. Moi, tu peux plus me dire le
Who
mot.
Who is the Brian? Brian is in the kitchen.
Where is Jenny, the sister of the Brian? Jenny's in the bathroom. Moi, tu peux plus dire le mot donjon sans que dans ma tête, ça fasse vivre dans un
donjon. Donc, oui, forcément, c'était incroyable parce que. C'est faire la première partie de Gad Elmaleh. En plus, on a été trois humoristes à être sélectionnés. Il y avait Alex Fredo, Jérémy Demé et moi. J'étais trop content. J'avais un soir chacun et moi j'avais le 16 mai.
Encore en
toujours,
mai.
Toujours en mai.
Il se passe. Les escaliers et le mois de mai, c'est.
Tout le temps. C'était trop cool. Je me rappelle que je m'étais booké plein de shows pour roder ce numéro-là. Ça s'est bien passé pour une première partie. Je trouve ça juste dommage que je me suis pas lâché. Il y a un moment, je me suis dit, j'aurais pu me lâcher un peu plus. Mais ça s'est bien passé. J'étais trop content de l'avoir fait. Et puis, avoir rencontré Gad Elmaleh, très, très sympa. Le gars, très, très gentil. Ça, c'était bien avant Copy Comic. Je pense que c'était une année avant Copy Comic. Et mais très sympa vraiment et une facilité d'écriture aussi, tu le voyais, il disait ah peut-être je vais tester ça, tu sais, puis il répétait, puis il le faisait sur scène, puis ça rigolait, c'était incroyable. Oui. Puis il sortait de scène, ah c'est incroyable, je suis content, ça a marché.
C'est vraiment ça qui est tellement dommage, que il ait dû prendre des blagues à un moment donné, mais on va pas revenir sur Copy Comic, mais il est fucking bon.
Ah oui, il est talentueux. Il est, genre, pour l'avoir vu, puis pour avoir rencontré toutes sortes d'humoristes, il a une capacité créative incroyable. Je pense que je vais y aller vite fait, je vais ouvrir la porte vite fait. Je pense que le succès l'a emporté. Je crois, hein, après ça, c'est vraiment mon propre regard. J'ai pas la science infuse par rapport à ça, mais je pense que le succès l'a emporté et qui fait en sorte que, on t'attend au premier tournant, tu vois. Et, il a sûrement pris des trucs, et puis, il a, voilà.
Mais
ce qui est triste, ce qui est dommage, et.
Mais on est tous les deux, des humoristes qui ont été influencés par lui, donc au moins il a fait ça. Il a permis à plein de gens d'ouvrir la possibilité de, j'ai envie de faire de l'humour, je trouve ça incroyable, c'est le meilleur métier du monde. Et on connaît toutes les blagues par cœur, quoi.
Ouais.
Ça nous a marqué, quoi.
Tout à fait.
Je pense qu'on a, à mon avis, le même avis et la même déception au moment où.
Oui, oui.
Ah, zut. pas Gad. N'importe qui d'autre, mais pas Gad.
Exactement.
Mais voilà.
Mais oui, j'étais content et ma mère, elle était épatée. Elle arrivait même pas à parler. En gros, ouais, ça s'est bien passé. Je suis content, pas 100% satisfait de mon passage, mais quand même content de ce qui s'est passé. Il était inaccessible dans le sens... pas inaccessible, il est très accessible quand tu lui parles, mais inaccessible dans le sens où tout le monde voulait le voir. Tout le monde voulait le voir. C'était vraiment le Michael Jackson de l'humour francophone, là. C'était... Les gens pouvaient pleurer, j'exagère, mais le regard comme... Oh! Et ça, ça m'a troublé. Je me suis dit, je ne veux pas que les gens me regardent comme ça. Je veux surtout pas que les gens me regardent comme ça.
Ok, je vais arrêter de te regarder.
Mais dans le sens où me gênerait tellement. J'ai pris conscience sur le succès où je me suis dit, je pense que je serais triste si on me regardait de cette manière.
Ok, ton objectif n'est pas d'être
non.
à ce niveau de succès et de faire pleurer les foules.
Non.
Ok.
Non. Je pense que je serais vraiment pas bon. Okay. Je pense que je serais un humoriste très nul si j'étais à ce niveau-là. Si j'arrive à un niveau où les gens sont m'idoles, je figerais, je bougerais même pas, je serais triste.
Ok, ouais. Trop de pression, trop de.
Ouais.
Et puis t'as pas envie de ça.
Non, j'ai réalisé ça à ce moment-là. Et je me suis dit, j'ai fait le deuil de ça. Quand tu commences l'humour, tu te dis, j'aimerais ça être connu, j'aimerais ça. Tu sais, t'as cette pression-là de te faire voir à gauche, à droite, tu vois. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, ça m'a troublé. Ça a été mon premier paradoxe. J'ai fait face à mon premier paradoxe. Je me suis dit, j'adore faire de l'humour. J'adore être regardé et faire des blagues. Mais pas à ce niveau-là. Et j'ai fait un deuil.
Et est-ce que à partir de là, tu envisages ta carrière différemment, tu changes des choses, tu...
2016, ça a été extrêmement, ça s'est super bien passé pour moi. C'était, j'écrivais aussi mon deuxième spectacle,
Petit Empereur,
mais c'était pas mon meilleur spectacle.
Okay.
Je l'ai écrit rapidement, c'est ça. Et c'était pas ma meilleure période dans ma vie. 2016, c'était pas une période, j'étais pas très créatif, je faisais souvent les mêmes choses et j'avais cette pression-là d'écrire. J'étais avec une boîte de production à l'époque, sans nommer la boîte de production, ils étaient très gentils, mais ça collait pas, pense que ça venait juste de se terminer. Donc j'ai eu une période un peu difficile, okay. J'ai vécu une petite période difficile, mais je savais que j'aimais faire de l'humour, mais je pense que j'ai passé un petit moment de dépression. Tu sais, la dépression, quand tu vis une dépression, tu le sais pas sur le moment, mais avec le recul, quand ça commence à aller bien, quand tu te regardes dans le recul, cette période-là, j'étais pas bien, et avec le recul, je pense que j'étais pas bien. Et à 2017, j'ai fait des choix. Fait des choix, j'ai fait des deuils, j'ai réalisé plein de trucs, et je me suis mis comme objectif de m'autoproduire. Je me suis dit, c'est ça, moi je veux m'autoproduire, je veux produire mes propres spectacles. La première fois que l'idée s'est germée en moi de capter mes propres spectacles est arrivée en 2017. Okay. Et j'avais ça comme objectif. Et je me suis loué une salle au Bootlegger sur Saint-Laurent, où j'ai joué deux, trois fois complet, guichet fermé, où j'ai testé des nouvelles blagues que j'avais écrites pendant toute l'année. Je me suis donné une routine d'écriture grâce à un ami qui s'appelle Alexandre Ticaroche, qui est le gérant de Coco Béliveau, que j'aime, c'est un ami à moi, c'est un très bon ami à moi. C'est lui qui m'a dit, Reda, pour vrai, si t'aimes ce métier-là, donne-toi cette routine d'écrire à tous les jours, genre 2 à 4 heures par jour. Après ça, tu vis ta vie. Et à partir de ce moment-là, je me suis donné une routine d'écriture qui m'a aidé de fou. Et après ça, on a sorti ces deux shows-là, qui étaient supposés être mon troisième spectacle. Et j'étais content de ce troisième spectacle. J'avais hâte de le sortir et de le filmer. Je le jouais et puis ça se passait bien. Je testais des nouveaux trucs, mais avec l'expérience d'un gars qui a joué depuis 2008-2009. Donc, c'était vraiment plus facile pour moi de rebondir, de jouer. En plus, j'avais les lundis d'impro. Tout se mêlait bien, en fait. Tout était parfait. Et j'étais vraiment dans cet objectif-là.
Mais est-ce que... parce que c'est une question que j'ai une petite dédicace à Cyril Yves qui m'a dit, cette question-là, j'aimerais bien que tu la poses dans les podcasts. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, je vais arrêter l'humour?
Ouais.
Ouais?
Ouais, ouais. 2016.
C'est con à dire, mais ça fait du bien de l'entendre que d'autres humoristes passent par ce truc de je veux arrêter.
Ouais. Plusieurs fois. Plusieurs fois, je me suis dit, je veux arrêter l'humour. Tellement de fois. Et puis, 2016, ça a été le cas. Ça a été genre, je vais arrêter. J'étais juste fatigué parce que je jouais tout le temps. Et surtout, c'est que à l'époque, faire un gala juste pour rire, c'était de shit. Donc, on rodait un numéro par année. Un numéro par année pour faire un gala juste pour rire. Moi, j'étais jamais pris et ça me faisait mal. Donc, c'était pour moi des blessures d'ego et ça me faisait quelque chose parce que j'étais comme, pourquoi on m'accepte pas, ça se passe bien. Et j'ai travaillé pendant un an ce numéro-là. J'ai fait les auditions, on m'a pas pris. Et c'est dur sur le moral, en fait. C'est dur sur le moral. Il y a comme quelque chose de, pendant des années, je travaille là-dessus. Et oui, j'avais envie de lâcher, tu vois. Alors que après ça, avec le temps, tu réalises que, mais non, c'était non. Tellement faux. On s'était, la plupart des humoristes, on s'est construit un faux monde. Un faux monde. Parce que déjà, les galas juste pour rire, à l'époque, oui, dans les années 90, début 2000, tu passais une fois à la télé et ça explosait. Puis après ça, t'étais connu, puis tu pouvais gagner ta vie. Après, la dernière personne à qui ça a fonctionné, ça a été Mariana Mazza et Simon Gouache. Simon Gouache, lui, en plus, il a joué quatre fois, genre, plus cinq fois dans un gala juste pour rire, où ça fonctionnait super fort, il a eu plein de standing, et c'était son numéro sur le CrossFit
ouais.
Qui a fait en sorte qu'il a explosé, tu
et
vois.
Et que le grand public le découvre, quoi.
Exactement. Exactement. Et c'était grâce à Internet qui a relayé ce numéro-là. Et c'est comme ça qu'il a explosé. Mais je pense que la dernière fois qu'un gala juste pour rire a fait
autant de, du bien,
retomber ouais. à un humoriste, c'est depuis Mariana Mazza, je crois. Et c'était tellement fond, c'était construit un faux monde. Pour moi, c'est ça, 2016, ça a été je reviens sur Terre. Dans le sens où tout ce que je m'étais construit, c'est déconstruit en un instant. Donc, j'ai quitté ma boîte de production, je réalise plein de trucs, je réalise comme quoi que quand j'ai fait la première partie de Gad Elmaleh, que c'était pas le regard que je voulais sur moi. Je réalise plein de choses à ce moment-là. Et 2017, ça a été la transition de c'est pas grave. Moi, mon but, c'est de faire rigoler les gens. Et à chaque fois que j'écrivais un nouveau numéro et que ça fonctionnait, toutes les mauvaises choses que j'avais vécues dans ma vie et toutes les fois que je me suis dit je vais lâcher, ça s'effaçait. Je sais pas si t'as vécu ça quand ça se passe mal et là tu dors pas pendant la nuit parce que t'es en remise en question sur plein de trucs. T'as envie de lâcher. Et après ça, t'écris un nouveau numéro, ça fonctionne super bien. C'est un nouveau monde. C'est comme si c'était une remise à niveau. Et c'est là que j'ai compris que moi, ce que j'aime, c'est de faire rire les gens. Oui, j'aimerais des gens dans ma salle pour les faire rigoler. Mais ça me suffit largement. Si je gagne bien ma vie et que j'en vis et que je peux vivre comme il faut et être entouré de ma famille et de mes amis, je suis totalement heureux. Oui, j'ai de l'ambition, mais mon ambition, il a complètement changé. J'aime l'idée de l'autoproduction. Il y a eu le modèle de Adib qui a marqué plein de monde, qui a chambranlé plein d'humoristes. Et entre autres, moi, je fais partie de ces humoristes qui m'a fait « Ah ouais, mais on peut faire ça. Ok. Mm-hmm. Mais on va y aller comme ça. »
Mais ce qui est marrant, c'est que c'est en 2017, t'as cette transition, il y a tout qui évolue, que tu fais ton premier gala. C'est l'année d'après
c'est
en
ça qui
2018.
Fou.
C'est au moment où tu te détaches de « il faut absolument que je fasse un gala » que c'est l'année que tu le fais.
C'est ça qui est fou.
Parce que tu participes à ton premier gala juste pour rire, donc ça le Wilfried Pelletier.
Avec un numéro qui n'a pas été accepté en 2015.
Ah, c'est fort ça. Mais donc tu fais, c'est le gala juste pour rire pour la carte blanche de Jérémy Domé.
Exact.
Tu fais un sketch sur la chicane, le fait de s'énerver, les Québécois qui s'énervent dans la file d'attente, tout ça.
Exact.
Très bon numéro d'ailleurs.
Merci.
Ce qui me fait rire, c'est que t'as un petit bug de musique pendant ton passage. C'est le plus gros festival d'humour au monde et c'est comme dans un show au bistrot de Paris où quelqu'un a mis une musique.
Ouais.
J'adore ça. Mais tu réagis super bien à ça. T'en fais quelque chose de drôle et c'est ton premier gala juste pour rire. Comment tu vis ton premier gala juste pour rire avec tout ça comme expérience à ce moment-là?
Ah, c'était à cette époque-là. En fait, c'était ma première tournée en France avec les Lundis d'impro. On l'a tournée en France. On a fait une tournée à Paris et c'était incroyable. C'était les plus beaux au monde. C'est le meilleur voyage que j'ai vécu. Avant, c'était avec ma copine, effectivement. Et après ça, c'était les Lundis d'impro. C'était incroyable. Tu sais, on est arrivé à Paris le 21 juin 2018, tu sais, à la fête de la musique. On n'a pas dormi dans l'avion. On est en décalage et on dort pas encore pendant la fête de la musique. Donc, ça commence déjà incroyablement bien. On est vraiment comme si c'était de la magie, là. C'était trop magistral. On joue, ça se passe super bien, un plaisir. Et là, je reçois un appel comme quoi qu'ils cherchent un humoriste pour le gala juste pour rire, sans audition, parce qu'il manque quelqu'un. On a beaucoup entendu parler de moi. On dit que, voilà, on veut vraiment te donner ta chance.
Oh, wow.
J'étais comme, OK, cool. Donc, que go, fais un gala juste pour rire. Et j'étais comme, ok. Mais c'était pas sûr que je faisais le gala juste pour rire. C'était deux semaines avant le gala, là. Deux semaines avant le gala, je suis à Paris. Et là, on me dit, mais c'est pas... Là, on m'appelle, ah, finalement, ça se peut que tu le fasses pas. On mette quelqu'un d'autre. Et je suis comme, oh, mais là, c'est l'histoire de ma vie. Ok, pas de problème. Mais j'étais comme ça à la fin de mon voyage. Je regardais mon courriel. J'étais comme, oh, mon Dieu. Et finalement, je leur envoie mon texte. Je leur ai dit, écoutez, je le fais ou je le fais pas. Ça me dérange pas, mais regardez mon texte. Mmh. Et puis, si vous aimez ça... Go. Ils ont vu le texte, m'ont dit, ben oui, viens. Okay. Et j'ai fait mon premier gala juste pour rire. Bah, et c'était, j'ai fait deux shows le même soir. J'étais tellement excité, stressé, content, stressé. C'était bizarre. Premier show, ça s'est tellement bien passé. Standing ovation. Deuxième show, ça s'est tellement bien passé, mais j'ai eu un blanc.
OK.
Mais ça s'est tellement bien passé, ça s'est tellement bien passé que les gens, ils étaient avec moi. Puis
oui. Tu vois, quand la soirée se passe bien, s'il y a un humoriste à un blanc, tout le public applaudit et en mode on s'en fout.
Continue. Mais moi, dans ma tête, je pensais que c'était une éternité, mais ça a duré deux secondes là. Mm-hmm. C'était pas. J'ai eu un blanc, mais ça s'est tellement bien passé. Mais heureusement que les médias étaient là au premier spectacle.
Okay, oui.
Donc j'ai eu des très très bonnes critiques. Oui. Ça s'est tellement bien passé, j'étais tellement content. Après, tu te dis, bah, c'est fini, quoi.
C'est ça. Ça retombe après.
Ça retombe, mais j'étais tellement content. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que le jour où j'ai lâché prise et j'ai compris certains trucs, c'est là que j'ai eu le gala juste pour rire. J'ai vraiment compris que quand j'étais en phase avec moi-même et je me suis dit, ben, moi, j'aime faire rire. Tu sais, quand tu reviens à l'essence et pourquoi tu fais ça et que ça vibre encore plus en toi et que tu es en accord avec ça, c'est arrivé à ce moment-là et tu te dis, mais c'est bizarre. C'est bizarre. C'est ça le truc. C'est ça, j'étais en accord et mon but, c'était de autoproduire mon spectacle qui était le prochain, le mettre sur les réseaux sociaux et mais de faire quelque chose de cool. On cherchait déjà des réalisateurs pour le tourner en 4K. Je voulais prendre les Bains Mathieu, le théâtre des Bains Mathieu. C'est un théâtre qui est dans une piscine vide où les gens étaient en mode 380 parce que vu que je parlais un peu d'écologie... J'étais comme, ben ouais, piscine vide, ça marchait dans le concept. Et je me suis dit, ben, c'est tellement original que j'aurais pu tourner là. Et puis, ça aurait été vraiment magique. Et on s'en allait louer. Je m'en allais louer le théâtre. Soit c'était soit le Jésus ou soit ça. J'hésitais entre les deux. Après ça, il y a eu la pandémie.
Ben, on y arrive, mais juste avant ça, t'as proposé quand même une heure au Bordel Comedy Club en septembre 2019.
C'est eux qui m'ont approché.
Okay.
C'est eux qui m'ont dit, veux-tu faire ton heure? J'ai fait, ouais. Il commençait à faire les 60 minutes. J'ai fait avec grand plaisir. J'étais tellement content. Puis en plus, 2017 aussi, si on revient à 2017, ça a été vraiment là où on m'invitait énormément au Bordel Comedy Club. Donc on m'invitait là. Donc pour moi, c'était une sorte de consécration de « Ok, ça se passe bien, tu t'améliores. » Mais c'était vraiment pour moi, c'était des signes de « Ok, t'es en accord avec toi-même. Les choses se passent bien, t'es en accord avec toi-même, t'es bien entouré, t'as tes amis, tu sais où tu t'en vas, tu sais c'est quoi tes objectifs. » Et ça, c'est depuis 2017 et ça se passait tellement bien. Et je pense que c'était 2019.
2019, ouais.
2019, ils m'ont invité, ils m'ont contacté. C'est Charles Deschamps, il m'a contacté pour faire mon premier 60 minutes, mon 60 minutes au Bordel Comedy Club. Et j'ai accepté direct et puis... ça s'est vraiment bien passé. Ben après, avec le temps, j'ai regardé la vidéo, il y a encore des petits trucs à travailler. Mais ouais, j'étais tellement content.
Et tu commences aussi à animer, à faire la chronique en alternance avec ces Dom Botex.
Ouais.
Je prononce bien.
En même moment.
Au même moment. Donc, animer les mardis stand-up au Clébar que j'ai fait cette semaine-ci. Ça me fait... Du coup, maintenant, je suis content quand je fais les podcasts avec les Québécois parce que je fais « Hey, je suis allé là ». Ça, c'est pour moi. C'est mon petit moment pour moi. Ah, mais est-ce que toi, t'as aimé animer les soirées? Et est-ce que tu penses que c'est important comme expérience à apprendre pour un humoriste d'animer sa soirée?
À 100%. À 100%, man. C'est la chose qui te permet d'évoluer, mais fois 10. Mm-hmm. Dans le sens où c'est tellement dur d'animer parce que t'as tellement tes codes d'humoriste où dans ta tête, tu structures ton texte. Et dès que t'arrives avec ton texte sur scène, ben, le public est comme « Yo, on veut pas voir ton texte. » Et tu comprends très vite la notion de la promesse en animation. C'est-à-dire que si tu arrives avec de l'impro au début, tu poses plein de questions, et de suite après, tu arrives avec un numéro de stand-up, les gens, ils sont comme, attends, tu m'as promis de l'impro. Pourquoi t'arrives avec un... On le voit là que c'est faux là. Cette notion-là, en stand-up, elle est extrêmement importante parce que dès que t'arrives avec une promesse, admettons, tu fais une blague de cul et qu'après ça, tu fais des blagues très légers, bon enfant... Les gens vont plus te suivre. C'est comme, mais tu m'as fait une promesse.
Tu m'as promis une blague de cul.
C'est ça.
On est parti sur cette ambiance-là.
Exactement. Okay. Et ça t'apprend, cette notion-là, tu l'intègres très rapidement parce que t'es sur le moment, t'es sur le vif. T'as pas le choix de connecter avec les gens. Aussi, la notion de la connexion avec le public, elle est super importante. Mmh. Dès le départ, si t'es trop stressé, ils le sentent. C'est toi qui casses la glace. Donc, toute cette notion-là, tu l'apprends, qui est extrêmement bénéfique pour ton stand-up, en fait. Parce que la connexion, tu comprends que tu connectes avec le public, avec comment t'es sur scène, avec ta musicalité. Si t'as ta propre musicalité, on connecte avec toi. Et en animation, mais c'est exactement comme ça que t'apprends. C'est exactement comme ça que t'apprends ton personnage de scène, ta musicalité, ton flow, ton rythme. Tout, pas le texte. Le texte, ça fait chier, c'est dur parce que tu sors de là, tu te dis « Ah, j'ai pas testé ». Mais si tu comprends, dès que tu commences à maîtriser ton animation et que ça fonctionne bien, le texte, il va vraiment fonctionner. En fait, c'est ça, faut que tu travailles. En fait, l'animation travaille l'étincelle. En fait, c'est l'étincelle. Si tu réussis à faire un bon feu, tu peux tester, jouer, et tu comprends comment tester aussi naturellement un texte.
Je vais continuer d'animer des soirées.
Ah oui, à 100%.
Ben, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai animé deux soirées ici, et c'est vrai que ce truc de connecter avec le public, moi, je le faisais pas beaucoup. Voire pas.
T'as vu après quand t'as joué, quand t'as animé, puis ouais. Pendant quelques semaines, ça a été dur. Et là, quand tu vas jouer, par exemple, au terminal et...
Ouais, tu te sens plus à l'aise. Par exemple, passer premier. C'était un stress. Ouais. Je vais passer premier, c'est dur, j'ai cassé la glace. Une fois que t'as fait l'animation, c'était même pas cassé la glace. C'était avant, t'as une étape avant.
C'est ça.
Le public, il est pas prêt. Le spectacle a pas commencé. Tu dois commencer à capter leur attention. Avec l'animation, c'est vraiment le rôle d'animateur.
L'animation, c'est même pire qu'une première partie, en plus.
Ouais. Quand je fais un numéro en jouer en premier, j'y vais beaucoup plus détendu. Ouais. Et il y a aussi le truc de... s'il se passe quelque chose dans le public, tu sais que t'as eu l'expérience de « j'ai déjà su réagir ».
Ouais.
Moi, j'étais en stress de « j'ai mon texte, mais s'il se passe quelque chose dans la salle,
c'est ça.
Va me dévier de mon truc, que là, je vois bien que j'arrive sur scène, j'ai pas prévu, je peux retomber sur mon texte si j'ai besoin. » Parce que tu fais des blagues à toi dans ton animation. Je me disais, si je les ai pas répétées avant dans un texte structuré, je saurais pas revenir dessus. Bah si, ils sont en toi. C'est tes blagues, c'est toi qui les as écrites.
Ouais.
Sont là quelque part, quoi. Ouais. Et pas besoin de les avoir tip-top exactement pareil au mot près.
Exactement.
Donc, plus détendu là-dessus. Après, ouais. Je pense qu'il faudra encore que je le fasse, clairement, mais...
Mais c'est parfait. C'est un processus, mais en fait, ça te permet aussi de travailler ton écoute. L'écoute en humour, c'est tellement important, man. Tu dialogues avec un public. Donc, si t'as pas d'écoute et que t'es juste dans ton texte, perds quelque chose. Il faut que tu sois à 100% en écoute. Ceux qui le font bien, tout le monde a de l'écoute, mais ceux qui le font super bien, il y en a peu, hein, qui utilisent leur écoute et qui ont une force phénoménale et qui ont une capacité. Oussama Fares, il a une écoute sauvage. Lui, il arrive sur scène, il écoute, et il est rassembleur, donc ça fait en sorte que Marwan Balazar, pour moi, ils sont pas pareils, c'est pas le même humour du tout. Ils sont dans la même, je crois un peu dans la même catégorie, c'est-à-dire qu'ils ont une écoute très aiguë qui fait en sorte que ils arrivent sur scène et ils enflamment la salle, et ça c'est super important. Et l'animation te permet ça, ouais.
OK. Donc, s'il y a des humoristes qui écoutent, lancez-vous une soirée animée.
C'est ça.
Non, mais c'est vrai, pour le coup.
Ouais.
Ensuite, en 2019, tu écris et tu joues dans la série « J'ai tort, mais j'ai raison », dont on a parlé un peu tout à l'heure, mais aussi dans une web-série documentaire qui s'appelle « Briser le code », le lexique. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là de « Briser le code » qui a reçu des prix, qui a vraiment bien fonctionné, que c'est vraiment bon.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé ça super, parce que ça parle de sujets importants.
Ouais.
Mais de façon drôle.
Ouais.
C'est mon meilleur moyen pour me communiquer des informations, c'est de me dire ça avec des blagues.
Ouais.
J'ai trouvé ça très bon.
Quand on m'a approché, j'ai fait avec grand plaisir. C'était pour Télé-Québec. C'est un sujet qui me touche aussi, tu vois. Et j'ai beaucoup lu là-dessus, sur le racisme systémique, avant toute cette histoire de George Floyd. Déjà, on commençait à en parler, mais c'était pas aussi présent. On en a parlé. Au début, j'avais un peu peur, parce que j'étais comme... J'ai pas envie qu'on m'associe à de la politique alors que je suis léger. Mais en même temps, c'est des sujets qui me touchent, que je trouve importants. Donc, go. Au début, c'était des textes qui ont été écrits. Et puis, j'avais lu les textes. J'étais comme, c'était cool, mais je préfère les écrire moi-même. On parle de racisme systémique et c'est des blancs qui l'écrivent à ma place, donc je...
j'avoue.
Mais ils ont tout à fait compris, ils en ont rigolé, on a fait des blagues par rapport à ça. J'ai réécrit les textes à ma manière, j'ai gardé des trucs qu'ils avaient, j'ai punché des trucs et on a tourné le truc. Et même quand j'ai signé le contrat, il y avait une clause comme quoi que il se pourrait que, vu que c'est politique, qu'on reçoive des insultes.
OK. Il précise avant.
Il précise avant, parce que ça va être des vidéos qui...
qui vont tourner.
Ouais. Et j'ai fait que, ouais, mais en même temps, c'est des sujets tellement importants que, ouais, il faut le faire. Mais j'y suis allé avec beaucoup de crainte, mais beaucoup de plaisir aussi, tu sais, je...
Moi, je trouve que t'as fait ça très bien. Moi, je me rappelle surtout de la vidéo des micro-agressions.
Ouais.
Et je trouvais que c'était, tu sais, c'est clair, c'est... On comprend le sujet, c'est pour moi, c'est rassembleur, parce que c'est dit, c'est drôle. On comprend, tu transmets le message, on fait « Ah oui, c'est vrai que, en effet. » Et c'est juste un bon sketch.
Ouais.
Bien fait, bien monté, donc je trouve ça très bien.
Ouais, ben toute l'équipe était phénoménale. Vraiment, ils étaient très très bons. Et puis, ils ont fait ça avec brio. Et ça a été fait un après-midi, j'ai fait toutes les capsules en un après-midi dans le Myland. Mais c'était trop bien. Et moi, je pensais pas que ça aurait pris autant d'ampleur. Et on m'envoie plein de photos de « Hey, t'as vu, on était au bureau et puis voilà ce qu'on est en train de regarder.
» Ça, c'est trop cool.
Ça a pris beaucoup d'ampleur et ça m'a beaucoup appris sur « OK, il y a des sujets importants. » D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis dit, ben, mon numéro sur Youssef, le gars de l'Internet, je me suis dit ben, « Je vais en parler. » Parce que je trouve que c'est important et que... Au début, ce numéro-là, je parlais de briser le code. Tu sais, je parlais des haters, que j'ai dit comme quoi que j'ai reçu mon premier haters et je suis tellement content. Et après ça, je me suis dit, ben, c'est pas nécessaire. Mais c'est parti de ça. Parce que je me suis dit, ben, les gens m'ont associé à ça, donc je trouve que c'est important et c'est aussi ce que j'ai vécu, tu vois. C'est ce que j'ai vécu. En France, je l'ai tellement vécu. Ouais, donc, tous les débats que j'ai eus et ici, ben en France, c'était en pleine face.
Ouais, qui dit, j'adore cette phrase, c'est la France, c'est la NBA du racisme ordinaire.
C'est NBA.
Ils sont trop forts.
Et puis voilà. T'as quoi déjà ta question? Parce que j'ai...
Je pense pas qu'il y avait vraiment une question. C'était juste, je voulais un peu que tu me parles de ce projet-là, de briser le code.
Ouais.
Je trouvais ça très bon. Comme je disais tout à l'heure, je trouve que l'humour, c'est le meilleur moyen pour aborder tous les sujets.
Donc... Ouais, de communiquer. Et oui, j'ai appris à faire mes recherches grâce à ça. Parce que vu que j'ai fait beaucoup de recherches avant d'écrire ces capsules-là, avant d'écrire un numéro, maintenant je fais beaucoup de recherches. Je tente de faire beaucoup de recherches. Et ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé pour mon quatrième spectacle.
Et après ça, ben, c'est 2020.
Donc, ouais, pandémie intense.
Intense. Comme tous les artistes, les choses s'arrêtent. Toi, tu postes quelques vidéos, quelques sketchs, quelques lives. Parce que j'ai entendu que tu avais peur de perdre ta capacité à faire rire.
Ouais.
Mais tout le confinement, tout le fait de faire des shows un peu à distance, vouloir rester, d'exister encore par des vidéos, tout ça. Comment tu as vécu l'arrêt de ton métier?
Ouais. Les deux, trois premiers mois, ça a été dur. Je savais pas quoi faire parce que premier mois, c'était cool parce que c'est comme si c'était un party pyjama et tout le monde était d'accord. Mais les autres mois, c'était vraiment dur parce que je suis passé je jouais à 8 fois par semaine à plus rien.
À plus rien.
Donc, je perdais beaucoup de revenus. Après, j'avais des économies. Après ça, les lives, j'en ai fait peu. Je trouvais ça inintéressant. Ben, pas inintéressant, il y a du monde qui ont sorti leur épingle du jeu grâce à ça, mais je trouvais que c'était pas nécessaire. Et puis, j'ai lâché prise et ça m'a vraiment fait du bien. J'ai vraiment passé beaucoup de temps, j'ai lu beaucoup, j'ai écrit énormément. Peut-être j'écrivais pas, je m'en foutais. J'habitais au-dessus de Patrick Watson. Tu connais Patrick Watson, le chanteur Patrick Watson? C'est un chanteur très connu.
J'ai fait.
OK. Et c'est un grand chanteur. Si tu marques Patrick Watson, tu vas voir. Et lui, je l'entendais répéter toutes les heures, 11h le matin et 11h le soir. Il y avait une routine de création, tu sais. Je l'entendais. Okay. Il me faisait chier. Tu sais, j'étais comme, arrête. Oui, c'est beau. Oui, c'est magnifique.
Hein? Pourquoi tu veux me faire sentir mal?
Pourquoi?
Mais cette force-là, c'est venu me chercher. Donc, je me forçais à écrire. C'est n'importe quoi. Je faisais des petites vidéos sur les réseaux sociaux. Je faisais rien. Et après ça, ma copine, elle a voulu se rapprocher de sa famille. Donc, on était dans un parc, tu sais, puis parc Maisonneuve. Et puis, elle a dit, ben, tu sais quoi, on part en France, je vais aller voir ma famille, mon père est malade. Son père, il était malade, mais là, il est guéri. Je dis, ben ouais. Puis moi, j'étais le concubin d'une ressortissante française, donc je l'ai suivi. Mm-hmm. Pour ceux qui comprennent pas, conjoint de fait, je l'ai suivi. Et puis, tout a changé.
Mais il y a deux petites étapes avant. Je suis vraiment trop
Vas-y, ouais, pointilleux. Très pointu.
Mais il y a deux trucs juste avant que tu rentres en France. Il y a l'émission Le Prochain Stand-Up.
Ah ouais. Ah ouais, mais ça je l'ai oublié.
Mais on peut ne pas en parler si tu veux.
Mais là, on va
c'est
en
juste
parler.
Que tu affrontes le gagnant dès le premier tour, tu affrontes le gagnant de la saison 1, Simon Delisle.
Ouais.
Ce qui fait que t'es malheureusement éliminé rapidement.
Ouais.
Est-ce que ça a quand même été une bonne expérience et qu'est-ce qui t'avait donné envie de participer à cette émission?
Ça n'a pas été une bonne expérience pour moi.
Voilà.
À 100%. Et je vais le dire pourquoi, pas à cause du prochain stand-up. L'émission se voulait concours et tout ça. Et moi, je m'étais promis de plus faire de concours. Et je voulais pas le faire aussi parce que je voulais vraiment me concentrer sur l'écriture et les gens sautaient dans cette émission parce que ça recommençait puis il y avait une émission de télé et aussi je trouvais ça bizarre le contexte d'émission de télé en pleine pandémie devant 25 personnes et j'ai pas vécu cette expérience, j'ai pas eu une bonne expérience parce que dès le départ je voulais pas le faire et je me suis pas écouté. Et ça s'est ressenti sur scène dès que je suis monté sur scène. J'ai fait le mieux que je pouvais dans un état de... Je le sentais pas de le faire, je me suis pas écouté. Mais le concept du prochain stand-up était vraiment très, très cool. C'est une très bonne idée. Ça a permis de faire connaître plein de monde.
J'ai pu voir des numéros d'humour au Québec, donc moi, j'étais très content, pour le coup.
Simon Delisle, c'était un humoriste, je voulais pas le confronter parce que il est fucking bon, je l'aime beaucoup. J'adore ce gars. C'est une personne qui a une capacité d'écriture qui est incroyable. Il est drôle, il est d'une sympathie, il transpire le talent, mais c'est impressionnant.
C'est fort.
C'est fort.
C'est puissant.
C'est puissant. Et Juste pour rire, m'avait contacté pour le faire sans passer les auditions. Puis il voulait m'avoir et j'étais comme « Ok, ça flatte mon ego, merci. » Mais au fond de moi, je voulais pas le faire. Je demandais à plein de monde parce que je savais au fond de moi que je voulais pas le faire. Je voulais pas le faire parce que j'étais pas prêt. Je voulais écrire des nouveaux trucs. Je sors d'une pandémie. J'ai pas assez joué. J'ai besoin de jouer avant de... Tu sais, j'avais besoin de construire un nouveau numéro. Et pendant la pandémie, je m'étais construit. Je me suis donné la promesse de construire un nouveau spectacle, mais en prenant le temps et de m'amuser. Et la demande du prochain stand-up, c'était comme si c'était...
Tu pouvais pas faire ça.
Je pouvais pas faire ça.
Et la deuxième chose que je voulais dire avant que tu rentres en France, c'est que tu fais un gala juste pour rire devant personne.
Exact.
Ça, c'est le truc. Je me dis, je peux pas comprendre. Arriver à faire ça, c'est impressionnant pour moi.
Ouais.
Mais à part Pierre-Yves Roy Desmarais qui a vraiment fait un
numéro
sur le sujet.
Il a fait un truc incroyable. Le pire, c'est que j'y avais pensé, je te jure, mais pas que j'y avais pensé. Je pense qu'on était plusieurs humoristes à y avoir pensé.
Il faut jouer de la situation.
Jouer de la situation, mais on a tous eu peur de le faire. Et t'as Pierre-Yves Roy Desmarais qui le fait, mais avec brio. C'était vraiment fou. Mais t'avais les 3-4 premiers shows, c'était devant une jauge de 250 personnes.
Ah, OK.
Et après ça, il y a eu l'appel de la pandémie, du deuxième confinement. Donc, on a passé de 250 à personne. Et je me rappelle que quand ma copine m'avait demandé de partir avec elle en France, moi, j'hésitais un petit peu. Mais je te dirais que l'élément déclencheur a été ces deux galas. Le gala de Mehdi et le gala de Filroy, c'était perturbant. Genre, tu jouais ton texte et t'entendais le bois de la caméra et faire... Et j'ai fait, mais pourquoi on a fait ça? Après, j'ai vu le rendu, c'était
bon.
Non, c'était bon,
c'était
ça bon, va.
C'était un bon passage.
Mais c'était juste comme si t'enchaînais.
À vivre, non, mais en plus, ils ont rajouté les rires et le public.
Ouais.
Donc quand tu le vois, c'est moins perturbant. Moi, je trouve que c'est un bon numéro. mais à vivre, pas d'entendre de rire
pour
du stand-up. Moi, j'ai fait une scène ici avec Sad, qui fait un show avec des contraintes. Et la contrainte que j'avais eue, c'est le public ne peut pas rire.
Ouais.
Mais c'est le pire truc au monde.
Tu
te remets en question en train de parler, quoi.
Ouais.
Ne pas entendre de rire, c'est le pire truc, quoi.
Ouais.
Mais là, tu te dis, c'est normal, mais en même temps, quelle horreur.
Mais en même temps, je voulais le faire parce que je voulais faire un gala juste pour rire. C'était un plaisir de jouer, revoir des amis aussi, de revoir des collègues, tu sais. On avait tous un faux stress parce qu'il y avait personne.
Mm-hmm. Oui, et mais c'est capté quand même. Oui.
Le but de l'humour, c'est d'avoir un peu cette adrénaline et avoir peur de l'échec ou être entre cette ligne-là pour essayer de chercher la réactivité du public. Et quand tu l'as, ben, t'es content, tu sais. On l'avait pas. C'est ça, man. Et je pense que ça a été l'élément déclencheur en mode, ben,
Allons en France,
je vais aller avec toi. Je veux voir autre chose. Je vais vivre autre chose. Et puis, j'écrivais aussi pour un podcast jeunesse, Astrobi. On m'a contacté pour le planétarium. Je l'ai fait avec Léo Hart. On l'a écrit ensemble. On s'est beaucoup amusé dans le sens où, bien, on écrit, puis on se rend compte, puis on écrit des blagues, puis on a écrit plein de blagues à côté pour nous. Mais c'était un plaisir de le faire pour eux, tu sais. C'était vraiment un plaisir. Et ben, j'ai eu ce revenu-là. Grâce à ça, ben, j'ai pu gagner ma vie et puis aller en France et puis voilà.
Ce qui fait que donc tu passes le confinement en France, à Villeneuve-sur-Lot.
Ouais.
Chez tes beaux-parents.
Exactement, qui est une toute petite ville à côté entre Toulouse et Bordeaux.
Et comme ta copine, elle est avocate, elle télétravaille, toi t'as rien d'autre à faire qu'écrire.
Ouais.
Donc tu commences à écrire donc avec Léo Hart, un ami français donc on a parlé plusieurs fois dans le podcast, qui vit au Québec. Avec qui t'as fait de l'impro, vous avez écrit sur d'autres projets donc comme le podcast Jeunesse. Comment est-ce que vous procédiez pour travailler et pour créer le spectacle dont on parlait en début d'épisode?
Ouais. Ben déjà on s'était rencontrés parce qu'on fait de l'impro ensemble au Théâtre Sainte-Catherine. Déjà on avait une complicité de blagues, on se lançait des blagues, puis on a une complicité, c'est très vif et ça fonctionne, tu vois. Et après ça, il y a eu Astrobien, donc j'ai commencé à travailler avec lui. Donc on a commencé à rebondir et j'ai vraiment trouvé qu'on travaillait bien ensemble. Il travaillait avec moi aussi sur J'ai tort mais j'ai raison. Aussi, quand je faisais les capsules sur Instagram, il m'a aidé aussi pour travailler là-dessus. Et donc, on travaille très très bien ensemble et à un moment donné, ben vu que je faisais rien chez, comme tu dis très bien, chez ma belle famille, ben avec ma copine, j'étais un meuble à côté d'elle, elle télétravaillait, puis je faisais rien. Je dis va écrire des blagues, je me suis donné comme objectif écris un nouveau spectacle. T'es dans un nouveau pays, t'es dans un nouveau monde. Vas-y, écris. J'ai tout jeté ce que j'avais, j'ai gardé deux blagues de mon dernier spectacle et j'ai contacté Léo. Je dis yo, je veux qu'on se rencontre deux fois par semaine. Je veux écrire deux textes ou un texte par semaine et je veux qu'on brainstorm sur le texte. Il m'a dit go, on le fait. Puis une fois par semaine, on se faisait des Skype et puis on écrivait. Toutes les blagues et toutes les idées. Et c'était bizarre parce que, vu que j'étais beaucoup avec moi-même, c'était vraiment beaucoup de rétrospection. Et ça a été magique. Ça a été magique parce que c'est un spectacle que je considère un peu plus personnel que les autres.
Il est très personnel.
Ouais.
Après, j'adore ça. Moi, j'adore que ce soit personnel, mais j'adore. C'est vraiment un très bon spectacle. Je l'ai déjà dit que c'était bon.
Oui, c'est la dit.
Ça va.
Ouais.
Ça se ressent que t'as travaillé sur toi, t'as cherché des choses personnelles.
Parce que j'avais rien d'autre.
Et aussi, t'es confronté à la France, à un nouvel environnement. Ça se ressent aussi parce que tu en t'en parles dans le spectacle.
Ça me nourrissait parce que j'avais des nouveaux codes, des nouveaux chocs culturels. C'est clairement plein de chocs culturels qui s'est emmagasiné. Et je vivais ça, donc forcément, ça me donnait plein d'idées, là. Et la routine d'écriture, elle a été beaucoup plus intense. Moi, le matin, j'écrivais. Après ça, j'allais faire des rénovations dans le château. Après ça, je revenais, je lisais. Après ça, le soir, j'appelais Léo Hart. Okay. Parce que lui, il était à Montréal. Donc, et dès que j'arrivais avec un nouveau texte, pour moi, c'était une réussite. J'étais comme, OK, j'ai closé ce texte. Je l'ai fini, je passe au prochain texte. Mais quand j'ai fini un texte, man, c'était gratifiant. Et c'était une nouvelle façon de me gratifier ou de me dire bravo, t'as travaillé, j'ai terminé un texte, on passe à l'autre.
Bah, ça a été vraiment efficace au vu du spectacle. Ce qui fait qu'à la reprise des spectacles, t'es prêt.
Ouais.
T'as des nouveaux textes à tester devant public. Comment ça se passe tes débuts en France? Les premières scènes que tu refais en France à la reprise des spectacles, tout ça?
Mais déjà, j'ai écrit mon premier texte que j'ai testé, ça a été Youssef Le Gars de l'Internet, et je l'ai fait aux 30 Glorieuses. C'était pendant la pandémie, donc c'était le seul moyen de... j'ai fait une chronique aux 30 Glorieuses et ça a vraiment bien fonctionné. Tu sais, parce qu'il y avait un petit peu de public dans le théâtre, c'était dans le théâtre de 10 heures. Et donc, c'était ma première fois que j'ai testé et ça a bien fonctionné. Après ça, il y a eu la réouverture et je suis parti en Belgique. Donc, les premières scènes que j'ai faites vraiment devant un public, c'était en Belgique parce que tout a commencé à être la réouverture pour le public a commencé en Belgique avant la France.
Ouais.
À la France, il y avait des jauges encore. En Belgique, c'était plus loose et c'était ouvert pour tout le monde. Donc, j'ai commencé à jouer là et ça se passait tellement bien. Ils m'ont tellement donné plein de confiance. J'ai joué dans un parc, j'ai joué au King of Comedy, j'ai joué dans un bar-resto, mais c'était plein à craquer. J'ai oublié c'est quoi le nom. J'ai fait un 30-30 avec Uno. Avec Ino. Désolé, Ino, je suis fatigué. Avec Ino.
Ino comprend, il sait, ouais. Il sait comment ça se passe mes podcasts, il n'y a pas de souci.
Et après ça, je suis venu en France, j'ai commencé à jouer, ça se passait super bien, donc je prenais confiance. Et tellement que ça se passait bien, donc... ça, je m'épanouissais, ça, c'est fou. Je sortais, à chaque fois que je faisais un show, il y avait un nouveau beat qui sortait. Là, je faisais un show, je testais un autre, il y avait un nouveau beat qui sortait. Des fois, il y avait une blague qui fonctionnait, c'est devenu un nouveau beat. J'étais comme, c'est incroyable, c'était d'une vitesse, ça se passait bien. Et j'avais une vivacité d'esprit parce que j'ai passé, genre, 8 mois à écrire non-stop.
Mais c'est ça, t'avais fait le travail en amont et...
C'est ça, donc c'était trop cool. Et quand t'écris un nouveau numéro et que ça se passe bien, c'est tellement
cool.
C'est jouissif. Ah, c'est jouissif, t'as tellement hâte de le jouer. C'est incroyable.
Et à la reprise, il y a deux personnes qui vont faire en sorte que ça va plus vite et que ça avance et que tu peux jouer dans plein d'endroits. C'est Jason Brokers,
ouais.
Que t'avais rencontré, dont on a parlé tout à l'heure.
Ouais.
Qui te permet de jouer, par exemple, Madame Sarfati, qui t'emmène dans des comedy clubs. Mais il y a aussi Bouddha Emine, qui te propose, après un open mic à 17h au Fridge, de faire ses premières parties.
Ouais.
Et donc, tu fais ses premières parties, mais la première, elle se passe pas incroyablement.
Non, c'était fou, c'est là.
Ce qui fait qu'il te laisse un petit peu de temps, puis il te rappelle, et tu enchaînes, tu fais ses premières parties de façon régulière.
Ouais, j'ai fait je m'en rappelle... Juillet, je fais le open mic du Fridge, croise Bouddha Emine, on est en juillet, et j'étais supposé repartir à Montréal en septembre 2021. Croise Bouddha, il me dit, genre, je te propose de faire mes premières parties. Je joue jusqu'en décembre, donc cool. Donc là, je suis comme, ok, cool, je le fais, mais par contre, il faut que je prolonge mon visa de séjour, je peux pas... Donc là, j'ai prolongé mon visa de séjour, on a sous-loué notre appartement à Montréal jusqu'en décembre, janvier, et je suis resté. Et là, donc là, je me préparais pour la première partie à l'Européen de Bouddha Emine. Mais tu sais, quand tu te prépares, là, et que tu le visualises, et t'arrives, et c'est nul. Mais pas un rire. Je décrochais 2 petits rires.
Okay.
Les gens avaient hâte de voir Bouddha Emine, et moi, je parte. C'était... En plus, Bouddha Emine, il y avait toujours la tendance de, après son spectacle, de réinviter l'artiste, et il s'en va, et tu dois faire... Tu dois improviser un autre numéro.
Ok.
Et moi, je le savais pas, mais il l'a pas dit. Mais ça, c'est Bouddha Emine, c'est une nébuleuse. Il fait. C'est une nébuleuse, Boun. Ça s'est pas vraiment bien passé. Et je pense même que la prod était comme, mais pourquoi tu l'as invité? Invite-le pas. Et je pense que je me rappelle que je me suis dit, oh, ça a été dur. Et après ça, je me suis dit, c'est pas grave. Après ça, j'allais jouer dans les plateaux, ça se passait bien. Donc, j'évoluais. Je continuais à évoluer. Ça se passait bien. Et je pensais pas qu'elle allait me réinviter. Et là, il m'a réinvité parce qu'il y a quelqu'un qui a annulé. Et moi, ça me faisait mal parce que j'étais là pour jusqu'en décembre. J'étais supposé de faire sa première partie jusqu'en décembre. Et j'ai raté ma première partie.
Dur.
Donc, tout s'est annulé et j'ai tout fait ça pour rien. Mais après ça, je me suis dit, en même temps, je suis dans un nouveau monde. Je teste encore, je joue encore. On me réinvite. On m'invite au Madame Sarfati. Sado, qui est la programmatrice, elle est incroyable. Je suis tellement content d'avoir travaillé avec elle. Et elle m'a réinvité, elle a vu ce que je faisais, elle m'a dit, t'es fort. Là, le nom s'est fait autour de moi par rapport à ça. Ça a été très, très rapide, mais vraiment un accueil incroyable. Et après ça, t'as eu Bouddha Emine qui me rappelle. Et je fais une autre première partie et ça s'est super bien passé. Et j'avais rien préparé. Il m'appelle, je vais faire ma première partie ce soir. J'ai fait ouais, et j'ai fait sa première partie et c'était incroyable. Donc et là j'ai continué à faire ses premières parties tout le temps en fait, et j'ai tourné un peu. On était trois à faire sa première partie. Il y avait moi, Alex Kominek et Cécile Marx, qui okay. est une autre humoriste très excellente. On était trois et on a tourné partout en France. Un soir c'était lui, un soir c'était Kominek, un soir c'était Cécile Marx et un soir c'était moi. Okay. Et c'était ça pendant 8 mois.
Ce qui fait que tu obtiens ton statut d'intermittent du spectacle en France.
Ouais.
Qui est génial.
Qui est un concept qui devrait exister au Québec.
Qui devrait exister partout. C'est,
ouais.
C'est trop bien pour les artistes. Après, t'es repéré par une agence de production, donc Cholélé, qui te propose de présenter une heure de spectacle.
Ouais.
Toi, tu as 20 minutes et tu fais.
Ok. Oui. On va faire oui, ça. Oui, parce que je me sentais prêt de le faire. Parce que je suis capable d'écrire, je peux écrire. Et puis, Léo Hart, il est resté pour moi. En fait, Léo Hart, c'est un humoriste incroyable. Il commence, là, il tourne son spectacle en France, mais il revient à Montréal. Il est vraiment incroyable. Ce gars-là, lui, il est venu en France me rejoindre avec sa copine. Et sa copine est repartie, puis il était supposé de repartir avec. Et lui, il est resté avec moi pour travailler mon spectacle. Parce que sinon, j'aurais été très, très seul à Paris. Et le gars, il est resté avec moi pour qu'on travaille ensemble ce spectacle, tu vois. Et respect à ce gars. Je suis très reconnaissant de son dévouement. Et beaucoup de respect. Puis après ça, tu sais, il m'a beaucoup aidé pour mon spectacle. Et lui, quand il a sorti son spectacle, je l'ai aidé à écrire son spectacle. Donc, on s'est vraiment aidé. Et voilà, j'ai commencé à jouer au Barbès Comedy Club.
Mais dont on a parlé en début d'épisode. Puis après, ça a été la petite loge.
La petite loge.
Comme tu l'as dit, dur, mais en même temps, ça permet de progresser.
Exactement. La petite loge, c'est la pire expérience que j'ai vécue en 10 ans. Wow. 10 ans.
Eh ben, ça fait envie. mais je vois sur les gens qui le font, est-ce que ça les fait évoluer. Par exemple,
à 100%.
Ino aussi a fait la petite loge.
À 100%.
Et quand je l'ai revu après, j'ai fait waouh, il a pris du galon.
T'as le voir à la petite loge?
J'ai pas vu à la petite loge, mais je l'ai vu après qu'il ait fait les petites loges. Qu'il en ait fait un paquet, il est revenu, il a rejoué. Et moi, j'adorais son spectacle avant. Je disais, c'est le meilleur en Belgique. Puis après, il revient avec cette expérience-là, je fais waouh.
Ça casse une personne, ça te casse littéralement parce que tu dois remplir la salle. Donc. C'est dur sur l'ego si tu ne réussis pas à remplir le plus petit théâtre de Paris. C'est s'il y a 2 personnes dans la salle, j'ai joué devant 2 personnes. 2 personnes dont 2 personnes de la prod, tu vois. C'était terrible. J'ai joué vraiment devant une salle comble où ça marchait pas du tout. J'ai joué dans des moments. Ça a été dur. Dur, mais tellement formateur parce que, en fait, comme je disais au début, ça te crée des petits traumatismes en toi, des petites cassures. Et ces petites cassures sont importantes et ça te permet, comme le chemin à ne plus faire. Genre, fais attention. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Simon Leblanc. Et Simon Leblanc fait exactement ça pour écrire ses spectacles. Lui, il se prend le Théâtre Sainte-Catherine, il prend 25 personnes, il écrit son nouveau spectacle de cette manière. Et c'est sa manière, et c'est pour ça qu'il est vraiment, ça marche. C'est pas que pour ça, parce qu'il était très talentueux, mais ça l'aide à être extrêmement drôle parce qu'il se met en condition de difficulté. Il sort de sa zone de confort, donc forcément, t'as l'instinct de survie qui embarque et tu deviens meilleur. Ben moi, ça a été ça pendant 6 mois. 6 mois où la boule au ventre, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais? Oh non, ça va être dur. Et ça a été ça pendant 6 mois. Je te dirais que le dernier mois, c'est là que ça fonctionnait.
Okay.
Ça commence à fonctionner.
Les derniers mois.
Wow. Les derniers mois. Mais après, quand je faisais les petites loges et que j'allais jouer au Sarfati après, je pétais tout au Sarfati. j'allais jouer au Barbès, je pétais tout, j'allais jouer. Ça se passait tellement bien. Mais ça, c'était grâce à la petite loge. Et ça a écrit mon spectacle. C'est grâce à ça que j'ai écrit mon spectacle. Donc oui, à faire. À refaire, je sais pas. Peut-être, peut-être pas. On verra. Mais je sais qu'il y avait Jason Brockeuse qui était venu me voir. Il m'a dit, frère, je sais pas qu'est-ce que tu fais là. Je sais pas qu'est-ce que t'apprends à part la capacité à encaisser la souffrance. J'en ai aucune idée.
Okay.
Parce que c'est exactement ça. C'est t'apprends à encaisser la souffrance.
Tu pars en tournée après? Ouais. Toulouse, Lille, Montréal, Caen, Lyon, Marseille, Genève. Puis après, tu passes aux métropoles.
Ouais.
Fin 2022. Sur toutes les dates que tu as joué ton spectacle, quelle est la meilleure et quelle est la pire? Parce que j'ai déjà eu, en fait, dans les autres podcasts, on t'a déjà parlé de tes pires scènes. Donc, j'ai entendu la corpo devant les huissiers de justice Soul.
Ouais, ouais, ouais.
Le show au milieu d'un repas dans une croisière. Ou faire un sketch sur des chauves qui ne fonctionnent tellement pas qu'une femme dans le public demande à être remboursée.
Ouais, ouais.
Donc, j'ai besoin de nouvelles anecdotes, en fait.
Ah, ouais, ouais, tout à fait. Mais non, non, j'en ai eu tellement plein. Mais moi, je m'en fous en même temps.
Ce show-là, est-ce qu'il y a vraiment une date en particulier qui ressort?
Ah oui, oui, il y en a eu plein. En fait, en gros, ouais, j'ai eu la tournée. La meilleure scène que j'ai faite, c'est quand j'étais revenu ici. J'ai fait le Zoufest avec ce spectacle-là. Okay. Monument National. J'étais tellement content, ça s'est tellement bien passé. Après, la tournée, elle a été relativement difficile, souvent difficile, parce que c'était beaucoup un public de découverte, on me découvrait, et aussi, ben, je devais remplir des salles où il y avait personne qui me connaissait, donc c'était vraiment un peu dur. Mais j'aimais ça quand même, c'était le plaisir de faire la tournée, c'était trop cool quand même, tu vois. Mais il y avait beaucoup de découvertes, donc souvent des gens comprenaient pas ce que je disais. Mm-hmm. Vraiment un regard de, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du stand-up, il nous parle. Je me rappelle, il y avait une salle où ça a été vraiment dur, où j'ai souffert, c'était à Lyon. À Tours, c'était difficile aussi. Lyon, c'était extrêmement difficile, où les gens étaient pas dedans avec moi. Les gens embarquaient pas avec moi. Okay. J'arrivais, je commençais à retester. En fait, j'ai testé le numéro de l'église ici. Ça fonctionnait bien. Et je l'ai exporté en France. Et à Lyon, je les ai tous perdus. Je les ai perdus à ce moment-là. Je pense qu'ils pensaient que je me moquais de la religion chrétienne en étant arabe, alors que c'est pas ça du tout.
Non.
Je sais pas, je m'aventure sur des photos, mais ça n'a pas fonctionné. Pendant une heure, c'était un... Au début, ça fonctionnait, mais pendant une heure, c'était désastreux. Okay. Désastreux où ça marchait pas. Je transpirais sur scène, limite, les gens sont partis en mode « Oh là là ». C'était vraiment très, très dur. Tours, c'était difficile, mais c'était agréable parce que les gens étaient avec moi, donc je pouvais tester des trucs. Mm-hmm. Je testais des trucs et grâce à ça, j'ai pu sortir des nouveaux trucs. Mais à part ça, sinon, ça a été vraiment très, très cool.
Et est-ce que, à force de jouer dans... Ben non, t'as eu de l'expérience devant pas mal de publics différents,
ouais.
Le public français, le public belge, le public québécois. Est-ce que toi, tu sens une différence en termes de public? C'est pas la même chose ou tu te dis un public, c'est un public?
Pour moi, c'est un public. Okay. Mais je pense que le public doit être un minimum informé de qu'est-ce qu'il va voir. Mm-hmm. Mais pour moi, un public, c'est un public. Et puis, si t'as pas réussi à les faire rire parce que t'as pas réussi à comprendre qu'est-ce qui a pas fonctionné ou pourquoi t'as pas connecté avec eux, tu sais, t'as mm-hmm. pas réussi à comprendre la connexion que t'aurais pu avoir avec eux. Pour moi, jamais je mets la faute sur le public.
Mais tu les abordes pas d'une façon différente en te disant, ah là, c'est un public de français, il faut que je fasse attention. Si c'est un public de québécois, je vais.
Non. Vraiment, c'est plus. C'est moi parce que il y a des codes que je ne gérais pas. Je suis un Québécois qui va faire la tournée en France devant un public que je découvre et que le public me découvre, un public qui va voir du théâtre normalement et pas un gars qui fait il y a pas de qui leur pointe du doigt, donc déjà c'était quelque chose qui a pas tous les codes, donc c'est juste moi, j'ai pas su gérer ça, donc j'étais un peu perdu à un certain moment. Et je te dirais que en plein milieu de la tournée, j'ai compris quelque chose. Okay. J'ai compris un rythme, quoi prendre, comment commencer pour aller les chercher. Je me suis dit, si je connecte avec eux et que ça rigole dès le départ, ils vont embarquer avec moi. Et ce que j'avais pas au début. Au début, on revient avec l'idée de la promesse. Au début, j'improvisais avec eux. Je faisais plein d'impro. Après ça, j'embarquais dans mon texte et les gens embarquaient pas avec moi parce que je leur ai promis autre chose. Mmh. Et surtout, ils me connaissaient pas, donc forcément. Et en plus, j'arrive avec mes idées que mon père est décédé. Et après, j'ai compris un truc. C'était à Genève où le premier show, c'était un peu plus dur, mais ça se passait bien. Et le deuxième show, j'ai comme twisté plein de trucs. Ça s'est super bien passé. Okay. Donc, en plein milieu de la tournée, j'ai compris comment chercher le public que je ne connais pas ou que je connais... Ouais, et je me dis, si ça fonctionne avec eux, quand je joue devant mon monde et qu'ils comprennent ce que je dis, ça va être encore plus incroyable parce qu'ils vont se dire, ah ok, le gars, il nous apporte des nouvelles idées, il est... Puis j'arrive avec une assurance parce que je joue devant un public qui me connaît, tu sais, qui comprend où je m'en vais. Où, voilà, en plein milieu là. Mais en gros, des shows désastreux, non. Shows difficiles, j'en ai eu 3-4 dans la tournée, dont Lyon qui a été, c'était le top.
T'es par où aussi.
Ouais.
S'il y a des gens qui étaient à Lyon, dans les commentaires, dites-nous. Si vous vous avez aimé, si vous vous êtes dit « Oula, qu'est-ce qui se passe ?»
Mais moi, je me suis revu dans la vidéo, j'ai fait plein d'erreurs. Okay, j'ai fait plein d'erreurs. Mais
après, c'est dur quand ça embarque pas au début de le continuer avec la même assurance.
Ouais.
Ça, c'est pas grave.
Ouais.
C'est
mais en même temps, c'est des erreurs que j'ai faites et je sais que la prochaine fois, je les referai plus. Mm-hmm. Mais c'est normal parce que j'apprenais sur le tas, tu sais, c'est comme si va jouer au hockey mais tu sais pas patiner. C'était exactement ça. Mm-hmm. Je jouais au hockey avec des professionnels alors que je savais pas patiner. Pour moi, j'étais un Québécois dans un monde que je ne gère pas. C'était pour moi tellement abstrait, il y avait tellement de choses, des codes que je ne gère pas, des trucs, je sais pas, c'est genre, par exemple, je savais pas que Lyon et Paris, il y a une petite rivalité, mais Lyon sont beaucoup prétentieux. Donc, si je critique Lyon, ils vont vraiment le prendre mal. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Mais ça, je ne gère pas tout ça. Je l'apprends après. Mm-hmm. On me le dit. Il y a des l'humoriste qui a fait ma première partie, il me raconte tout ça. Je sais, comme peut-être pu me le dire avant.
Oui.
Tu sais, il y a des trucs, et c'est normal parce que ben voilà, je suis pas du pays et t'as j'apprends
pas,
sur le temps.
Les codes. Ouais.
J'ai pas encore les codes.
Mais on arrive maintenant à un gros événement.
Ouais.
Dont on ne peut pas ne pas parler, c'est le Montreux.
Ouais.
Ça, tu en parlais dans le podcast d'Angry Groom. Tu disais, ça s'en vient. Je suis inquiet, j'ai peur des commentaires et tout ça. Mais t'as participé à deux galas, le gala de Jason Broker, c'est le gala de Baptiste Le Caplain.
Ouais.
Comment c'était? Est-ce que toi, t'es content des retours, que tu appréhendais un petit peu les commentaires, tout ça? T'avais envie de faire un bon passage, parce que comment t'as vécu ça?
Trop bien. Vraiment, beaucoup de stress, évidemment, hein, parce que c'est un gros gala, c'est les Olympiques. Tu veux bien performer. J'ai testé toute la semaine pour que ça se passe bien. Vraiment très bien, mais vraiment, j'étais vraiment dans ma tête. Si c'était à refaire, la prochaine fois, je serais purement dans le monde présent et que je me laisse aller. Je dirais que c'est les mêmes commentaires que la plupart des humoristes qui font le premier Montreux. Ils disent toutes la même chose. J'aurais pu me laisser un peu plus aller.
Okay,
ouais. J'en ai parlé avec Dena, qui est l'humoriste, qui est j'adore cette humoriste. Une humoriste belge. J'adore cette femme. Elle m'a beaucoup conseillé. Puis elle m'a dit exactement la même chose. J'aurais pu me laisser aller plus. Mais en vrai, quand tu regardes la vidéo de Dena, de son Montreux, c'était vraiment exceptionnel.
Mais toi aussi. C'est un très 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 bon passage de
Montreux. Ben, merci.
Après, je vais arrêter de dire toutes les deux minutes que j'adore ce que tu fais. Mais si, c'est vraiment un très bon numéro. Bah, le numéro est disponible, donc ça, on peut parler du sketch en soi sans divulguer trop d'informations, mais tout le truc de la gifle qui va te civiliser.
Ouais.
J'adore.
Merci.
L'arabe brisé. Mais tu sais, c'est aussi dans les mots choisis, dans l'écriture du.
Ouais.
Et puis tu le joues super bien aussi.
Ah ouais, merci.
J'adore aussi. Mais la NBA du racisme, c'est dedans.
Ouais.
Et cette phrase-là, moi, j'étais associé NBA raciste, j'aime beaucoup. Youssouf, le gars d'Internet, mais on en parle. C'est bien parce qu'en fait, les gens vont pouvoir écouter le sketch et voir de quoi on parle.
Ouais.
Le jambon sous la table. Moi, c'est le moment où je crois que je ris trop fort dans ton spectacle. C'est ce moment-là de ce que l'auteur essaie de... J'adore ça, c'est tellement bien trouvé.
Oh, merci.
Parce que en vrai, c'est un truc dur, tu vois. Et tu l'amènes avec tellement de... On est avec toi, quoi. On se dit, ah, il a vécu ça.
Je suis tellement content.
Tu l'amènes super bien.
Je suis tellement content. Tu sais comment je l'ai trouvé, ce gag-là? C'était vraiment, j'avais pas ce gag-là. Et il manquait de rythme dans le spectacle. Et il y avait juste le « Oh, ça va », tu vois. Mm-hmm. Et je me rappelle, je me suis dit, ben moi, je vais faire de la corde à sauter en récitant mon spectacle parce que c'est demain le spectacle, tu vois.
Okay.
Donc, je faisais la corde à sauter, je récitais mon spectacle, il était 1h du matin. Et là, à un moment donné, j'arrive à ce moment-là, et là, je commence à explorer. Et j'étais comme, ben oui, c'est ça, juste... Fais une analyse littéraire de cette mauvaise blague. Et je suis tellement content, content. Merci.
C'est vraiment une très très bonne blague, mais... Je trouve que tout le numéro est vraiment bon, donc c'est cool que ça soit capté et que tu puisses le montrer.
Ouais.
Parce que c'est une bonne représentation de ce que tu fais. Après,
ouais.
Ça, tu vas me dire, ça peut toujours être meilleur et tu vas le revoir dans 5 ans et te dire, oh, j'aurais dû faire... Mais je le trouve vraiment bon.
Ah,
c'est un bon Montreux que tu peux montrer avec fierté. Il est vraiment bon.
Ah, mais merci.
Ouais, grand plaisir. Si, encore une fois, tu serais pas là si je trouvais pas.
Mais ouais, mais mon trou, ouais, c'est toujours stressant. Mais la prochaine fois, quand je ferai mon trou la prochaine fois, si je le fais, je cogne du bois. Après, ça me dérange pas. Mais ça serait toujours un plaisir. C'est, j'irai vraiment en mode lâcher prise, en mode plaisir, en mode Jason Brockes.
Okay.
En mode Jason Brockes.
C'est quand même marrant comment.
Jason Brockes, lui, il y va en mode, ouais. Je vais profiter de l'hôtel. Lui, je te le jure, genre, on est à 2 jours du gala. Non, à 2 heures du gala. On va au spa? On va au spa? Il est en peignoir dans l'hôtel. Je te le jure. T'as un gala, là?
Quand je disais j'aimerais bien être Yacine Bellou, j'aimerais bien avoir cette détente de Jason Brockes. Parce qu'en début de podcast, avant qu'on enregistre, on dit « Ah, je suis un peu stressé quand je fais un podcast. Ah, moi aussi, machin. » Jason, j'ai fait le podcast avec lui, il était à Bruxelles. Jamais vu quelqu'un d'aussi détente de « On va lui poser des questions. » Il était là « Ok, allez, on est parti, on fait le podcast si tu veux. » Fais une pause, pas de problème, moi je suis tranquille, je réponds à tes questions en détente. Et c'est Dana aussi qui disait que Jason l'a détendu avant de monter sur scène de c'est juste une scène, hein. J'y arrive pas du tout, hein, mais je suis d'accord avec lui.
Ouais, c'est vrai que c'est juste une scène et on s'en rend pas compte, mais c'est vrai. Et surtout quand t'es en détente, c'est la confiance qui embarque. Tu vois. Mm-hmm. Faut laisser la confiance et pas une fausse confiance qui est un peu l'ego. Mélanger avec le stress, c'est pire. My God, c'est ce qui, à chaque fois je le vois, c'est ce que j'aime. C'est inspirant.
Je pense être revenu sur une bonne majorité de ce que tu as fait.
Ouais.
Je suis désolé si j'ai oublié des choses.
Ne sois pas désolé, on a fait 4 heures de...
Ouais. Mais
tes amis
ils sont en train d'attendre dans la chambre.
Les pauvres, ils ont peut-être faim.
Mais peut-être ils ont peut-être faim, mais le pire c'est que c'est pas fini.
Oh shit. Encore...
J'aime bien ce oh shit. Je suis désolé.
T'inquiète.
Il y a juste 2 petites questions avant le name dropping. Ouais. Le name dropping ça va plus vite. C'est juste 2 questions que je pose à chaque épisode. Donc ouais. Si je les pose pas, il y a mes auditeurs qui vont faire pourquoi tu l'as pas posé à Reda Sedoui? Parce que j'ai des auditeurs qui sont absolument pas. Personne va me demander ça, mais moi je veux les poser. Qu'est-ce que t'aimes le plus et qu'est-ce que t'aimes le moins dans le fait de faire de l'humour?
Oh, moi ce que j'aime le plus c'est de jouer un truc que j'ai écrit et de le retravailler, et surtout quand t'arrives avec un nouveau numéro et que ça fonctionne et que tu le retravailles et puis que t'as des nouveaux beats, pour moi j'adore ça, c'est jouissif, surtout quand c'est un nouveau numéro.
Est-ce que t'aimes le moins dans le fait de faire de l'humour, vraiment dans le métier d'humoriste?
L'ego, la jalousie, le tout le temps cette façon de vouloir performer pour arriver à ses fins, ou ça c'est un classique, c'est ce que j'aime moins. Que j'aime moins aussi, ce que j'aime le moins, c'est l'écriture. Parfois, je trouve ça dur. Mm-hmm. J'aime écrire, mais je trouve ça dur. La routine, je trouve que la routine, elle est dure. J'adore jouer, mais je me dis, quand j'écris, je me dis, quand ça va être prêt et que tu montes sur scène et que tu t'amuses, le meilleur moment, c'est quand tu montes sur scène et que ça fonctionne, et que, pas que ça fonctionne, mais que tu joues.
Tu joues
ton texte.
Il y a quelque chose. Il y a un regard de. Il y a quelque chose. Vas-y.
Mais le moment du processus, tu sais, le premier moment du processus d'écriture, quand ta page est blanche,
c'est dur.
La solitude aussi. La solitude, je trouve que c'est un moment très, très dur. Tourner en rond chez toi avant ton spectacle d'une heure, très, très dur.
OK.
Voilà.
Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière, à part un Montreux plus en détente?
Déjà, un Montreux plus en détente. Ouais, je vais faire ça vraiment très très longtemps, toute ma vie. Et de continuer de progresser encore et encore et encore.
Eh bien, je te le souhaite.
Merci.
Et on va passer au name dropping.
Allez.
Maintenant que tu es bien fatigué après 4 heures de discussion, tu vas avoir du mal à revenir sur les noms des gens.
Ouais, vas-y.
Mais dans l'interview name dropping, je vais te demander de citer un humoriste ou une humoriste. Québécois, français, allemand, peu importe, une personne pour chaque catégorie. Mais tu dois te limiter à une seule personne.
Ok.
L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré?
Daniel Grenier.
L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus?
En ce moment, celui qui m'inspire beaucoup, c'est Sébastien Maniscalco pour mon dernier spectacle. Parce que quand j'étais en France, je cherchais la ligne directrice. Alors que Sébastien Maniscalco, lui, sa ligne directrice, c'est... Il y a une petite ligne directrice, mais elle est mince, mais c'est que de la bonne blague et ça a un sens. Et il le joue tellement bien. Donc, ouais, Sébastien Maniscalco, il m'a beaucoup inspiré pour mon dernier spectacle. Et surtout dans le jeu. Il est tellement précis dans le jeu. J'aspire à arriver à ça.
L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux?
Il y en a plein, man. Adib et Roman.
C'est dur de
Mais Simon Leblanc, il écrit tellement bien aussi. Mais ouais, Roman, il a cette capacité d'écrire à une vitesse et c'est beau. C'est puissant, man. Tu te dis, mais comment t'as fait?
Mais Roman...
Et c'est sa V1.
Ouais.
Mais j'y crois pas, hein. J'y crois pas. Mais c'est magnifiquement bien écrit. En fait, j'allais le voir la première fois de Yacine Bellous. Mm-hmm. Il me dit, oh, je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Il fait un truc, je te le jure, man, il a personnifié les émotions. Mm-hmm. Tu comprends? Il dit, pour moi, je sais pas comment gérer. Oh, bref, je veux pas spoiler. Mais c'est tellement fort. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est Roman, il écrit extrêmement bien. Okay. Et Adib aussi, il a un talent d'écriture qui est phénoménal.
Mais moi, je t'ai parlé du show d'Adib la dernière fois qu'on s'est vu pendant trop longtemps, parce que je t'en ai parlé pendant 20 minutes en mode ce spectacle m'a retourné l'esprit.
Ouais, ouais.
Il a testé un nouveau 60 minutes au bordel pour les auditeurs qui s'appelle Des putes et des voleurs. Titre très drôle, mais qui pour une raison, c'est pas juste pour faire un titre marrant. Et c'est incroyable. Moi, il m'a fallu une heure et demie après le spectacle pour me remettre de ce que je viens de voir. Mais je le trouve incroyable.
Comme je disais, Adib, il a cette capacité de tous les trucs qui chuchotent en nous, de les ressortir et de les faire rejaillir en criant.
C'est ça. Mais allez
le
voir.
Cette capacité, des fois, il dit des trucs, je dis, mais oui, mais je l'ai entendu chuchoter. C'est magnifique. C'est trop fort.
Mm-hmm. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux?
Ben, Sébastien Maniscalco, je l'ai dit. Mais si on reste dans les humoristes proches de nous, Jason Brockes, son dernier spectacle, il joue extrêmement bien. Je cite beaucoup Jason Brockes, mais vraiment, voilà, je l'aime beaucoup aussi, donc ça compte. Mais son spectacle, il y a un jeu très fort, très bon, très juste, ouais.
Il est pas dans
Fary.
Fary est bon.
Fary dans le jeu, dans son dernier spectacle. En fait, j'ai eu la chance de le voir jouer au Sarfati et je l'ai vu jouer, mais c'est d'une délicatesse, c'est bien posé et c'est drôle et c'est pas théâtral. Il y a un côté, c'est fort. Genre, il décrit une situation et il va le jouer. Je trouve ça fou. Fary.
Et un humoriste qui t'a surpris dernièrement? Soit quelqu'un que tu connaissais pas du tout, que t'as découvert et que t'as fait waouh, c'est super fort, ou quelqu'un que tu connaissais mais qui est revenu super fort avec une nouvelle idée.
Celui qui me surprend depuis le début de la pandémie et qui me surprend encore, c'est Mi Benson Sylvain, je trouve qu'il a une force. Je sais pas comment expliquer, mais avant il jouait très bien, il était super bon. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé après la pandémie. Il a des angles très très forts. Mi Benson Sylvain, vraiment numéro 1. Il y en a eu plein, mais Mi Benson Sylvain, ouais. Charles Brunet aussi, très très fort. Très très fort aussi.
Impressionnant.
Ouais.
J'ai beaucoup plus vu Charles Brunet. Après, c'est juste le hasard des shows de qui tu es. Mais Charles Brunet est vraiment très très
fort. Ouais, lui aussi, surprenant.
Il transpire le stand-up, c'est impressionnant. C'est un peu un Roman Frécyné. Moi, je fais un lien entre les deux dans ma tête.
Mais plus sauvage que Roman. Je te le jure plus.
Ouais. Mais il a vraiment des très bons angles.
Oui, c'est ça. C'est l'angle. En fait, puis il a une. Je le vois jouer. Frère, je sais pas comment t'expliquer. Anas aussi, ils sont trop forts. Il a une simplicité dans l'angle. Quand il écrit une idée, c'est très simple. Mm-hmm. Donc ça prouve que, comme quoi, qu'il a trouvé son identité, tu vois.
Oui.
C'est
très intelligent. C'est vrai qu'il il va partir de choses simples.
Ouais, ouais.
Et il va arriver à l'amener à quelque chose de très, très intéressant. Je l'ai vu faire un sketch incroyable sur la branlette. Et je suis là, waouh.
Ah, ouais.
Il a réussi à faire quelque chose de très.
Sur la pipe.
Ouais, t'es là, waouh, mais c'est bon. Et c'est alors que si tu me dis, le prochain il va faire un numéro sur la branlette, je fais, oh, encore un numéro de branlette, que ça va être un.
Non, lui il arrive à te faire une métaphore.
Ouais, il arrive à en faire quelque chose d'intéressant.
Un parallèle, il trouve un parallèle, puis.
Voilà, donc Charles Brunet, Mi Benson Sylvain.
Ouais, mais je dis Mi Benson Sylvain parce que c'est lui qui m'a surpris, alors que Charles Brunet et Anas et toute cette clique-là, mais Anas, il est très fort aussi, man. Je le vois aller, je suis comme waouh. Et Charles Brunet, je trouve ça inspirant. eux, ils me surprennent pas parce que à chaque fois que je les vois, j'ai comme ah ouais, ben oui, évidemment. Ben oui. Mais Benson Sylvain, il m'a surpris, puis il vient me chercher. Mais vraiment, il vient chercher même la joie en moi. À chaque fois que je le vois, je souris tout seul. Et ouais, Mi Benson Sylvain. Okay. Je le répète encore, Mi Benson Sylvain.
Et on va passer maintenant au choix entre deux humoristes.
Oh, shit.
Donc je précise pour tous les auditeurs, comme à chaque fois, je demande de choisir entre deux personnes. J'ai pris exprès des gens qu'il aime bien pour le mettre en difficulté. Le but, c'est pas de dire qu'il y en a un des deux qui est moins bon, parce que tous les gens que je cite, c'est que des gens que j'aime bien. À chaque fois, je prends que des gens que je trouve bons. Le but, c'est juste pour moi de savoir un petit peu qu'est-ce qui te touche plus toi, qu'est-ce qui va te faire provoquer un tout petit peu plus de rire. Ça peut être 1% de plus, mais pour savoir. Entre les inconnus et les nuls.
Ouais, les inconnus, ils m'ont marqué. Après, il y a pas toute leur humour que ils viennent me chercher. Des fois, l'humour vieillit mal. Mais ouais, les inconnus, ouais.
Entre Dave Chappelle et Chris Rock.
Avant, je t'aurais dit Chris Rock parce que c'est lui qui m'a, c'est l'humoriste qui m'a énormément marqué avec une blague. La blague de la balle à 5 000 $. Et je le trouvais très fort, son côté preacher. Chris Rock, mais Dave Chappelle.
Dave Chappelle,
imbattable.
Okay.
Imbattable. Mais ils sont tous bons. Ils sont tous les deux bons. Mais Dave Chappelle.
Entre Blanche Gardin et Charles Soignon.
Non. Tu sais quoi, Blanche Gardin, j'ai beaucoup aimé Blanche Gardin et j'aime beaucoup. Elle est extrêmement forte. Et là, c'est de comparer deux femmes. C'est compliqué. Faudrait pas faire ça. Mais même comparer deux Arabes.
C'est pas mes questions suivantes.
Je rigole.
Changer le podcast complètement.
Mais honnêtement, Blanche Gardin, elle est forte. Elle a cette capacité. Exactement un peu comme Adib, cette capacité de dire exactement ce qu'on chuchote dans. Tous les chuchotements qu'on a dedans de nous, elle arrive à les mettre en lumière. Elle est forte, elle arrive à... Ouais, c'est une des meilleures humoristes. Mais Charlotte Soignon, je dirais Charlotte Soignon parce que elle a réussi à parler de l'identité dans une époque. Et surtout, elle m'a décomplexé sur le fait de « Yo, parle de tes origines si tu veux parler de tes origines ». Vraiment, elle a réussi... je sais pas, pour moi, Charlotte Soignon. Et surtout son dernier spectacle.
Le dernier spectacle est incroyable. J'ai pleuré de rire, pleuré tout court.
C'est intense.
C'est très très beau. C'est incroyable ce qu'elle a réussi à faire.
Ouais, Charlie Soignon.
Entre Bunaimin et Eddie King.
Je peux pas.
Tu peux pas. Ouais, je pense que les autres, tu vas pas choisir non plus.
C'est deux styles différents. Deux styles différents. Bunaimin, il a une vivacité d'esprit incroyable. C'est une nébuleuse. Eddie King, la structure, il est fort, c'est solide. C'est deux mondes. Je peux pas.
Ça marche.
Je peux pas.
Je vais pas t'embêter.
Je veux pas.
Après 4
ans. En plus, c'est deux amis. Je veux pas. Je veux pas.
Entre Rolly Hassall et Paul Taylor. Il n'aime pas ce jeu.
J'aime les deux. Paul Taylor, belle expérience. Il a une expérience beaucoup la plus grande expérience que Rolly Hassall. Forcément, son dernier spectacle, j'ai fait sa première partie à son dernier spectacle, très très fort, très très bon spectacle, un bon rythme. Mais Rolly Hassall, il a quelque chose d'intéressant. Je trouve charmant. Je vais décliner ce jeu.
Ça marche.
Ouais, je vais dire Paul Taylor parce que
son expérience,
son efficacité, son est relié à ça. Mais yo, c'est mon ami, man.
Je déteste ce jeu, d'accord. du coup, je sais pas si je peux proposer le dernier choix.
Vas-y.
Adib Al-Khalidi, Warren Ishen.
T'es vraiment un gros connard. <Je sais. rire>
Et je te dis le dernier choix, entre Jason Brokers et Leo Hart. Je te disais, t'es trop dans le
perso. Je pense que Leo Hart, il serait fier de ça.
Ah, mais il peut.
Ben, je vais faire les deux. Warren Ishen et Jason Brokers.
Ah, c'était Adib Al-Khalidi.
Ok. Je veux dire, Wari. mais ça a aucun sens. Ton jeu n'a aucun sens. Et là, je suis sous pression. Tu sais pourquoi? Parce que Wari, je l'ai vu grandir, je l'ai vu progresser, j'ai grandi avec lui. On a commencé ensemble. Mm-hmm. Je l'ai vu travailler fort. Il, je le trouve brillant. Il est, mais c'est deux styles différents. Adib, et c'est mon ami Wari, tu vois. Et Adib, je le trouve fascinant. Mm-hmm. Donc, je veux dire Wari parce que c'est mon ami et je le trouve. Mais ça a aucun sens.
Ça a aucun sens. C'est vrai.
Ça a aucun sens.
J'ai été trop dans le perso. Cette fois-ci, j'ai choisi trop des choix impossibles, que des choix impossibles. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions.
Ça fait plaisir.
Tu, on a vraiment passé le temps. Tu as été généreux dans tes réponses.
Merci, mon gars.
Pris le temps. Y a une dernière question.
Vas-y.
Et après, je te laisse tranquille. Je
Vas-y.
Te promets. C'est qui est-ce que toi tu aimerais entendre dans le prochain épisode?
Ouais. C'est lui que j'aimerais entendre. Mi Benson Sylvain.
Ok.
Voilà.
Ça marche.
J'aimerais l'écouter.
Ben, si j'ai l'occasion et que je reviens à Montréal et que je vois plus de choses de Mi Benson, je pense que ça pourrait être un très bon invité.
Avec grand plaisir.
Mais ça m'intéresse de savoir qui les invités, eux, veulent entendre.
Ouais, ouais, ouais.
Merci beaucoup.
Ben, merci à toi.
Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.